Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, Internet, on est là. 1, 2, 3.
Bonsoir.
Quoi ? Salut à tous les gens qui ont eu la chance de ne pas avoir Caroline comme maman, nous dit Madame Wolowitz. Salut à tous les gens qui ont eu la chance de...
ne pas avoir Logan comme papa, également.
Tout à fait.
Parce que c'est pas non plus un cadeau.
Voilà, on est deux pour faire des enfants et on est deux pour les ruiner émotionnellement à vie.
Ne blâmons pas que les mamans.
Pas que les mamans. Not all mamans. Beaucoup de darons aussi. Bonjour le chat, on fait un petit tour de bonjour. Bonjour Lily la fourchette en carton. Non, Lily de la fourchette en carton. Est-ce qu'il y en avait déjà une? Et du coup, t'es la deuxième, je ne sais pas. Bonjour French Fry, bonjour Silioja, bonjour Stinian, bonjour Corbeau Bureau, bonjour Gabriel Kendrick, bonjour Moonchild, bonjour Corinne, bonjour Steel Marty, bonjour Madame Wolowitz du coup, bonjour Zmud, bonjour Vipère au Point, bonjour Ezoc évidemment, bonjour Grosso Merdo et Tapir Persan et Caracol et toutes celles et ceux qui lurquent dans les ombres, et toutes celles et ceux qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont nous rejoindre, comme Pitlouche et Darvec, qui viennent d'arriver, et de dire coucou. Coucou Fabrice.
Coucou Mimi.
Comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Bah oui, je me rends compte que je me suis mal installée, parce que si je te regarde, j'ai peur d'être hors champ. Mais c'est pas grave, tout va très bien se passer. Écoute, ça va, c'est un bon mardi, plus fun que cet épisode de Succession, qui était une forme de... toutes les phases du deuil.
Enterrement.
En intraveineuse, pendant 1h10. Mm. C'était peut-être je crois que c'est le plus long épisode de Succession qu'on a eu jusqu'à
avant le prochain,
avant le final, je pense que ça va être plus simple, qui fait 1h30. Mm. 90 minutes de Succession la semaine prochaine et après on n'en aura plus. Donc c'est triste, mais ça va être un beau chemin et on peut dire que le voyage est déjà réussi.
Oui.
C'est pas comme Game of Thrones où genre il y a eu deux bonnes saisons pas bien avant la fin. Là. On est là en mode, au pire, même s'il rate le final.
Ah non, la dernière saison était extraordinaire, oui. Vraiment.
Oui, oui, oui. Et jusqu'à présent, on a passé chaque épisode de ce débrief à dire on ne sait pas où ça va. Mm. Et je pense qu'on ne savait pas où ça allait aller aujourd'hui. Et en même temps, ça y a été. Et on a passé, alors, un moment fun, pas sûr, mais un bon moment de télévision, oui.
Mais c'est ça, c'est que vraiment, il n'y a plus beaucoup de moments fun, là. Cette dernière saison, globalement, c'est pas le fun. Alors que faut quand même dire que les trois premières saisons... Certes, il y a des saloperies, il y a des tas de trucs qui jouent, il y a des tas de trucs horribles qui se passent, mais c'est quand même très très marrant globalement parce qu'ils ont des punchlines incroyables. Et là, vraiment, je trouve que cette saison, ils ont vraiment mis ça de côté, quoi. Sauf
équilibre tragicomédie et pulsion tragique comédie for now, quoi.
Effectivement.
Sauf, t'allais dire.
Roman qui sort pour moi ses 2-3 meilleurs punchlines en l'espace de quelques secondes.
Ouais,
exactement, de tous
ouais,
les temps.
Ouais. Très en forme cet épisode Roman jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. On va en parler. Merci beaucoup Mister Melik pour ce resub. Et Gabriel nous demande...
dit, mon pré-deuil de ce podcast est commencé.
Oh, mais le podcast va continuer, les débriefs vont continuer, juste on parlera d'autre chose que de Succession. Mmh. De quoi ? Je ne sais pas encore, car comment succéder à Succession finalement, ouais. Ce sont des big shoes à remplir.
Big shoes.
On va trouver. Avant un spin-off sur Greg, nous dit Gilles, en vrai... Je serais deg, mais je le regarderais de fou, tu vois. Je serais deg parce que je le déteste et que j'ai pas envie qu'il ait sa propre série, mais...
Surtout que si ça tombe, c'est lui qui gagne à la fin.
On va en parler, mais Greg PDG, écoutez...
Greg CEO. MDR.
Greg, c'est possible. Gabriel nous dit, une petite question, je suis anglais. Hi Gabriel.
Hi Gabriel.
Et j'ai regardé tous les épisodes en 2 semaines grâce à mes parents. Wow. Est-ce que vous les regardez en VO? Alors moi je les regarde en VO sous-titré en anglais. Donc j'ai pas de traduction française, j'ai vraiment que l'anglais sous-titré. Et toi je crois que c'est VO sous-titré français.
VO sous-titré français sur Prime Video.
Tout à fait.
Voilà.
Comme moi bien sûr.
Oui comme toi bien sûr, grâce au Warner Pass.
Oui, de façon légale et rémunérée.
Voilà tout à fait.
Du coup, non, moi j'aime bien la langue. Enfin, j'ai atteint un niveau où j'ai pas besoin qu'on me traduise et j'aime bien voir. C'est juste que à l'oral, je comprends pas toujours tous les mots et il y a beaucoup de marmonnements, il y a beaucoup de gens qui parlent un petit peu dans leur barbe, dans succession. Il y a beaucoup aussi de phrases qui n'ont pas de sens en soi et de mots un peu vieillots. Donc je suis contente de les avoir écrits. Et parfois il y en a où j'ai pas le vocabulaire, tu vois, genre littéralement je comprends pas le mot, mais je le comprends dans le contexte. Et je préfère ça qu'avoir une traduction française qui du coup serait un peu imparfaite forcément parce que c'est pas exactement l'écriture, bref.
Mais en fait, je crois que moi, je suis très heureux d'avoir le support français quand il y en a besoin. Ah, je me demandais ce qui était en train de se passer, j'ai vu ta tête. Et en fait, parfois, ça m'aide vraiment à... Effectivement, les mots que je comprends pas, en fait, comme ils sont traduits, j'ai pas besoin de... Enfin, pour moi, c'est important, tu vois.
Oui, t'es juste dans le flux de l'histoire. T'as pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il raconte. Moi, je pense que j'en suis au stade où j'ai pas besoin de comprendre tous les mots qui se racontent, mais c'est, enfin, je consomme toute ma pop culture anglo-saxonne comme ça, en anglais sous-titré anglais, et j'écoute des podcasts américains derrière et tout, donc ça va. Merci beaucoup à Madame Volovitz qui a offert un sub sur la chaîne à Vipère au Point. Merci.
C'est
trop
le train de la hype, là.
Le train de la hype.
N'hésitez
approche.
Pas. Envoyez.
N'hésitez pas à sub. On a toujours l'objectif de sub qui est ici, qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à l'alimenter si vous le pouvez.
Si vous voulez avoir des streams cuisine de Mimi.
Gabriel, du coup, Gabriel nous dit « Ok, parfait, tant que c'est pas doublé, ça me va. »
Ah oui.
J'ai jamais tenté Succession en VF.
Non, écoute.
Et j'ai pas envie, je crois.
Bah, tu vois, par exemple, ce que Apple TV, enfin TV Plus, là, l'appli, ce qu'elle fait systématiquement, c'est qu'elle oublie que j'écoute mes trucs en anglais. Et donc, en fait, elle démarre à chaque fois les trucs en français et je me fais avoir à chaque fois. Et les voix françaises, désolé hein, pour tous les gens qui doublent, les acteurs qui doublent et tout. Je sais que vous faites un cool métier, mais en fait, pour moi, c'est vraiment... Tu sais, comme... Est-ce que t'as connu ce moment où toutes les voix françaises de Friends avaient changé?
Non, j'ai pas vécu cette diff. Et je sais que j'ai vécu des changements de comédiens et de comédiennes de doublage un peu phares de certains acteurs, mais j'ai pas d'oreille. En fait, je fais pas la diff. À part, enfin, je sais qu'il y a quelques comédien de doublage iconique, par exemple le Bruce Willis version française, tu vois. Mais, et du coup, j'imagine que je me rendrais compte s'ils ont changé. Mais, enfin, si à un moment dans ma vie où je regardais encore des trucs en VF, ils avaient changé. Mais j'ai pas d'oreille dans le sens où quand je regarde un film d'animation, je ne sais pas qui fait la voix de qui. Genre, je ne peux pas reconnaître un acteur à l'oreille.
Mais
c'est pas possible.
Mais on est d'accord que quand tu changes, par exemple, les persos, ils ont changé de voix complètement.
En vrai, si c'est d'une saison à l'autre, je sais pas. Incroyable. Non, mais je me rends compte que. Je regarde Vice Versa et je sais qui y a dans le casting et je suis incapable.
Oui.
Alors, des gens dont j'ai entendu la voix pendant 6 saisons de Parks and Recreation, par exemple.
Je suis pareil.
Et je sais qu'il y a Amy Poehler au casting et je suis là. Je sais pas qui c'est.
Je crois que
alors
c'est
que
Joy.
Je devrais le savoir.
C'est Joy, à mon avis.
Évidemment, c'est Joy. Donc, je sais pas. Je me dis, j'ai pas d'oreille. Il y a Vipère au Point qui du coup
rend
l'appareil à la commu.
Incroyable.
Merci beaucoup, en offrant un sub à Wolfios. Du coup, merci beaucoup Vipère au Point qui a eu un sub offert et c'est le ruissellement. Et c'est la gauche qu'on veut, ok. C'est pas la version de l'argent des Roy, etc. qui
non.
est quand même compliquée. Et donc on nous dit dans le chat, la VF est dégueulasse, j'ai déjà entendu la voix de Roman, c'est horrible. Donc ouais, et Donald, on nous dit, Darvec nous dit, Donald Reignoux, qui est le comédien de doublage qui double Roman en français, Donald Reignoux en Roman fait très bien son taf, pour ma part, je ne peux pas lire les sous-titres et je suis une quiche en anglais. En vrai, no shame, il n'y a pas de jugement sur quelle est la meilleure façon de regarder Succession, puisque déjà nous deux on la regarde pas exactement de la même façon du coup. Et no shade aux gens qui regardent en VF, franchement, il n'y a pas de problème.
Après,
mais
pour
je
moi,
pense que quand t'as commencé
c'est
une version,
ça. C'est ça pour moi le vrai truc. C'est que tu peux pas revenir en arrière, en fait. Une fois que, et surtout, pour moi, une fois que t'as commencé à trouver le plaisir de regarder des séries en VO, c'est très très dur de revenir à la VF parce que tu vois à quel point, certes, c'est bien doublé, ça peut être bien doublé, etc. Mais en fait, c'est pas pareil que d'avoir les vraies voix. Il y a des décalages labiaux, n'est-ce pas?
C'est comme j'ai fait des décennies de ma vie à regarder des trucs en VF et à regarder des trucs avec des rires en plateau ou des rires enregistrés. Et c'était ok.
Ouais, ouais, bien
et vraiment,
sûr.
Genre, je sais que j'avais essayé. Fut un temps de re-regarder How I Met Your Mother parce que j'étais là, je me fais un peu chier, c'est une sitcom certes datée mais peut-être un peu feel good. Et en fait, j'avais complètement effacé de ma mémoire qu'il y avait des rires enregistrés ou des rires plateaux, je sais pas, sur How I Met. Et j'étais là, ah, oh, c'est pas possible. C'est insupportable. Comment j'ai regardé tellement de saisons de trucs avec des rires enregistrés.
Ouais.
Écoutez, du coup, on regarde Succession en VO et on va vous parler de Succession saison 4, épisode 9, Church and State, l'Église et l'État, l'avant-dernier épisode de Succession pour toute la vie, l'antépénultième. Comment tu le vis, Fabrice ?
Bravo pour ce petit plaçage d'antépénultième, d'abord.
Vous le claquez au Scrabble, ça fait pas mal de points.
Ça...
Enfin, c'est pas mal de lettres. Après,
je crois pas que tu puisses le placer.
Si, en diagonale, machin. Tu... si, tu peux. Non, on peut faire des mots en diagonale au Scrabble. Peut-être j'aime pas le Scrabble.
Ouais.
C'est pas très marrant comme jeu.
Non. Ceci dit, le Wordle, c'est bien. Mais bon, c'est une autre question.
Pas pareil.
Non.
C'est deviner. C'est pas créer un truc avec genre, à chaque fois j'écris chien et ma mère elle est xylophone. Je suis là, cool. C'est fun comme jeu.
Gagné. l'antépénultième, c'est avant-dernier. Bien joué, Ezoc. Bien joué. C'est vrai.
Ezoc, bien joué. On est donc sur juste
l'avant-dernier.
Le pénultième. Épisode de Succession Forever. Oui. Comment tu vis le fait que ça se finisse dans une semaine ?
Écoute, je crois que j'avais beaucoup de mal au début. En fait, pour moi, donc il y a deux séries que j'adore là qui vont se terminer en même temps. Et pour moi, je crois que j'ai ressenti la semaine passée la tristesse infinie que je vais ressentir quand Ted Lasso va se terminer, parce que je crois que j'ai un amour infini pour environ tous les personnages de cette série. Et en fait, mais peut-être que c'est ça aussi que les scénaristes de Succession cherchent à faire, c'est-à-dire que pour moi, les deux derniers épisodes, là, ils ont réussi à me dégoûter et à me couper toute forme d'empathie envers ces mecs, en fait. Tu vois, que
dans
j'ai.
Dans ce fameux stade de je peux pas être dans leur camp, quoi. C'est vraiment...
Je n'y arrive plus, en fait.
Il y a personne à soutenir.
C'est-à-dire que vraiment, pour moi, vous êtes tous pires les uns que les autres. Alors, je le savais depuis un petit moment. Mais en fait, depuis que le daron est mort, ça s'est accéléré,
c'est
ça s'est accentué, etc. Et donc là, tu vois vraiment. Qui ils sont vraiment, alors qu'avant ils étaient dans l'ombre de leur daron, que tu sentais qu'il y avait un truc où ils étaient plutôt les victimes de leur daron. Et là, en fait, ils sont en train de devenir eux-mêmes les bourreaux. Et je trouve ça assez dingue parce que ça me permet, je crois, de faire le deuil.
Tu fais ton pré-deuil de Succession,
ouais,
c'est ça qui se passe.
De cette série. Et en rappelant que moi, vraiment, je l'ai regardé, genre vraiment jour 1, saison 1,
qui
épisode 1, j'étais là, quoi. Donc,
tu es un
ça...
peu un L to the OG.
Exactement. J'y étais avant tout le monde. Et c'est vrai que c'est. Enfin, voilà, pour moi, j'ai vraiment ressenti ça, notamment dans cet épisode, on va en reparler, où j'ai eu un mal fou à avoir de l'empathie envers tous les personnages, alors que. Ted Lasso, depuis le milieu de la saison 1, me fait pleurer à chaque épisode et continue à me faire pleurer. Cette saison est incroyable, vraiment, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore regardée. Ça vient me...
Et on vous invite à la regarder, d'autant plus qu'il y a de bonnes chances qu'on en fasse un petit live quand ce sera fini,
bien
à savoir dans 3 semaines. Et comme on l'a dit la semaine dernière, c'est probablement la dernière saison de Ted Lasso.
C'est toi qui m'as dit ça, mais je crois.
Donc on va peut-être aussi faire un bilan et un deuil de la série en entier, pas juste de cette saison. Quoi.
Oui. Donc non, même pas Roman Biboule fasciste, parce qu'effectivement, en fait, on voit
c'est
depuis...
C'est Squazem qui dit ça dans le chat, ok,
voilà.
C'est pas Fab qui décide d'appeler
non.
Roman Biboule fasciste.
C'est juste, effectivement, je trouve que le dernier épisode, notamment, a montré une facette de Roman qu'on sentait chez lui.
Dégueulasse, hein.
Mais... où on se disait, ok, c'était sous couvert de blagues, de machin, de tout. Et en fait, on a compris qu'en fait, effectivement, c'était juste un putain de néo-nazi, un facho, quoi. Mm-hmm. Et que toutes les blagues qu'il faisait les saisons précédentes, c'était pas tant des blagues. Et oui, j'ai eu beaucoup de mal, notamment, à montrer de l'empathie envers Roman quand il s'écroule, quoi.
Ah, moi, ça a marché de fou. Mais bon, on va en parler. Mais c'est marrant ce truc où tu dis, là, on découvre leur vrai visage. Parce que pour moi, en fait, c'est leur vrai visage à... mort de leur daron, jour plus 7, tu vois, max. Mmh. Donc, c'est pas vraiment qui ils sont vraiment, c'est qu'ils sont dans une période de deuil et de trauma émotionnel intense. Par contre, c'est un vrai moment charnière où ils prennent le chemin de qui ils vont devenir et je pense que ça fait partie des messages de Succession. Ils prennent, pour l'instant,
voilà.
Tous et toutes, autant qu'ils sont, le pire chemin.
Parce que...
Même Connor, qui était un peu une figure... on se disait peut-être lui, il s'en est sorti, tu vois. Que soit l'épisode dernier où il était hyper saoulé de, enfin, il a eu un peu ce truc noble quand il a pas gagné l'élection et après immédiatement il a fait un discours The Conheads are coming, où là dans cet épisode où ok il est chaud au moment du mausolée et tout, mais où il essaye de faire un discours et on comprend que c'est un bordel pas permis et tout, Connor aussi, enfin évidemment Connor aussi il est fucked up quoi.
Bien sûr.
Personne ne prend le chemin de je vais briser le cycle et le poison ne va pas
Oui, parce que c'est pas parce que on perd quelqu'un qu'on est obligé de partir en couille. On peut partir en couille, oui. Mais on n'est pas obligé de partir en couille de façon négative vis-à-vis du reste du monde, quoi. Tu vois, tu peux exprimer de la colère, tu peux exprimer plein de choses. T'es pas obligé de venir la coller sur la gueule du reste du monde.
Par exemple. Les États-Unis, par exemple.
Par exemple. Oui.
Cette bienveillance pour Shiv alors qu'elle vend son âme ultra vite. Écoute, Hubaza, on va en parler. Si c'est ta première fois sur ce débrief, en vrai, avec Fab, on n'est pas toujours 100% aligné sur Shiv. Disons que j'ai peut-être plus de bienveillance pour Shiv que toi, mais je trouve aussi que t'en as moins pour elle que pour les deux autres, tu vois. Enfin, à chaque fois qu'on en parle, je te dis, oui, elle rate et elle est nulle, mais les deux autres aussi. Enfin,
bien sûr.
Les Romans aussi, ouais. Ratés, ils sont nuls, tu vois. Donc elle est, et fondamentalement, on l'a jamais vu faire un truc aussi horrible que on a vu Roman et Kendall le faire à quelqu'un d'autre.
Oui.
Sauf peut-être, quand même, la fois où elle a convaincu une victime du scandale des croisières de pas témoigner, j'entends. C'était pas notre very féministe.
Après, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle fait beaucoup dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a un truc très perfide, en fait, là où.
Et eux aussi, ils se trahissent tout le temps.
Non, bien sûr. Non, je sais, mais notamment dans cette saison, il y a un vrai truc où ils démarrent tous les trois soudés et qu'elle décide de jouer sa Les trois enfants, ils démarrent soudés.
Mais c'est Kendall et Rome qui sortent Shiv littéralement et qui disent on va être PDG sans toi.
Je parle vraiment au début de la saison, au tout début de la saison.
Oui. Quand elle est encore en talk avec Jiménez, parce qu'elle est là, en fait, no offense les gars, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et guess what, elle a raison.
Elle a raison, bien sûr.
Parce qu'à la première opportunité qu'ils ont de la sortir, ils la sortent.
Oui, j'entends.
Bref, on va parler de
Succession. De toute façon, moi je suis plus féministe, hein. Moi je vous le dis. Hein, si...
Ça y est, c'est fini. Mademoiselle.com, c'est moi, fini.
Je suis post-féministe, moi.
Friendship ended with les femmes. Your best friend is not Chivroy. Ok, on va vous parler de Succession, saison 4, épisode 9. Comme d'habitude, on va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'ici. On ne va pas vous spoiler la suite, mais là, ça commence à être compliqué, puisque sache que même les critiques professionnelles aux US n'ont pas reçu le final. Ça fait plusieurs séries que HBO n'envoie pas le final aux critiques. Et donc là, fondamentalement, très peu de gens dans le monde ont vu le dernier épisode de Succession et savent ce qui se passe, ou même comment ça se passe. On en parlera, on n'a pas une idée très claire de la forme du prochain épisode, en tout cas, vu qu'on n'a pas regardé la bande-annonce aussi.
Oui.
Ça aide à.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours la bande-annonce.
Bah là, ils l'ont sorti juste après l'épisode 9, donc elle n'était pas dispo avant. Et c'est la dernière bande-annonce.
Tu l'as pas regardée.
Moi, le plaisir, c'est dans la découverte aussi.
Mais c'est sûr que ça sera Greg, on va en parler, j'ai trop hâte.
Ah oui! Peut-être que ce sera Greg, ça va être horrible.
Ça paraît bien parti pour être Greg. Ça serait pas.
C'est le moment.
En fait, vraiment l'épisode dernier, on se disait Greg, c'est impossible, c'est mort. Là, vraiment, Greg, il est revenu sans même rien faire, juste en étant.
Juste
nul.
En étant là et en prenant un Vélib.
Quelqu'un a dit sur ton Insta une pelle à merde et vraiment, j'ai ri. Merci beaucoup.
En tant que personne qui possède un chat et donc une litière et donc une pelle à caca, je valide. Avant de se lancer, c'est le moment. Générique.
Du GGG, du nininé, du ririque.
C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. On est là. En off, Fabrice m'a dit, c'est le coucou.
C'est le zinzin.
C'est le cousin Greg.
Greg de Egg.
Justin, écoute, j'arrive pile à temps. Tu n'as rien raté. C'est l'heure du débrief. Ok. Cet épisode de Succession s'ouvre avec une petite répétition du discours de Roman, qui s'est donc chargé pour, au nom de tous les enfants de Logan Roy, de faire une forme d'éloge funèbre qui représenterait toute la multitude et la complexité de son daron. Et on peut dire qu'il a l'air très sûr de lui.
De terre.
Ready to go.
Alors, déter slash, quand on creuse un peu, on sent que ça va pas bien.
Tu dis ça parce qu'il a des yeux fous ?
Il a des yeux fous. Lui-même se rend compte qu'il a des yeux fous.
Quand il se met de la crème hydratante dans le miroir et qu'il
dit, est-ce que je me parle tout seul ? Est-ce que je me parle à moi-même ? Oui, tout à fait. C'est ça que je suis en train de faire. J'ai trouvé, alors je le place là maintenant, mais parce que pour moi, il y a vraiment un truc très Joaquin Phoenix
dans le Joker.
Dans le chemin de Roman vis-à-vis de cet épisode en particulier, quoi. Et ça commence tout de suite où tu sens que le gars il est pas tout seul dans sa tête et qu'il a besoin à un moment donné de se rassurer déjà lui-même de à quel point il est bon et qu'il va s'en sortir. Nanana. Vraiment le mec.
Oui, c'est hyper intéressant de voir du coup parce qu'il y a des parties du discours apprises par cœur où il nous dit les mots qu'il va dire et il y a des parties où il prend l'intonation mais il blablabla sur ce qui se passe et bah par exemple il dit du coup Logan Roy né Seconde Guerre mondiale, blablabla, triste, triste, triste. Je suis là, oui, c'est vrai que peut-être que la guerre, littéralement, qui a fait expatrier ton daron d'Écosse au Canada, qui a lancé l'intégralité de la tragédie de sa vie, blablabla, sad, sad, sad.
T'es là, mais en fait, vraiment, mec, c'est juste, ça prouve aussi à quel point il évite toutes les émotions tristes et les émotions négatives vis-à-vis de son père depuis...
Tout ce qui pourrait l'humaniser, finalement.
Voilà. Et que, bon, qui va l'amener à...
À bien réussir ce discours, évidemment. Car, alors, je l'ai appris au moment de la saison dernière de Succession. Il y a le fameux anniversaire de Kendall Roy. Où,
All bangers.
Au début de l'épisode... All bangers all the time. Au début de l'épisode, il répète cette performance... cringe as fuck sur Billy Joel,
oui.
Ou je sais pas quoi, où il est crucifié et tout,
oui.
Avec sa copine Naomi.
Oh, Nasty! It's a lonely world! And it's a... Oh là là, quelle joie, putain!
Et donc on le voit répéter, mais on le voit jamais le faire, puisque à la fin de
oui.
son horrible anniversaire, Too Much Birthday.
Finalement, il veut pas le faire.
Il veut pas le faire et il veut pas que le Tiny Wu-Tang, qui est, rappelons-le, un groupe d'enfants qui reprennent des chansons du Wu-Tang Clan, finalement il l'annule aussi, ce qui est probablement mieux pour ses enfants.
On aurait aimé le voir, ceci dit, en tant que spectateur.
Mais attends, mais j'étais tellement chaude. Mais j'ai appris à l'occasion de cet épisode et des débriefs qui ont suivi, qu'une des règles de la fiction, c'est si tu vois la répète, tu verras jamais le discours. Genre, si tu vois. Et dans un des podcasts que j'ai écouté, je crois que c'est probablement Joanna Robinson qui faisait la comparaison avec un film de braquage. Genre, dans tous les films de braquage, tu vois comment le braquage va se passer.
Ah,
et
oui.
tu sais que quand il va arriver, il y a un truc qui va pas marcher et qu'ils devront trouver une solution parce que sinon, c'est pas intéressant. On te le montre et on te le remontre. Et là, bah, j'ai pas de surprise.
C'est vrai.
Et là, on voit Roman faire son discours hyper chaud. Il dit « Si Shiv cry, si Kendall lie », donc voir Shiv pleurer, voir Kendall mentir. Si Roman light up the sky, il est vraiment en mode rockstar. J'étais là.
Cet homme ne vous ferait pas penser à son père? Oui, oui, un petit peu.
C'est
oh là
trop...
là. Pipou, quoi.
C'est, je pense, la phrase la plus importante de cette intro. C'est
oui.
qu'il décrit tout Logan Roy sans les moments humanisants et tristes. Et il finit en disant, et finalement, est-ce que je vous fais pas un petit peu penser à lui? Et c'est bon. C'est un des thèmes de succession que tout le monde veut être Logan. Quelqu'un dans le chat disait, c'est celui qui ressemble... Oui, c'est Madame Holowitz qui disait « Bibou, c'est vraiment l'enfant qui ressemble moins à son père. » Est-ce que tu penses que c'est celui qui ressemble moins à Logan ?
Oui, c'est le plus... Pour moi, c'est celui qui a sans doute ramassé le plus physiquement, on va en parler après.
Mm-hmm.
À mon avis, c'était vraiment la tête à claque de Logan. On le voit notamment dans un épisode de saison 2, je crois, où il lui met une...
Littéralement.
Il lui décoche une
bon
mandale.
Un petit revers avec une chevalière, mon gars,
ouais.
Il lui pète une dent.
Il lui pète une dent, et après, il est même incapable de s'excuser.
Il dit « je t'ai pas touché ».
Oui, putain, c'est vrai qu'il nie en plus. Quelle horreur. Et donc, ouais, en ça, je crois vraiment que... Alors certes, ils ont tous été fuckés, mais tu sens vraiment que Roman, il a un truc, quoi. Tu vois, son daron qui l'appelle Birou de cassé pendant toute la série, alors qu'on sait pertinemment qu'il a des problèmes... Enfin, en tout cas, on imagine que Roman et le sexe, c'est pas... Voilà.
Oui, et que c'est
tout ce qui est le plaisir.
Très clairement, parce qu'il a probablement été abusé sexuellement quand il était petit par probablement des adultes amis de son père.
Le fameux...
Comment Uncle Mo, Molester.
C'est ça, Molester, là.
C'est vraiment évoqué trop de fois que Roman a probablement été abusé sexuellement dans sa jeunesse. Et il n'y a jamais cette idée de Logan, il était pédophile, tu vois. Donc c'est jamais genre Logan, mais il y a des moments où Shiv, elle dit « j'allais pas dans la piscine avec les potes de papa parce que c'est pourquoi on n'allait pas dans la piscine avec eux », tu vois. Donc...
Tellement chaud.
Bon, en effet, Roman, c'est... Il y a un peu un truc du dernier enfant aussi. Du coup, l'idée, c'est Connor, The Eldest Son, bien sûr, Kendall, The Number One Boy, et ensuite, il y a Shiv, qui est la fille, et ensuite, il y a Roman, c'est un peu genre, ok, t'as le premier pancake, désolé pour lui, mais clairement, Logan, il a décidé que s'en battait la race, ensuite, t'as le fils aîné, l'héritier officiel, ensuite, t'as la fille, Pinky, la
ouais.
seule fille, et ensuite, t'as Roman, bah, à quoi bon, tu vois, t'as déjà deux fils, t'as déjà un héritier, t'as déjà une fille... À quoi bon avoir Roman, et on sent qu'il a vraiment vécu des choses douloureuses. À ce sujet, je sais pas si t'as vu qu'ils ont sorti en papier les scripts, les scénarios de Succession.
Non.
Ils ont été édités en bouquin papier aux US. J'ai clairement genre 8 personnes dans ma vie à qui je vais les vous offrir, dont toi.
Ah ouais,
parce
trop bien,
ils ont
merci.
Sorti les 4 tomes. Et, les 4 saisons. Et en fait, il y a beaucoup de scènes, soit pas tournées, soit coupées, qui étaient dans le script, mais Succession, c'est une série qui se fait beaucoup par les acteurs
oui.
et par l'impro. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, qui ont été écrites dans les scripts, et qui ont peut-être été tourner. Enfin, c'est tout compliqué de savoir à quel point c'est canon, comme on dit, parce que, ouais, bah, en fait, à la fin, c'est pas dans la série. Donc, on peut se dire, c'est peut-être des fois des idées qu'ils ont eues, qu'ils ont pas creusées. On avait parlé du fait qu'au début, Roman, il avait une compagne qui avait des enfants, et finalement, ouais, ça a sauté. Mais il y a plusieurs trucs, du coup, très intéressants, je trouve, qui sortent sur les internets. Il y en a un qui est, en fait, c'est jamais défini dans la Bible de la série qui est l'enfant le plus jeune entre Shiv et Roman.
Voilà, quelqu'un demande, oui, est-ce que c'est pas Shiv la dernière?
Ça demande, en effet, c'est pas Shiv la dernière. En fait, il y a des gens qui pensent que c'est Shiv la dernière parce que il l'appelle Pinky, qui veut dire le petit doigt, parce qu'elle a l'air assez jeune, parce que des fois Roman il la big brother un peu, mais ça peut aussi être juste un truc patriarcal nul. Et moi, comme plein d'autres gens, j'avais compris que c'était Roman le dernier enfant.
Alors
mais il y a
pas.
Aussi des gens qui voient en lui ce syndrome de middle child, d'enfant du milieu, où du coup t'es pas le plus grand mais t'es pas le plus petit, donc t'as pas le je suis le préféré parce que je suis le plus jeune et ni je suis le préféré parce que je suis l'aîné. Moi je suis l'enfant du milieu.
C'est horrible, hein, c'est la pire place. Moi je suis l'aîné, franchement faites pas ça.
Et bah écoute, j'allais dire, moi j'ai trouvé ça, je pense, hyper confortable parce que ma grande sœur s'est vraiment tapée, genre elle a étreiné et elle s'est mangé plein de barrières pour moi.
Bah t'es à la machette, t'es dans la jungle et tu t'ouvres le chemin quoi.
Et en même temps, j'avais. Alors. Enfin, on en parlera à l'occasion. Si tu veux, on fera un stream.
On fera un live. On fera un live fraternité à 3.
J'ai pas vécu ça comme. Je me sens pas avoir une place privilégiée, c'était plutôt « Ah, je suis un peu tranquille, tu vois. » Ce qui est pas mal aussi, quoi. Moins d'expectation. Mais donc, voilà, dans la bible de la série, c'est écrit noir sur blanc que c'est jamais confirmé qui de Shiv ou de Roman est le plus jeune. Mais pour Jesse Simmons, qui est quand même le créateur de Succession, pour lui, c'est, que je dis pas de bêtises, Shiv la plus jeune.
Ah, ok.
Si je dis pas de bêtises. Je vérifierai un moment. Donc ça, c'est intéressant. Et un autre truc qui est sorti, c'est que a priori, tous les gamins Roy, ont, donc tous les Kendall, Shiv et Roman, ont des troubles du comportement alimentaire. Y a plusieurs scènes, et là on en revient à, c'est aussi les acteurs qui nourrissent la série. Il y a Kieran Culkin, donc, qui joue Roman, qui à un moment, qui a dit en interview qu'à un moment dans une scène, il était au restaurant ou je sais pas quoi, et ils étaient en mode, et on amène à Roman un cheeseburger, et il a dit non, je pense que Roman il prendra la salade sans sauce et qu'il va pas y toucher. Parce que je pense que tous ces gamins ont un trouble du comportement alimentaire, et du coup ils ont travaillé sur ce truc de, il y a dans le script, il y a des moments où par exemple ils s'appellent Fatih, donc ils s'appellent Grassouillet pour s'insulter, ils font des vannes sur Kendall à un moment quand il est en rechute de, ça va pas du tout parce qu'il a peut-être fait un homicide involontaire, où Roman et Shiv font des vannes en mode « Ah, est-ce que tu penses qu'il a encore arrêté de manger ?» Et en fait ils ont tous des trucs de trouble du comportement alimentaire, ce qui va avec... évidemment une relation de contrôle extrêmement forte de leur daron, et c'est en fait il y a un thème hyper intéressant de la bouffe dans Succession, et de manger c'est perdre généralement. Il y a plein de scènes où l'exemple le plus frappant c'est quand ils sont en Norvège.
Ah, j'allais dire Boron de Flore, mais j'avais la saucisse en tête, mais
là ils sont un peu obligés. Mais tu sais, quand ils sont en Norvège chez les Suédois, du coup à la retraite de Gojo, il y a ce buffet, ce brunch pour Hugo, oui. Tom, Carl, etc.
C'est Hugo qui s'en fout plein la panse,
et
là.
C'est Hugo qui emmène à plein son assiette. Et Tom, il leur dit, ah, vous êtes fait avoir. Il vous engraisse pour l'abattage. Et en fait, dans Succession, c'est un thème hyper récurrent de, quand tu consommes de la bouffe, t'es en infériorité et t'es mal jugé par les autres parce que c'est un plaisir organique et simple et prolétaire.
Et
j'imagine.
Tu vois, ouais, pour moi, il y a aussi ce truc de se gaver, c'est-à-dire de, tu
oui,
sais, de mettre plein son assiette, d'avoir un buffet. C'est un peu c'est toujours intéressant de voir. En fait, tu peux très bien passer au buffet et te dire, ok, je vais prendre un truc ou deux. Et en fait, je reviendrai parce que t'as pas peur de manquer. Parce que pour moi, ça ramène aussi à la peur de manquer, de te dire, putain, faut que j'en prenne maintenant parce qu'après il n'y en aura plus. Alors que ça, c'est vraiment un truc de prol et de pauvre, hein, quoi. Là, voilà. Il faut que j'accumule le plus possible.
Je sais pas si ça va rester.
Voilà. Alors qu'en fait, dans des familles riches et aisées, en fait, tu sais qu'il y aura toujours. Donc, y a pas de problème. Tu pourras revenir, éventuellement.
Oui, et même, il gâche beaucoup. On avait parlé de Roman qui met son doigt dans un pot de caviar, et qui s'en va.
Ou alors quand ils sont dans leur maison de campagne, là, et qu'il y a un putain de putois ou
un rat laveur.
La cheminée et
peut-être le ramoneur a mis exprès. Y a
sans aucun doute.
Parce
oui.
Que peut-être Logan était un connard.
Oui. Sans aucun doute. Et qui vire toute la bouffe, là. Il y a des homards, il y a des machins. C'est.
Boustine et tout. Voilà. Pour commander des pizzas auxquelles il ne touche pas.
Bah, bien sûr.
Et un dernier exemple de power move autour de la bouffe et de la boisson, c'est à la fin de la saison 3 quand Logan emmène Roman avec lui voir Mattson sur son île au lac de Côme pendant le mariage, donc à la toute fin, pour renégocier. Donc à la base, ça devait être Gojo achète... Waystar achète Gojo. Mmh. Et là, ça devient maybe Gojo achète Waystar. Et c'est la scène où Logan finit par sortir Roman et lui dire « Toi, tu rentres, on va finir par parler et par changer la négo, du coup. » quand ils arrivent, Logan et Roman arrivent en bateau.
Le café.
Madson, il est sur son château, sur son île, et t'as une personne du personnel de maison qui arrive avec 3 cafés. Et Logan et Madson, ils refusent, et Roman, il prend un café. Et j'étais là, ah non, bâtard, t'aurais pas dû prendre le café. Vraiment, read the room. Si les gens ne prennent pas de café, t'es juste le seul connard avec ta petite soucoupe et ta petite tasse.
Et galère derrière, en plus, elle est à courir après et tout, alors qu'ils sont en train d'avancer, il a déjà perdu, quoi. Perdu, entre guillemets.
Tellement de thèmes dans cette série, vous m'étonnez qu'on en fait des débriefs très longs à chaque épisode. Après cette intro de Roman qui répète son discours qu'on a hâte de voir en vrai, finalement, il est interrompu par un coup de fil de Kendall qui est un petit peu frileux sur les trucs nazis. Qui l'eût cru ?
Mais c'est là qu'on voit.
Le nazi élu est nazi.
Bah, oui, c'est là qu'on voit tout de suite. Alors, on a du mal à comprendre au départ, mais en fait, on voit du monde dans la rue, on voit de l'agitation, on comprend pas trop ce qui se passe, mais on se doute qu'il se passe des trucs, quoi. Et si je me trompe pas, il y a un mec qui file un bidon d'essence à un autre mec, là, vraiment dans cette séquence-là. Ou alors peut-être c'est pas ça, hein, mais je crois vraiment que j'ai vu ça. Je me suis dit, ok, donc c'est chaud.
Mais ils disent que, alors pas à New York, mais à un moment, ils disent qu'il y a des feux à Baltimore et tout. Enfin, en vrai, ça, il y a plusieurs occurrences de c'est chaud, allez pas par là, tel quartier est bloqué. Donc, moi, je pense que c'est chaud.
Il est là. Est-ce qu'on peut peut-être faire en sorte. Comment il lui dit, il dit est-ce que tu pourrais dire à Mencken de se calmer un peu, genre de calmer le jeu aujourd'hui?
Et Roman lui dit, don't be a pussy, quoi, sois pas. Je sais pas. Soit pas une petite frappe, finalement.
Voilà.
Et ça fait des audiences. Il lui dit, est-ce que t'aimes pas, est-ce que t'adores pas ces chiffres? Parce que lui, il est en mode les audiences, le discours. Roman the Showman, light up the sky. Mais c'est intéressant que l'épisode nous note dès le début que Kendall est pas hyper à l'aise avec les conséquences de faire élire, en tout cas déclarer Mencken vainqueur. Il n'est pas encore élu, mais il a l'air d'être bien dans son rôle. Parce que ça va très évidemment être un thème directement avec le coup de fil de Rava à Kendall qui lui dit, écoute, bof serein.
Oui.
On sera pas là.
Nous, on se
tire. À l'enterrement, on quitte la ville, on se met au vert pour le week-end finalement.
Allez, ciao.
Not on Kendall Roy's watch.
Ouais.
Et en même temps, expert parentalité, maternité, que penses-tu?
Je suis très mitigé, hein. C'est que, en fait, à la fois, effectivement, Kendall lui dit, non, mais en fait, t'es tout le temps sur Internet. Genre, t'es complètement hors sol.
Terminally online. Source Kendall Roy. Kendall fucking Roy.
Et en même temps.
Il joue à good tweet, bad tweet sur lui-même.
Oui. Et en même temps, jusque-là, effectivement, en fait, il se passe rien, tu vois.
Mais tu viens de dire, il y a 2 gars qui se passent des bidons d'essence.
Ouais.
Il y a déjà des manifs dans la rue.
Ouais. Mais en fait, vis-à-vis, en tant que parent.
Il y a des feux à Baltimore.
En tant que parent vis-à-vis de tes enfants, tu vois, il y a un moment donné où faut que tu saches aussi mesurer le danger, quoi, tu vois, parce que.
Oui, mais là, les infos évoquent qu'il y a des. Enfin, je sais plus si c'est les infos ou quelqu'un dans l'épisode qui le dit, qu'il y a des manifs devant ATN et qu'il y a des manifs prévus devant l'église de l'enterrement. Donc en vrai, t'emmènes ta gamine là où ça va craindre.
Oui,
tu vois.
Mais finalement, il n'y en a pas.
Bah, quand ils arrivent, il y en a. Mais,
oui, mais
c'est juste qu'ils les esquivent. Oui, mais enfin, le risque, c'est pas. On est juste à New York et on va au McDo, tu vois. C'est, on va là où probablement les gens énervés
risquent toujours
d'être énervés contre cet endroit spécifique où
j'ai
on va
toujours
emmener notre fille, quoi.
J'entends. J'ai toujours un truc avec la peur et la peur que tu projettes à un moment donné et la peur que tu transmets aussi à tes enfants. Parce que c'est la peur de Sophie. À la base, on a bien compris que c'est plutôt elle qui est en train, ces derniers jours-là, de virer peut-être un peu parano aussi pour plein de bonnes raisons. Et on comprend en fait qu'elle soit... On sait toujours pas pourquoi elle est racisée, cette gamine.
Oui, bah,
voilà. Il y a une histoire, mais on sait pas. Voilà.
Visiblement, ça n'intéresse pas Kendall, donc on sait pas quoi.
Oui, c'est clair. Mais en revanche, après, je comprends que Kendall soit saoulé, parce qu'il se dit, oh, non, mais en fait, j'aurais bien aimé avoir mes enfants à l'enterrement de mon daron, quoi. Et d'un autre côté, les gamins ont pas du tout envie. Ils toquent, à un moment donné, et les gars n'ouvrent pas, quoi. C'est-à-dire que c'est terrible, ça.
C'est le signe.
Bah oui, c'est que c'est pas juste Rava qui veut leur enlever.
Oui.
C'est que les mômes, bah, ils sont grands en plus, tu vois. Donc ils sont suffisamment grands pour venir dire non, mais en vrai, nous, on a notre choix et on a notre libre arbitre. En tout cas, une forme de libre arbitre.
Aller à l'enterrement de leur grand-père, le mec qui a cogné le gamin, parce qu'en fait, il a cogné le fils de Kendall et c'était pas forcément la première fois.
Ceci est vrai.
Le mec qu'ils ont pas vu depuis des années, a priori.
Le mec qui a filé pour faire goûteur.
De la mozza peut-être empoisonnée, mais pas vraiment, au fils de Kendall. Enfin,
oui, j'avoue.
Il y a aussi ça, c'est que c'est pas... Oui, non, mais ils adoraient leur grand-père.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, Kendall, tout non, ce qu'il dit, c'est...
Je parle de Kendall. Tu vois, moi, je parle de Kendall vis-à-vis de son propre père et vis-à-vis
non,
de ses enfants. Tu vois,
en vrai, c'est chaud.
J'entends bien que les gamins, ils ont...
Tu vas avoir tes enfants à l'enterrement de ton père.
Voilà.
J'entends. Mais il vrit comme toujours, nous dit Abby Présent sur le chat.
C'est ça. C'est-à-dire que... Et encore, il vrille pas tant, parce que moi, je pensais vraiment qu'il allait se mettre devant la voiture et qu'il allait partir.
I will ride down in front of your car.
Je pensais vraiment qu'il allait le faire. Et finalement, il est là, moi...
Sur le capot, tu sais.
Ouais, je pensais vraiment qu'il allait se foutre sur le capot, moi, qu'il allait faire « Non, tu pars pas !» comme dans les films, quoi, tu vois. « Je suis interdit de partir !» et de se foutre devant. Finalement, il lâche le morceau assez vite, quoi,
parce
tu vois.
En vrai, il s'en fout, parce que c'est un power
ouais,
move.
C'est vrai.
Et parce que, ça, on va en parler, c'est une des scènes qui arrive, mais son power move, c'est « Ok, je vais me battre, je vais récupérer la garde. » Ce qui est littéralement Logan Roy, en fait. C'est ce qu'il oui. fait avec ses enfants à lui, et on sait comment ça a fini. Du coup, moi, j'étais pas étonnée que, en fait, enfin... C'est juste un symbole, il s'en fout fondamentalement de ses enfants.
Oui, c'est sûr.
Tu vois, il veut juste pas se faire rouler dessus par Rava et avoir raison et avoir le symbole de « regarder, j'ai ma famille autour de moi » alors que c'est ta mich-mich nous dit « mais de toute façon, c'est qui Logan pour eux ? C'est qui Kendall pour eux ? Ils les ont pas vus depuis ?» Franchement, bye, bah c'est ça, tu vois, c'est que pour lui, c'est important, pour les gamins...
Souvenons-nous, il y a quand même une séquence où il est en train de lire un livre à la...
Juste,
Logan lit un livre à Iverson, c'est ça, juste avant,
bah
juste après la...
Kendall s'est petit suicidé, mais en fait, non, dans la piscine.
Petit suicidé, oui.
Souris.
Ah là là, et c'est l'un des rares moments où on le voit... avoir une tentative de partage avec ses petits-enfants, en fait, tu vois, et...
Oui, mais il lui lit un livre qu'il aime bien, et le premier truc qu'il lui dit, c'était pas un peu vieux pour ça?
Ouais.
Enfin, c'est le critiquer, tu
oui.
vois, et je suis là...
Oui, je suis d'accord.
C'est vraiment ton grand-père connard que t'as vu quatre fois dans ta vie. Ouais, t'as pas envie d'aller à son
ouais.
enterrement au milieu de New York en manif.
Oui.
Chez, littéralement, genre, le patron de CNews, tu vois, enfin...
Ouais.
Non, t'es là, non, ah. vas-y, on va à la campagne ce week-end, je comprends Rava, désolé, hein.
Oui, oui,
je comprends. Enfin, je comprends le truc fondamental de Ken, ça le fait chier que ses enfants soient pas à l'enterrement de son père et de leur grand-père. J'entends. Et je suis là, bah, guess what, si tu voulais qu'ils soient là, t'avais qu'à t'en occuper. Éventuellement, et créer une relation avec toi,
oui,
à
sûr.
Défaut d'avec leur grand-père, pour qu'ils te soutiennent, toi, dans la perte de ton père et dans l'enterrement de ton père.
Ça vient dans la droite ligne de ce moment qu'ils ont dans l'épisode précédent avec Shiv, où il lui dit je suis un père de merde, machin, et en gros le venin s'est transmis, où on voit qu'en fait le venin va continuer à se transmettre, et que effectivement Rava a sans doute aussi un move de vouloir protéger ses gamins du venin, et les gamins eux-mêmes, on a bien la sensation que ils sont très à l'aise avec l'idée de se protéger du venin et de ne surtout pas ouvrir cette porte, quoi.
Oui, parce
voiture.
Qu'il n'y a aucun moment où Sophie ou Iverson essayent d'interagir avec leur père dans toute cette saison. Et alors, une des questions que je me suis posée...
Ah si, on a vu Sophie quand même dans le dernier épisode, parce que j'avais dit, on les a même pas vus.
On l'a vu
quand ils sont suivis par...
Oui, il dit embrasse-la, tu vois, il dit même pas passe-la à moi, enfin, c'est... Voilà. Une des questions que je me suis posée devant cette scène, parce que je suis la personne que je suis, c'est est-ce qu'il y avait des... Qui y a dans la voiture? Genre, fondamentalement, il y a personne dans la voiture, parce qu'on voit Kendall essayer de l'ouvrir, mais elle est vite teintée et tout, et je suis là. Dans 120% des tournages, ce qui se passe, c'est qu'il y a personne dans la voiture, parce qu'il n'y a pas besoin. Évidemment, il y avait les acteurs qui jouent Sophie Iverson dans la voiture, puisque l'actrice qui joue Sophie a posté un tweet où c'est un selfie de deux avec marqué genre « Mommy's taking us upstate »,« Crazy day in New York
», »,«
Hashtag AVN »,« Hashtag Kendall Kids » ou un truc comme ça. Donc, et je suis là, bah, en fait, Jeremy Strong, il est tellement à fond méthode acting, mon cul,
ouais.
tu vois. Alors, soit, ça, c'est possible qu'ils aient tourné des scènes avec les gamins et qu'ils les aient coupées, parce qu'ils font beaucoup ça. Mais c'est aussi possible que juste, ils savaient qu'on les verrait jamais à l'écran, mais... Ça marche mieux s'ils sont vraiment derrière la vitre.
Je suis d'accord.
Parce que la personne est intense.
Et là où on peut dire que Logan a, que Kendall a mieux réussi que son père, c'est que, effectivement, comme le dit Caracol, au moins les enfants de Kendall ont leur mère qui se bat pour eux. C'est-à-dire que Kendall a quand même trouvé une mère qui, est une maman et qui prend soin de ses enfants.
Il a pas choisi la pire meuf comme Caroline.
Il a un peu update, quoi. Il a un peu upgrade, pardon, par rapport.
Ah, tu vois, c'est le cycle, il se répète pas à 100%,
oui.
mais on n'est pas encore dans une majorité de pourcents. Et Kendall, au final, ses fréquentations qu'on connaît de quand il était jeune, il y a Rava, il y a Stewie et il y a Nate. Franchement, c'est pas les pires personnes.
Oui.
Il a pas si mal choisi son entourage. Après, malheureusement, son entourage, ça reste son daron et sa famille, et ça n'a pas aidé. Je pense qu'il faut qu'on mentionne quand même, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, à quel point le move de Kendall, de « je vais m'allonger devant ta caisse, je vais aller... » immédiatement au tribunal demander un ordre de... Enfin, un mandat contre toi pour pas que tu puisses les enlever. C'est un peu un textbook violence conjugale aussi, post-séparation.
Un move de mascu à la con,
de
là.
De récupérer les enfants et d'utiliser les enfants ou la garde des enfants comme levier pour faire du mal à l'autre. C'est quand même un... En fait, c'est pas juste Kendall qui vrille parce que son daron il est mort ou parce que c'est Kendall. C'est un truc qui arrive beaucoup et c'est très genré comme façon de réagir. Donc c'est un moment masculin, en fait on peut le voir comme un mec ridicule qui est là en mode je vais m'allonger devant ta caisse, mais en vrai ça arrive beaucoup et c'est pas fun d'avoir le père de tes enfants qui menace de suicider s'il a pas le droit de les voir alors qu'il s'en occupe pas ou mal. Ça arrive beaucoup et je trouve que c'est pas anodin. On parle depuis toute cette saison de à quel point la misogynie se voit plus dans cette saison. On en reparlera évidemment avec deux scènes assez fortes de cet épisode, mais pour moi c'est aussi un jalon dans ce chemin-là.
Ouais, c'est vrai.
Qu'il agisse comme pas comme les mecs qui finissent par faire des féminicides aussi quoi. De si vous êtes à moi, vous êtes pas des
juste
personnes
après,
quoi.
Juste après avec Jess, on en reparlera.
Tout à fait. Il y a un rapide coup de fil entre Tom et Greg. On comprend que Tom est au bureau, sous l'eau. Qu'il a probablement
un coup de fil entre
demi.
Tom et Greg. Non, ils sont ensemble dans le bureau.
Ah oui, non, pardon, ils sont dans le bureau, oui. Et Greg lui dit, bah en fait, c'est l'enterrement. J'aimerais bien aller à l'enterrement. Et Tom, il est là, moi aussi, j'aimerais bien aller à l'enterrement. Qu'est-ce que t'as pensé de leur, qu'est-ce que tu penses de leur dynamique en début d'épisode et de Tom qui est là au bureau après quand même ces moments avec Shiv horribles et variés et cette élection et tout, et il est là, bah il est au taf. En fait.
Il est au taf et en fait il est au turbin. C'est-à-dire qu'il est là pour servir. Il le dit depuis le début de la saison. Il est là pour servir, donc en fait il sert.
Et là du coup, qui est-ce qui sert? C'est ça, c'est qu'il a. Il a plus de chef entre guillemets ou de. Il est serviteur de qui, tu vois?
Bah là pour moi il fait le taf. C'est-à-dire que juste il est en train de travailler pour faire en sorte de garder sa place.
Yes, parce qu'il sait que toutes les rumeurs à la soirée, c'était le mec va se faire virer fort et ça lui a pas trop plu.
Non.
Ok, donc oui, je le vois pareil que toi. En fait, il sait pas quoi faire d'autre et il charbonne. Et je trouve que ça dit des choses sur lui. Il sait ce que ça fait d'avoir peur de perdre un job, tu vois. Lui, il sait que s'il est plus chez Waystar et qu'il est plus marié à Shiv, ce qui a l'air d'être quand même pas hyper bien parti pour eux, bah il repart au Minnesota et...
T'as pas envie d'aller dans le Minnesota?
Non, je pense que quand t'en es sorti, c'est un peu comme Valence dans la Drôme. En fait, t'y reviens pour le week-end, t'y reviens pas pour toujours. Tu as déjà fait le tour. Et on a il regarde le New York Times, qui apparemment a sorti une
timeline. T'as capté que c'était le New York Times?
Je l'ai entendu dans un podcast où il parlait. Alors j'ai capté que c'était un gros média, mais ils disent pas ce que c'est. Mais il regarde un magazine où il y a la timeline officieuse de qu'est-ce qui a mené à cette décision chez ATN, donc c'est un sujet, a priori c'est le Times selon la maquette et tout, et il est vexé parce qu'il n'est pas trop mentionné.
Il n'est pas trop mentionné, et en même temps, ça l'arrange un peu quand même, hein. Donc il est un peu entre deux quoi. J'ai genre, ok c'est bien aussi parce qu'il n'y a pas tant que ça, en revanche Darwin il a un gros truc sur lui, donc tu vois il y a à la fois ce truc d'ego de putain mais en fait j'y suis pas, et en même temps c'est bien aussi si j'y suis pas trop quoi.
Ouais, mais parce qu'il a le cul entre deux chaises, en fait, ça dépend qui gagne, tu vois, il faut... Si c'est Menken qui gagne, il faut qu'il sache à quel point j'étais dans sa team. Si c'est pas Menken qui gagne, c'est une décision collective là, Mif, ok. Je suis juste un exécutant. Du coup, il est content d'être dans le Times, mais pas content parce que c'est pour parler de comment il a fait peut-être élire un nazi. Et il est pas content de pas assez y être, mais il veut pas plus y être. Enfin, c'est une ambivalence très compliquée. Mais par contre, il insiste auprès de Greg pour dire, tu dis bien, tu vas à l'enterrement et tu dis bien à tout le monde que c'était moi le...
Qui ai fait the call.
Ouais. Et il dit,
et tu dis à Menken,
quitte à faire tout le taf, autant avoir ta propre datcha. Ou un truc genre, quitte à ouvrir le goulag, autant avoir ta propre datcha. Putain. Tu vois, il est vraiment très assumé sur, en fait, si j'ai mis les nazis au pouvoir, j'aimerais bien avoir, genre gagner quelque chose.
Bah oui.
Et pas perdre mon job.
Un petit bout du trésor.
Et me faire sortir, quoi. Ta pire personne nous rappelle, il est fatigué aussi.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais oui, il est très fatigué.
Et n'oublions pas qu'il est Wheelerman du cercueil,
oui. Alors, je pensais que c'était le porter sur l'épaule, mais a priori, parce que j'avais très peur de, est-ce qu'ils vont faire tomber le cercueil? Genre, c'est succession.
Ah ouais?
Je sais jamais, c'est succession, genre. Non. Est-ce que je pensais que Roman Roy allait envoyer une dick pic à son père au milieu d'une réunion?
Oui, j'avoue.
Bon, c'est arrivé quand même.
J'avoue.
Ce n'est pas arrivé, mais en effet, il a un rôle important.
Oui.
Il est un des accompagnateurs porteurs du cercueil.
C'est important de le dire parce que ce fameux rôle de Wheelerman, parce que Tom va travailler, il sera pas là à l'enterrement, va amener des négos.
Ah bah. Non. Yes. Et donc j'ai évidemment été voir sur Reddit, les gens ont screené ce faux article du New York Times, très bien maquetté, et on apprend deux trois trucs. Et mon truc préféré qu'on apprend, c'est que du coup, l'accident du wasabi dans les yeux est canoniquement inscrit dans le New York Times, puisque dans le portrait Darwin et dans la timeline, il y a marqué « Il subit une blessure critique aux yeux, ce qui va avoir une influence sur le reste de la soirée. » Et il dit comme quoi c'est cette blessure qui l'a empêché de réfléchir clairement. Il dit qu'il pense à démissionner, qu'il se sent hyper mal et tout, mais du coup, le wasabi est dans le New York Times.
Il me fatigue.
Ravi. Ensuite, puisque Kendall ne s'est pas allongée devant la voiture de Rava et qu'elle a donc pu partir comme une personne normale, il monte en voiture avec Shiv et Roman pour aller à l'enterrement du daron puisqu'il covoite. C'est bien. C'est écologique.
Oui.
La planète les remercie. Oui. Ça compense probablement leur
Rolls.
Privée.
Rolls.
Oui. Ouais, on n'est pas des bêtes. On va payer leur Uber quand même.
Quel nous.
Et du coup, est-ce que c'est pas le bon moment d'annoncer à ces deux frères qu'on est enceinte?
Mais c'est vraiment, elle choisit systématiquement les pires timings, Shiv. C'est-à-dire que vraiment.
C'est pas les meilleurs. Et en même temps.
Après, tu vas encore me dire que je critique tout le temps Shiv.
Non, mais en vrai, elle dit, je vais le dire à maman aujourd'hui qu'elle voit jamais, tu vois. Donc je pense qu'il faut vous le dire avant, ce qui est pas faux. Et. Quel moment elle avait d'autre pour leur dire, tu vois, genre, entre la veille où Kendall lui a dit « You piece of fucking dirt » et ce matin où c'est l'enterrement du daron, tu vois, genre, ils ont pas de...
Peut-être plutôt
ils se font un brunch.
Peut-être plutôt dans la série, j'en sais rien.
Ah oui, comme ça, ils auraient pu la sortir de la business plan encore plus vite parce qu'ils sont misogynes, enfin... Face, elle perd et puis il gagne, tu vois, c'est... On peut rien faire quand on est chivreuil, bref.
Oh là là.
Je suis d'accord avec toi que c'est pas un bon moment. Et qui en avaient sûrement des moins pires dans leur mois passé à Dubaï à préparer The 100. Mais je pense aussi que si à Dubaï, elle leur dit « je suis enceinte », elle n'est pas dans The 100 et elle n'est pas dans Pierce. Et elle est juste genre gentiment écartée, mais inconsciemment. Hein.
En fait,
mais c'est pas pour ça, t'inquiète.
En fait, pour moi, c'est oublier l'état d'esprit dans lequel ils étaient au tout début de la saison. Où vraiment, ils étaient vraiment genre cul et chemise de « ok, en fait, on est tous les trois ligués contre papa ». Et en gros, si elle était venue en disant « alors les gars, il y a un dos, mais c'est compliqué pour moi et tout. Déjà, je suis sûr que Roman, il prend beaucoup mieux l'annonce. Parce que là, vraiment, il s'en bat les
couilles. Pas été extrêmement misogyne immédiatement. Genre, c'est Roman fucking Roy.
Mais alors, peut-être que je me trompe et peut-être que j'idéalise, mais pour moi, Roman, au début de la saison, il est ultra cool. Et il est ultra cool avec Shiv et il est ultra cool avec Ken. Et ils sont, et en fait, Ken, d'une manière générale, jusqu'à cet épisode-là, il les protège, tu vois, il est vraiment dans ce rôle de protecteur. Et en fait, pour moi, elle attend le moment où vraiment leur relation est en train de se dégrader et que effectivement
peut-être
là maintenant
ils l'ont sorti du bail. Oui,
je sais. Oui, enfin, mais je dis pas le contraire.
Je pense.
Je dis juste que pour moi, c'était un dos qu'elle aurait dû partager peut-être avec ses frères plus tôt dans la saison. Même début de saison, voire même avant le début de la saison, c'est-à-dire que, genre, épisode 1, on apprend qu'elle est enceinte, en fait, elle va le sortir à ses frangins, et en fait,
la... Vu le monde dans lequel elle a vécu.
Non, mais je sais. Mais,
comment tu veux qu'elle croit
je vois
pas
bien.
Que ça va la... Et en vrai,
je pense que le raconte.
Les Roms auraient fait la merde avec elle.
Okay.
Genre, je pense vraiment qu'il, sans même s'en rendre compte, il la considère déjà comme, ouais, ok, mais c'est une meuf. Et il l'aurait considéré comme, ouais, ok, mais c'est une meuf enceinte, tu vois, c'est une daronne, genre. Inconsciemment, tu vois. Elle a pas ce qu'il faut.
Je te suis là-dessus. Je suis très d'accord avec toi.
Qu'est-ce qu'on pense des punchlines de Roman?
Non, mais...
À cette annonce.
Bah donc déjà, il lui demande...
Est-ce que c'est le mien? C'est ma vanne préf de tout l'épisode. Vraiment genre... Mais... I'm pregnant. Is it mine?
Je crois même que c'est pas loin d'être ma vanne préf de toute la série.
Ouais.
C'est tellement fucké, ça en dit tellement long sur leur rapport.
En vrai, si c'était pas ultra bizarre entre eux, je suis là, c'est une excellente vanne.
Oui, bien
genre,
sûr.
Si demain j'annonce à mes sœurs que je suis enceinte et qu'elles me disent, oh my god, est-ce que c'est le mien? Même si c'est mes sœurs, je serais là, c'est trop une bonne vanne.
Très bonne vanne. Franchement, très bonne
et
vanne.
Même c'est Roman, t'es là, bonne vanne, mais.
Et puis juste après, il lui dit, je te préviens, si je te vois à l'été, en public.
Je vais être obligé de me branler.
Je vais être obligé.
Et là, c'est non. Là, par contre, c'est non. Hein.
Bah,
autant la première, je suis la bonne vanne. Autant ça.
Bah,
mais si une de mes sœurs me dit ça, je serais pas en mode.
Oui.
Ah, c'est hyper.
Mais ça reste une bonne vanne parce que c'est un peu le. C'est une vanne filée de. Enfin, voilà quoi. Bien sûr que c'est ultra chelou, les gens. Mais en même temps.
Non, mais oui, c'est ultra chelou.
C'est tellement drôle. Enfin, moi. Oui. Tu vois, c'est une vanne que. Même t'imagines pas Louis C.K. faire.
Ouais, non, c'est une vanne risquée, mais seule succession peut nous offrir ce genre de dialogue et ce genre de moment.
Et désolé, mais il y en a pas beaucoup des moments où tu ris, même si c'est cringe, j'entends bien. Mais en fait, dans cet épisode en particulier, il y a pas de moment où tu ris. Dans cette saison, il y a pas beaucoup de moments où tu ris. Donc
non, donc heureusement, il y a les déviations sexuelles de Roman et les vannes targaryennes, effectivement, comme disent Mute sur le chat, pour nous garder à flot quand même et qu'on soit pas là avec un Xanax tous les lundis matin quand on regarde Succession.
Ouais.
Louis C.K. c'est un connard aussi, alors pourquoi pas? Oui, non, c'est pas la question de est-ce que c'est un connard ou pas. C'est plus, il a un humour provoque, on va
caustique.
Dire. Il fait des vannes qu'on n'entend pas partout, en plus d'être pas une très bonne personne. Et je sais pas s'il aurait osé, en effet, dans un de ses spectacles, trop hâte que ma sœur accouche parce que la voir, ça l'était, enfin, elle était en public, ça m'excite, tu vois, c'est genre. Oui. On est sur un niveau targaryen de la vanne.
J'imagine. Autant il a fait plein de vannes sur son rôle de père et sur qui il est lui en tant que mec, et en fait il creuse un peu le côté obscur. Alors effectivement, j'entends bien, c'est compliqué de parler de Louis C.K. en 2023, mais
bah, Tammy Schmich dit Louis C.K. c'est comme Roman, depuis il ne me fait plus du tout rire, parce que Tammy Schmich dit un peu au-dessus. J'ai pas du tout trouvé ça drôle maintenant que je sais que Roman c'est un vrai connard, ça m'a ultra dague. Et il y a ce truc aussi de quand t'es dans ce truc de c'est plus des blagues,
oui,
c'est plus dur de
oui.
Mais nous, on a trouvé ça marrant quand
même. Bah oui, parce qu'en fait, pour moi, en fait, ce qui est moins drôle, c'est les blagues sur les Noirs et les Juifs, qui fait d'ailleurs dans l'épisode de façon très explicite, où tu comprends, je me rends pas compte à quel point son côté fasciste fait de lui aussi potentiellement un frère incestueux, quoi, tu vois.
Ah oui, non, je pense pas qu'il ait un désir lien sexuel envers Shiv. Je pense pas qu'il y a un truc incestueux entre eux. Je pense juste que Roman est fucked up à plein de niveaux.
Oui.
Et que il... Mais c'est aussi une... Je trouve aussi qu'il sexualise beaucoup. Enfin, il a un rapport misogyne aux femmes, et du coup, sexualiser Shiv, surtout à ce moment-là, c'est pas anodin, tu vois. Il lui a pas, par exemple, genre Kendall, il est gêné parce qu'il ose pas demander si c'est l'enfant de Tom, et c'est littéralement la question de tout le monde, tu vois.
Bien
quand
sûr.
Roman il demande Is it mine, je me suis dit c'est une trop bonne vanne, et c'est aussi une trop bonne façon d'amener la question sans poser la question. Mmh. Tu sais que tu peux pas demander à une femme qui te dit je suis enceinte, Nenoki, parce qu'en plus elle est encore officiellement mariée à Tom et tout, mais la question peut se poser parce qu'ils sont séparés, parce qu'ils sont en instance de divorce,
c'est
parce qu'ils savent pas depuis combien de temps elle est enceinte non plus, donc ça peut être genre, ça fait 3 semaines, tu vois, on sait pas. Donc Kendall, il est gêné, mais il fait pas des vieilles vannes éclatées
comme
Roman, mais personne lui dit bravo, personne lui dit félicitations, personne lui dit est-ce que t'es contente, personne lui dit comment tu le vis, c'est juste genre...
C'est vraiment... C'est en ça, tu vois, où on voit vraiment la... l'évolution de leur relation depuis le début de la saison, ou au début de la saison, en tout cas, ils faisaient en sorte de faire attention, de faire semblant peut-être de prendre soin d'eux, mais en même temps, non, enfin, moi, j'avais vraiment la sensation qu'ils essayaient de prendre soin de l'un de l'autre.
Mais ils essayaient, mais encore une fois, ils savaient pas comment aimer.
Contre Logan,
contre
Logan, parce que c'était ça aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt en union contre Logan, donc, vas-y, viens, on prend soin l'un
ça
de l'autre.
Nous lie.
Voilà, ça nous lie ensemble, là où maintenant le daron n'est plus là. Effectivement, c'est plus compliqué et, mais ils sont nuls entre eux, en fait. C'est vraiment dramatique comme ils sont incapables de juste se montrer un peu de bienveillance et un peu de sympathie et un peu de...
d'humanité, quoi. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Et d'ailleurs, quand Shiv et Roman s'embrouillent parce qu'il est dégueulasse avec elle, dans la voiture, Kendall, il dit « Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est sympa ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est la journée funéraille et qu'on fait une trêve funéraire et qu'aujourd'hui, it's all about today ?» Ce qui est un peu ce qui s'était dit quand ils ont promis d'être... PDG à 3, mais en fait, Shiv, t'inquiète, t'es pas sur le papier, mais t'inquiète, t'es là. Ils se sont dit, on le jure sur le jour où notre père est mort. Et on a vécu un vrai truc, genre, c'était vrai, et là, c'est pareil, c'est vrai, c'est sincère. Et ils essayent, et en fait, ça a marché que le jour où leur père est mort.
Bah oui.
Et là, ils ont essayé de le refaire. Kendall, il a immédiatement trahi Roman et Shiv dans littéralement les 20 minutes qui ont suivi. Et là, bah, ils se disent, vas-y, on met ça de côté pour aujourd'hui, le jour des funérailles. Et alors, pour le coup, ça va pas trop s'embrouiller, frontalement, entre gamins, parce qu'ils ont d'autres choses à gérer, mais ça va quand même se planter des couteaux dans le dos, pendant tout l'épisode, quoi.
Oui.
Ils sont plus capables, je pense, de faire la paix parce que, ils ont plus d'ennemis communs et ils ont pas assez évolué pour se rendre compte que ils peuvent juste être leur propre personne pour aucune raison. Juste parce que c'est cool. Ils arrivent à l'église où il va y avoir du coup la cérémonie et ils arrivent. Il y a Jess qui les appelle en disant ouais, le quartier il est bloqué, faut passer par un autre chemin, je vous drop ma localisation. Et ils ont quand même des manifestants qui tapent sur la voiture. Okay, donc il y a ce petit moment anxiogène. Et j'avoue, moi j'avais pas vu du tout la bande annonce ni rien donc je savais pas. Et je me suis dit, si ça se trouve, genre limite l'épisode de l'enterrement, il n'y a pas d'enterrement parce qu'ils sont dans le chaos de ce qu'ils ont créé en faisant lire Mannequin et peut-être qu'ils vont être coincés par la manif. Et limite, je me suis dit, imagine tout l'épisode, c'est un huis clos dans la bagnole. Je me suis auto-émise.
Ah oui.
Pas du tout. Mais c'était quand même un super épisode.
Comme ce fameux moment où Ken est coincé dans les bouchons pendant le fameux conseil d'administration où il doit renverser son papa. MDR.
Et Roman, il lave un peu la main. Et Logan, il dit, j'espère que t'es en train de renifler ton aisselle, Romulus. Et il baisse la main si fort. Oh non.
Putain, c'est vrai.
Ou même l'épisode Safe Room où il y a une... menace potentiellement de terroriste à Étienne et du coup ils sont confinés. Enfin, je me suis dit peut-être, tu vois, ça va être différentes localisations. Les gens sont coincés parce que Manhattan est devenu impraticable. Bon, au final, non. Mais l'épisode nous rappelle quand même dès le début et très régulièrement que il y a des manifs, il y a des protestations dans les rues et tout. La retraite à 60 ans et la CGT sont présents et présentes.
Et d'ailleurs, on sait pas qui sont ces manifestants. On sait pas si c'est des manifestants
il y a une
de gauche.
Petite, au tout début, juste avant la répète de Roman, il y a une. Il y a le chat.
Le chat qui a planté ses griffes afin de rentrer.
Oui, viens là, maman.
Dans. Non, s'il te plaît. Ah, oh, putain, ok.
C'est bon. Mon chat a des bonnes griffes et parfois il oublie de les rentrer. C'est bon.
J'étais pas prêt.
Elle est partie maintenant.
C'est pas bon. Juste un ça petit n'est pas mon kink.
Et puis s'en va. Donc j'allais dire, dans le début de l'épisode, juste avant la répète de Roman, il y a une mini pastille où il y a Shiv qui regarde la télé et la télé dit qu'il y a des protestations contre Mengen.
C'est ATN qui dit que c'est les...
Non, parce que Shiv, elle regarde Pierce. Shiv, elle regarde jamais ATN.
Et alors ATN dit que c'est les... ATN dans le bureau de... Voilà, dans le bureau de... Voilà.
Donc on peut dire qu'il y a les deux camps qui s'affrontent, certes, mais que, en tout cas, les protestations ont été... généré par non seulement l'élection potentielle de Mencken, mais aussi par ce flou. Ce truc de aucun camp ne sait qui a raison, donc ça peut être monté en épingle et ça peut déraper vite, ce qui est un des sujets de l'épisode précédent, de en fait c'est risqué ce qu'on est en train de faire, quoi. Ça peut mettre le feu aux poudres. Speaking of l'élection de Mencken, Jess attend Kendall et il lui dit « Écoute, tu me mets un rendez-vous dans mon agenda en début de semaine avec un avocat spécialisé en divorce et en garde d'enfants parce que je veux la garde. » Déjà, c'est quel niveau de move de connard de faire ça? De ses enfants qu'il n'a pas vus depuis au moins 6 mois. Et aussi, évidemment, en ouvrant son agenda, ce qui, je pense, ne fait pas très souvent lui-même. Je pense que c'est plutôt Jess qui lui rappelle ce qu'il a à faire. Il se rend compte que, tiens, j'ai un one-to-one avec Jess mardi, c'est quoi?
Que j'ai.
Et il décide de pas lâcher l'affaire.
Bah oui. Parce que, en fait, plutôt que de juste laisser aller... il cherche à savoir à tout prix et en fait elle lui dit non, t'inquiète, elle essaie de noyer le poisson parce qu'elle se dit est-ce que c'est vraiment le bon moment, non,
oui, elle sait ce qu'elle veut lui dire et elle voilà. Est là, oh,
vas-y, on verra ça au moment venu, pas le jour de l'anniversaire de l'enterrement de la mort de papa et tout, tu vois, et en fait il finit par lui faire cracher le morceau. Où effectivement elle essaie de le dire de façon très diplomate.
Oui.
Voilà.
Elle dit que
il est temps.
Il l'a toujours soutenu dans ses ambitions et sa carrière et qu'il est temps pour elle de passer à autre chose. Et que voilà.
Et en fait, il est incapable de laisser aller Jess qui a on devine qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps parce que ils sont ensemble depuis le début de la saison, depuis le début de la série, non, si je me trompe pas.
Ouais, c'est un des personnages. Je crois qu'elle a apparu saison 1 épisode 2. Ouais. Elle est là since forever et il y a plein de scènes et de séquences où elle dit rien,
elle est tout le temps là.
Rien, mais
elle est dans le coin.
Tout le temps là, quoi.
Ouais, donc on se doute qu'ils ont une vraie relation ensemble, que on l'imagine beaucoup aidée sur plein de trucs parce que notamment sur son agenda, il regarde pas son agenda lui-même. Et
c'est elle qui l'appelle pour toutes ses requêtes impossibles. De trouve-moi le meilleur aeroplane heart doctor, le meilleur chirurgien cardiaque aéronautique quand son père il fait une attaque. C'est quand il faut diffuser la version finale entre guillemets de Calice Petron ou je sais pas quoi, là, le film éclaté de Waystar à la résidence en Norvège. Il l'appelle, il lui dit tu me sors la version du film pour demain. Et elle est là, ok, et elle le fait. Donc non seulement elle l'a aidé, mais c'est genre ça,
elle est compétente de ouf
c'est
et
magique, quoi. Elle l'a fait quasiment, quoi.
Et je comprends que lui se dise non, j'ai pas envie de te perdre parce que l'air de rien c'est cool de t'avoir à mes côtés. Il lui dit pas ça comme ça, bien sûr, parce que ça serait vachement cool d'ouvrir son cœur et d'être vulnérable et de dire tu sais en fait je sais pas trop ce qui t'inquiète, ce qui est compliqué pour toi et tout, mais peut-être on peut en discuter. Il décide juste de lui foutre la tête sous l'eau et de lui dire mais en fait tu trouveras jamais mieux ailleurs.
Il lui dit c'est bête, it's dumb, you're dumb. Donc il lui dit t'es bête, c'est une décision bête, tu trouveras jamais mieux ailleurs. Mais en vrai, le premier truc qu'il lui dit c'est est-ce que c'est par rapport à Mencken ?
Bien sûr. Parce que
pour moi, c'est à ça qu'elle sert cette scène avec Jess, c'est juste après Rava et juste après le coup de fil de Kendall à Roman qui lui dit est-ce qu'on peut pas calmer un peu le jeu sur le nazisme ? Tout cet épisode, c'est Ken qui est obligé d'être confronté aux conséquences de ce qu'il a fait dans l'épisode d'avant où en plus il était. Couille molle tout l'épisode, quoi.
Sauf les 3 dernières minutes.
Oui, et il a pris une décision impulsive parce que Shiv l'avait trahi et pas parce que c'est des convictions ou quoi que ce soit, quoi. Donc, et pas parce qu'il a réfléchi aux conséquences, y compris sur sa propre fille. Donc, pour moi, il se prend coup sur coup en plus de femmes importantes de sa vie qui lui disent je peux plus te côtoyer parce que t'es ce mec-là Et aucune des deux lui dit frontalement. Alors Rava lui dit un peu plus frontalement, mais quand il demande à Jess, est-ce que c'est à propos de Mannequin, elle fait, tu sais, ça fait un moment que je réfléchissais.
Oui, il est temps de faire autre chose.
Bon, donc elle, en plus, je pense qu'elle sait aussi qu'elle a aucun intérêt à l'énerver et à le confronter, et que de toute façon, il changera jamais. Et pour sa carrière à elle, t'as pas envie d'être blacklistée par Kendall Roy, tu vois. Donc en plus, elle est sympa. Mais pour moi, c'est ça, c'est que ça lui met la tête dans le seau de, t'es dans le camp du mal et c'est, enfin, t'es dans le mauvais camp. En fait, il y a un bon camp, il y a un mauvais camp et c'est pas facile à voir, mais c'est clair que t'es dans le mauvais. T'es avec les nazis, mec. C'est pas possible, tu vois.
Mais
les
si
gens
c'est facile à voir.
Ils sont avec toi depuis si longtemps, t'abandonnes.
Oui. Souviens-toi de tous les discours que t'as eu pendant 3 saisons où tu disais que toi t'étais en gros l'avenir et que t'allais amener.
New wave.
Exactement.
I am the wave, though.
Mais voilà, c'est une fois que papa est parti, en fait, t'as plutôt envie de surfer la vague du papa, quoi, tu vois, parce que c'est toujours ce que t'as voulu faire toute ta vie.
Oui, et parce que aussi, on en reparlera au moment du discours de Yuan, mais c'est aussi peut-être la voie facile de céder à ces pulsions de merde. Et d'ailleurs, en fait, il commence cet échange avec Jess avec une forme de, je sais pas, il est sympa, il est, bon, il est un peu insistant, mais...
Il cherche à savoir.
Pour avoir été manager, oui. Je peux entendre que un random one-on-one avec t'as N-1 sans savoir pourquoi, ça te fait un peu stresser. Oui. Et tu vois, quand il lui dit... En vrai, du coup, je m'imagine un peu des trucs, je suis là, t'es juste pas censé lui dire, c'est ton problème, t'es son chef et c'est normal. Que tu... Peut-être elle va démissionner, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Mais je comprends que ça te stresse. Mais le move de connard qu'il fait, c'est que donc il la force à lui dire. Et après, il lui dit, vraiment, tu me l'as dit aujourd'hui,
ouais, là,
le jour
vraiment...
des funérailles de mon père.
Ça, c'est vraiment le move...
Je mange mon micro.
De connard, vraiment infini, quoi. C'est... Comment tu peux faire ça? Mais bon, c'est un, je sais plus qui disait dans le chat, c'est un enfant de 5 ans en fait. C'est vraiment
oui, c'est
ça. C'est-à-dire
bébé,
que c'est vraiment une gestion émotionnelle au ras des pâquerettes, quoi.
Oui, il y a Grosso Merdo qui dit la scène est drôle. On voit venir le truc à 15 km, mais il est tellement déconnecté, il comprend pas comment on peut vouloir s'éloigner de lui. Ouais, je suis d'accord, clairement, il est un peu en mode nani. Et en même temps, je pense qu'il se, enfin, s'il lui demande direct est-ce que c'est Mannequin,
c'est dur.
Il se doute, quoi. Il voit
J'imagine que c'est dur pour lui de se rendre compte que ses actes
les
ont des
conséquences.
Que ses actes ont des conséquences.
Ouais, ouais, c'est plus
parce
ça.
Parce que l'air de rien, peut-être ça n'a pas été une leçon qu'il a prise beaucoup dans sa vie, quoi. Tu vois.
Tu peux pas juste jeter des liasses de billets sur les problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent et que les gens soient d'accord avec toi. Ça marche pas comme ça, l'existence. Ah non, déçu, moi qui en avais tant. Arrivé à l'église, et du coup, évidemment, comme des personnes normales qui enterrent leur daron, Roman et Kendall ont un petit moment de stratégie business puisqu'ils disent, bon, ok, a priori, Mannequin devrait bloquer le deal, mais c'est pas comme si c'était extrêmement clean, cette histoire de Mannequin, donc il faudrait quand même qu'on convainque un petit peu le board, etc., les actionnaires, en tout cas, que Madson, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et du coup, Roman se dit, je vais aller proposer un partenariat à Frank, mais c'est-à-dire, pas un partenariat avec Kendall et moi, un partenariat avec, tu sais, si jamais, je serais peut-être la seule cerise sur le gâteau, il dit. Pas ouais. One head, one crown. Et Frank le regarde et grogne. Et c'est tout.
Il se passe, c'est tellement marrant, cette interaction qui n'est pas une interaction d'ailleurs.
J'adore Franck, putain.
Qui est vraiment... ok.
Alors d'abord, Roman arrive en disant, je sais qu'on a une autre différence,
voilà,
mais...
toi et moi...
C'est une journée comme aujourd'hui, tu vois, ça...
Ce serait pas l'occasion de faire un peu la paix, naninana. Non.
Et vraiment, Franck, il lui répond avec ce ton-là, un truc du genre, ah oui, la vie est courte et c'est très important de s'aimer les uns les autres. Et sinon...
Bah,
et tu deviens pas Franck si t'es pas un peu savage en vrai, hein.
Ouais, mais surtout, en fait, on se souvient à quel point Roman lui a cassé les couilles quand ils ont travaillé ensemble, parce que Roman travaillait avec lui, si je me souviens bien, à Los Angeles, dans les studios,
ouais,
c'est ça?
Franck le chapeautait, Roman il aimait
et
pas ça.
Ça devait être un délire de se taper Roman au quotidien, hein, putain.
Oui, et saison 1, Franck se fait virer par Logan, et Roman il est ravi, et pas du tout
mais
ravi
c'est...
quand il se fait réintégrer. Donc,
mais c'est surtout Roman qui négocie le fait que Franck se fasse virer.
J'avais oublié. Ah, t'imagines, tu te fais virer pour ce petit bâtard de Roman.
Bah oui.
Ah, mais tu m'étonnes qu'il le déteste.
Mais bien sûr.
Ah, Yasmin qui dit Franck, il fait une Roy Kent à ce moment-là, c'est
ouais.
Vrai, parce qu'il fait que grogner. J'ai adoré ce moment. Mais pendant ce temps, Greg the Egg, qui est arrivé en Vélib, fait pour le coup un move très clair. Mais j'aime bien à quel point Greg est toujours très clair dans sa
vie,
tu vois. Il arrive, il est là, « Hey, Mannequin, tu peux me présenter ?» Et Roman, il fait « Bah, pas trop, enfin, non, parce que je t'aime pas. Par contre, va gérer ton papy et fais en sorte que s'il commence à chanter un hymne syndicaliste ou à sortir un drapeau, tu me le sors. » Il est si drôle, ce petit connard.
Oui.
Et Greg, il lui dit, ok, en échange, tu me présentes à Mendel. Ouais. Et Roman, il lui fait, ok. Donc c'est le mec est cash dans ce qu'il veut.
Tammy Schmich, le Franck, c'est le parrain de Kendall, pas oui. celui de Roman, pour
pas
remettre
de
un
Roman,
peu de
non.
justement. Il n'y a pas vraiment de.
Précis. Voilà. On ne sait pas qui est le parrain de. Enfin, du coup, Franck, c'est le parrain de Kendall. Jerry, c'est la marraine de Shiv.
À ton avis, c'est qui le parrain de Roman?
Connor.
Ah bon?
Bah en fait, je pense, vu qu'il a eu un rôle hyper paternel envers lui, mais il l'aurait dit. Tu penses que c'est Carl?
Je sais pas, mais je me disais vraiment dans le trio, c'est.
Non, mais il reste que Carl, il est dégueulasse, bien. Donc ça se tient. Mais je pense qu'il l'aurait quand même mentionné une fois ou deux. Peut-être Hugo?
Non, il est pas là depuis
non,
assez longtemps.
Là depuis assez longtemps. Ah, peut-être Moleste. Arrêtez!
Ah! Pas bête.
Non, mais après les implications, t'imagines?
Bah.
Ah, possible néanmoins.
Bah, comment on dit un Roman?
Oui.
On est en fracasse comme ça?
Ça se tient.
You, effectivement.
Ah, on envoie un bisou à Adérisoire qui dit « Je passe juste dire bonjour et j'adore ces débriefs incroyables, mais je suis au boulot. J'écouterai la rediffusion. » Bisous, bon courage
merci
au boulot.
Beaucoup.
Et merci beaucoup d'être fidèle au poste chaque semaine. Ça serait étonnant que Logan ait oublié de lui fournir un parrain.
Oui, surtout que
oui, je pense qu'il
dans
en a
la
un,
tradition
que,
catholique en plus. Voilà.
C'est quand même un épisode qui nous rappelle que Logan était quand même catholique.
Bien catho.
En tout cas de façade, à défaut d'y croire à fond. Puisqu'on savait qu'il croyait pas à l'au-delà, le paradis, tout ça. Puisqu'il en a parlé avec son very best pal, Colin. Mais je pense qu'il y avait un parrain pour Roman. Mr. Melick nous dit, je pense pas qu'il est mentionné, donc.
Non.
We will.
On est d'accord.
Never know. Caroline arrive et vient dire bonjour à Kendall et Shiv.
Ouais.
Et se rend compte de quelque chose. Quelqu'un dans le chat tout à l'heure disait, bah, Shiv, elle l'a annoncé à Caroline, c'est un bien grand mot. Bon, c'est pas qu'elle a pas voulu, elle a pas eu le temps.
Oui.
Caroline, elle la check, elle est là. Oh!
Oh!
Ah.
Cet échange est tellement. Ils jouent tous bien. Putain, mais vraiment, ils jouent tous bien,
ouais.
Les acteurs. Hein.
Ouais, ils sont forts.
Et là, cet échange-là entre Caroline, qu'on voit très peu dans la série finalement, et sa fille, donc Shiv, où vraiment elle est là. Et en fait,
well,
Shiv.
Blimey! Non, elle ne kisse même pas un bravo. Hein. Elle est là. Blimey, qui est une exclamation anglaise un peu en mode. Oh, waouh! Et genre, inattendu. Et après, elle dit. Bon.
Et Shiv ne répond rien parce qu'en fait elle est là. Est-ce que elle s'en est rendue compte ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Enfin pour moi il y a.
Shiv elle comprend direct qu'elle
a
été
croquée
sur. Elle est enceinte.
Ah ok.
Et elle est là en mode oui. Genre est-ce que tu vas réussir à dire un truc? Genre un truc normal comme par exemple félicitations ou t'es à combien de mois ou.
Mais non.
N'importe quoi de normal.
Mais non.
Elle est là et bah quand sa mère elle a fini de bafouiller Shiv elle lui dit merci. Ce qui est un peu une façon de lui dire, tu n'as pas dit le truc que tu
souvenons-nous de cette fameuse discussion entre Caroline et sa fille dans la saison dernière, pendant
bah,
son mariage.
Dernière discussion, a priori.
Voilà, où elle disait en fait...
s'appelle beaucoup.
Non. non, où elle, en fait, Caroline, effectivement, dit à sa fille, deviens pas maman, quoi. Tu vois, t'es pas faite pour ça et moi, j'aurais pas dû faire ça.
Oui. Et du coup, elle dit à sa mère merci et sa mère lui dit exactement. Ce qui est...
Oh là là.
La glacialité de cette personne. Et Tapir nous rappelle une autre excellente punchline qu'on doit à Shiv du coup dans l'épisode où quand elle voit sa mère arriver, elle dit « Ah, je me disais que j'avais entendu des hurlements de dalmatien. » Ce qui est... Pick shit.
Oh là là.
En effet, on est à 0 sur 3 personnes qui viennent d'apprendre la grossesse de Shiv et qui lui ont dit un truc gentil. Voilà. À savoir ses deux frères et sa mère, ça va que c'est pas des personnes très importantes dans sa vie.
Est-ce que ça nous étonne?
Non. Le fait que même son mari n'ait pas été content est peut-être un peu plus surprenant.
Alors,
mais vu la situation.
Maybe que Shiv a plus un rôle à jouer dedans que pour les autres. Mais bon. Dans le fait que Tom l'ait pas accueilli comme il aurait pu l'accueillir.
Oui, bah après le fait de l'avoir
après,
trahi
vous
et
allez
privé en... de son héritage au moment où elle est tombée enceinte était
pas possible.
Ah là là. Alors qu'il pensait qu'il avait une raison et tout. Ouais. Bref, le fait d'avoir essayé de la mettre en cloque pour avoir une raison de revenir de prison aussi. Mais
ah, tu crois?
Oui. Il ouais. Essayait de fou de la mettre en cloque parce qu'il allait en prison.
Oui, c'est
et
vrai,
était,
je me souvenais plus.
Il avait peur qu'elle soit
je
pas là quand il sort.
Plus de cette take de fou, quoi.
Mais heureusement, la situation est sauvée par Peter Mannion, nouveau compagnon de Caroline, qui arrive en disant Daddy's here. Franchement, ces funérailles, c'est all banger all the time, quoi.
Mais bien sûr. Est-ce que putain, en fait, le nom de cet acteur me disait quelque chose. Il est 21h21. Les heures miroirs.
Oh! putain, quelqu'un pense à toi. Je pensais que tu notais qu'on était vraiment pas très avancé dans l'épisode.
Alors oui,
pour
déjà
1h20 de podcast.
Oui,
mais...
déjà ça, c'est, effectivement, qu'est-ce qu'on en a à foutre.
Il y a des
mais
timings dans la vie.
Ceci dit, ce mec, je me disais qu'il la saison précédente, quand on le voit pendant le mariage et tout, je me disais, il me fait penser à quelqu'un, mais j'avais plus en tête. Et en fait, est-ce que t'as vu Preacher? T'as pas vu Preacher, toi?
Si, j'ai vu Preacher, bien sûr, j'ai vu Preacher. Je sais que c'est le
putain,
chien.
Putain, mais j'ai mis l'honte.
Non, c'est le nazi.
C'est le nazi?
Oui. Mais c'est dans la saison avec le chien.
C'est Hairstar.
Hairstar. Et Steel Martin nous rappelle aussi dans le chat qu'il joue dans The Crown.
Ah bon?
Et le méchant nazi dans Preacher. Oui.
Putain.
Comment il s'appelle cet acteur?
Pip.
Quitte à en parler, autant lâcher le blaze quand même.
Pip Torrance.
Incroyable. Non,
qui est donc chauve dans dans Preacher.
Oui, crâne rasé.
Crâne rasé de ouf.
Bah, nazi, vous voyez, nazi. Très à droite, même pour les
oui,
nazis, quoi.
Qui a un rôle génial de méchant, franchement ultra golden. Et c'est vrai qu'il joue très très bien son rôle de. C'est quoi en fait? C'est un gratteur, quoi. Tu sens vraiment
oui,
que le mec il vient.
Logan l'a appelé le seat sniffer, le renifleur de siège, quoi. Enfin, il vient te renifler le cul et
ouais,
même sa propre femme se moque de lui en disant il est venu avec son carnet à autographe. Enfin,
ah ouais.
Elle sait que c'est un arriviste,
oui,
un parvenu.
Voilà.
Et que il accorde de l'importance. À un moment, elle dit c'est un labrador qui se roule dans une pile de sénateurs.
Oh là là, mais vraiment.
L'écriture succession.
Oh oui.
Et ça fait partie de sa. Enfin, ça a l'air d'être son trait de personnalité principal. C'est un pique-assiette.
Ouais.
Et un gratteur de fame. Et il veut avoir des titres de lord, etc. Ce qui était la négo de fin de saison 3. Puisque
souvenons-nous.
Logan lui a filé un titre de lord en échange de trahir. Enfin, de la couper. Couper l'herbe sous le pied de ses enfants. Disons, pour être honnête. Madson est à l'enterrement.
Oui.
Et on a quand même ce plot qu'on n'a pas évoqué que. Shiv l'a convaincu de dévoiler le fait que ces chiffres en Inde
ouais,
ne tiennent pas parce que rappelons qu'il y a une seule Inde et pas deux, malheureusement. Ce
hélas,
qui aurait arrangé.
Ce qui aurait arrangé Madsen.
Je pense qu'il a cherché, il était.
Non,
il n'y en a qu'une. Non,
il n'y en a qu'une. Hein.
Parce qu'elle est dans l'idée que, entre le bruit médiatique du rachat, des funérailles, des élections, etc., ça va noyer un petit peu le poisson. Et a priori.
Je peux dire un truc positif sur Shiv, elle a raison.
Eh oui, elle est pas si mauvaise des fois dans son taf.
Et puis elle vient de la com, n'oublions pas, elle vient des relations publiques, voilà quoi.
Elle sait sentir le vent des médias, et le fait de posséder un des médias principaux des États-Unis ne fait pas de mal, je pense, pour ce qui est de contrôler le narratif, comme on dit. Et du coup, elle les rejoint, elle est là. Donc, alors lui, il vient à l'enterrement de Logan avec Oscar, Eba, etc. J'étais là, mais vous êtes si à moi ou enfin, qu'est-ce qu'ils font là, eux, tu vois? Fucking Eba, la dire comme. De Madson, qu'est-ce qu'elle fout aux funérailles de Logan?
Non,
qui,
rien
à mon avis, désolé, sont sur liste quand même. Tu vois,
oui,
c'est pas l'église, c'est un lieu public, tout le monde rentre. Je pense qu'il faut une invite quand même.
Bah ouais.
Je ne sais pas ce qu'ils font là, mais ils sont là. À
bon,
la limite, bon, t'as tout.
Madson
Hugo et tout, mais ils ont bossé pour Logan,
oui,
ça. C'est,
voilà.
Tu vois, là, c'est vraiment.
Madson, moi, je l'entends, mais.
Madson est à la limite Oscar. Mm. Tu vois, il a un plus un peut-être aux funérailles, mais là, bon, ils sont 3-4. Et Shiv mentionne une petite idée à Madson qui est tiens. Vu que Mencken, ça a l'air potentiellement là pour rester et que il a promis aux deux débiles de bloquer le deal, peut-être que toi et moi, on peut s'en sortir si tu lui promets un PDG américain, ce qui, comme c'est un gros nationaliste, pourrait lui plaire et adoucir les différences culturelles entre l'Europe et les États-Unis. Et il se trouve que Shiv Roy
est américaine.
Mais
alors,
ce serait pas une bonne candidate pour
le
poste.
Mais bien sûr, ça.
Il est là. Mais il paraît qu'elle est en cloque. J'étais en mode. Comment il sait? À part la réponse simple qui est ça se voit, parce que dans cet épisode ça se voit plus qu'en vrai, mais comme l'actrice était vraiment enceinte, donc c'est trop dur de savoir
oui,
à quel point ça se voit et tout.
Parce que n'oublions pas que là, en gros, il s'est passé une semaine depuis le début de la saison.
Oui.
Entre
si
le début
la réponse
voilà,
c'était ça se voit, bah ça se voit depuis,
ça se voit,
depuis l'épisode 1, du coup, fondamentalement.
C'est ça.
Donc,
alors
que lui a dit
sur Shiv, enfin sur l'actrice, sur Sarah Snook, ça se voit beaucoup plus. On sent
oui,
qu'il s'est passé quelques semaines de tournage, même s'ils ont tourné super vite, si je me trompe pas, globalement.
Ah, c'est possible, j'ai pas. Mais il y avait quand même beaucoup de lieux différents.
Là, j'entendais dans un podcast qu'ils l'ont tourné sur 4 jours cet épisode. C'est taré.
Ouais. Mais en même temps, il y a 600 figurants, un truc comme ça. Genre, il y a tellement de monde.
Dingo.
Donc,
comment il le sait?
Comment il le sait? Qui lui a dit? Parce que là, à ce moment-là, il y a Tom qui sait, il y a Kendall, Roman.
Alors pour moi, c'est Greg.
Caroline.
Pour moi, c'est Greg.
Ok.
Pour moi, c'est Tom l'a dit à Greg.
Mmh.
Voilà.
Ça se tient. J'avais vu une hypothèse sur Reddit où c'était peut-être Hugo donc le
Hugo.
Qui est de plus en plus le numéro 2 de Kendall, parce que on sait à un moment qu'il parle à Eba, puisque à la fin il vient dire à Kendall j'ai entendu machin Madson et tout, donc peut-être qu'ils ont fait un échange d'infos, tu vois, de
possible
enceinte, c'est une bonne info à avoir, et Madson y réfléchit à un PDG américain, c'est une bonne info à avoir, parce que ça pourrait convaincre Mencken et du coup ne pas bloquer le deal et blablabla blablabla. Vous voyez les bail business. Et qu'est-ce que t'as pensé de cette petite tentative de négo de la part de Shiv? C'est pas toujours son fort, hein, son point fort, je suis d'accord, la négo. Cette petite discussion de « mais moi j'ai entendu que... » Mais oui, mais il paraîtrait que, tout ça, de, on dit les choses plus ou moins clairement.
Mais, et c'est à ce moment-là donc, qu'elle lui dit « Non mais tu sais, moi genre je vais prendre 2 jours et demi de congé mat et je vais repartir, quoi. »
Et 36 heures de congé mat,
c'est ça.
Césarienne de vanité, elle dit, parce qu'en gros je vais pas la coucher par voix basse, évidemment je suis trop égocentrique et superficielle, donc césarienne, et je la confie à des nounous et puis ciao quoi.
Bah ça en dit long sur, ça en dit long sur à quel point Shiv va prendre son rôle de mère à cœur, quoi, c'est-à-dire que...
Mais est-ce que tu penses qu'elle le pense? Est-ce que tu penses qu'elle est sincère? Moi, je pense que c'est le seul truc qu'elle peut dire dans cette situation.
Ah, alors.
Elle est obligée de jouer la meuf qui va pas s'occuper de son gosse.
Alors, je suis d'accord. Et d'un autre côté, mais tu sais, un peu comme Rachida Dati qui avait été ultra critiquée parce qu'elle était revenue, je crois qu'elle était au gouvernement à l'époque. Et en fait, elle avait été, été enceinte, accouchée, et en gros, genre 3 jours plus tard, elle était de retour au ministère, en fait. Et il y avait eu tout un débat. Mais bien sûr, en fait, que les femmes vont. Aucune possibilité de faire autrement.
Non, mais surtout dans le moment où elle est là, elle est obligée
elle
de lui
pas.
Dire qu'elle va pas s'occuper
bien
de
sûr.
Gamin.
Mais donc,
ça veut pas dire qu'elle compte vraiment pas
qu'elle
s'occuper
veut le
de
faire.
Gamin, tu vois ce que je veux dire? Genre, elle a pas le job encore, donc elle dit t'inquiète, je vais grave faire le job et pas m'occuper de mon gamin parce qu'elle a rien signé, mais peut-être le jour où elle a signé, elle fait le job, tu vois. Enfin, elle s'occupe de son gamin.
Non, je crois pas. Pour moi, c'est aussi une bonne façon de pas se pencher sur cette maternité qu'elle fuit en fait depuis le début de la saison. On le voit d'ailleurs qu'elle, tu vois, elle picole, elle prend un verre de champagne.
Ouais, c'est... elle boit une gorgée de champagne.
Non, non, mais Tom la regarde en mode,
oui,
ok, et qu'est-ce qui se
boit
passe, machin.
Pour le faire chier.
Voilà. Mais il y a aussi un truc.
Pour moi, c'est pas un truc de, elle s'en fout de son gamin parce qu'elle boit une gorgée
mais
de
non,
champagne.
Mais non, je dis pas ça. Je dis juste qu'en fait, pour moi, il y a un côté commitment, tu vois, chez les futures mamans qui se disent, OK, je fume des clopes, je bois des coups. En fait, pendant 9 mois, je pars du principe que, et je critique pas les meufs qui le font pas, tu vois, mais il y a un truc aussi où tu peux te dire, bah, c'est aussi une façon pour moi de prendre soin de mon bébé, d'arrêter de picoler, d'arrêter de fumer, parce que je sais que globalement, c'est mieux sans qu'avec, quoi, tu vois.
Ça, elle le fait. Genre, elle boit pas, elle fume pas et tout. Elle boit une gorgée de champagne comme un power move envers Tom.
Oui.
Je pense pas qu'on peut...
Ouais, j'avoue.
Moi, je sais pas comment elle se projette dans cette maternité. Je pense qu'elle se projette pas. Parce que je pense qu'elle le met sous le tapis et que c'est pour ça qu'elle est toute seule avec l'idée depuis le début de la saison. Miskin, c'est qu'elle sait vraiment pas ce qui va se passer. Mais je pense que quand elle dit ça à Mencken, c'est pas forcément... Pardon. C'est pas forcément un signe de « je veux pas m'occuper de mon gamin ». Et je vais vraiment pas le faire et j'ai trop hâte de le filer à une nounou et d'avoir juste un genre de trophée que je peux montrer en disant « regardez, j'ai fait un enfant ». Je pense juste que là, dans la situation professionnelle où elle est, à part dire « je ne veux pas le job, je vais m'occuper de mon gamin », la seule façon qu'elle a d'avoir réponse qu'elle peut apporter à « il paraît qu'elle est enceinte », qui est quand même, rappelons-le, pas un truc qui devrait rentrer en ligne de compte quand t'envisages d'embaucher une personne pour un job, tu vois. Parce qu'au début, il lui dit « elle manque d'expérience », et ça, c'est vrai, tu vois, c'est legit, elle a pas d'expérience dans le milieu et tout. Et ensuite, c'est juste, il paraît qu'elle est enceinte. Bah ok, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, connard, j'ai pas l'avorté devant toi, je suis à 5 mois, tu vois, donc oui, elle est enceinte. Et bah du coup, je vais pas m'occuper de mon gamin et plutôt venir travailler pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'elle lui dise d'autre ?
Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas non plus s'il y a pas un truc de c'est aussi une bonne façon de d'esquiver le truc et de en fait se mettre aussi dans les choses de papa parce qu'en fait, c'est toujours ça.
Je suis d'accord avec toi que pour le coup, si elle a le job de PDG, elle le prend et pour le coup, elle va faire cette prophétie autoréalisatrice où elle va vraiment abandonner son gamin et va s'en occuper comme littéralement Kendall le fait alors qu'il est même pas PDG. Ça l'a pas empêché. Donc j'entends que, et alors French Fry dit toutes les vannes qu'elle fait depuis le début de l'épisode, ça fait quand même beaucoup pour qu'il y ait pas un fond de vérité. Et même, ouais, il y a pas mal de, elle est pas épanouie par rapport
non,
à cette
grossesse. C'est pas un truc que, j'ai vu des femmes enceintes plus épanouies dans leur grossesse, quoi.
J'espère qu'au par exemple, la mère de tes enfants
oui,
était un peu plus...
elle était à fond.
Pour n'en citer qu'une, parmi toutes les femmes enceintes, voilà. Ouais, Walid nous dit, je pense qu'elle réalise pas encore, elle est un peu dans le déni, mais Ada Orardo nous rappelle pourquoi elle choisit de garder son enfant. Et oui, et Tamish nous dit, je pense qu'elle est sincère en disant qu'elle a pensé à l'avortement et qu'elle ne l'a pas fait, donc elle y a réfléchi quand même. C'est vrai que pour le coup, on n'a pas l'idée de, elle a appris la grossesse hyper tard, elle a pas le choix, a priori... elle a quand même décidé de le garder pour une raison qu'on ne connaît pas exactement. Mais c'est intéressant que Madson ait l'info et qu'elle soit obligée de rentrer ça du coup dans son argumentaire de négo. C'est le début des funérailles. Mmh. Le cercueil arrive. Je crois qu'ils disent à un moment genre « He's in the box and ready to go ». Je crois que c'est Greg qui dit ça. Ouais. Et Greg se rend compte que Tom va être en retard. Et Tom lui raccroche au nez. Du coup, il se dit « S'il est en retard, il va pas pouvoir être Willman
ouais. ».
Donc, il y a cette mini négo sur qui remplace Tom. Alors, pas en porteur de cercueil, mais en équivalent. Quoi,
en Willman, quoi. Ouais, c'est ça.
Du cercueil.
Ouais.
Qui c'est qui se présente comme candidat?
C'est le gars qui venait voir Daddy, quoi.
Le fameux...
Qui est là, quoi? On a besoin d'aide? On a besoin d'une main? Oui, c'est moi. Avec grand plaisir.
Le pair of hands.
Putain.
Et Greg avec Apple, en fait... Il y a un truc de... Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, je suis pas sûre qu'on voit souvent les personnages mentir aussi frontalement que quand Greg, il dit « Non, mais Tom vient de me proposer de prendre son rôle. » Et je suis là, c'est vraiment pas vrai, quoi. Et peut-être c'est naïf ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de sous-entendus, de te laisser penser que et tout. Là, c'est full on mensonge. Tom m'a dit de le faire et je suis là, il a raison. Personne va vérifier, tu vois.
Mais bien sûr. En fait, c'est comme ça
c'est
que
trop
Greg
bien se placer.
C'est
quoi.
Comme ça que Greg évolue depuis le début de cette série, en fait, de ces quatre saisons. C'est ouf.
Mister Melik dans le chat nous dit Logan aussi mentait aussi frontalement.
C'est vrai.
Donc
sans aucun problème.
Greg égale Logan 2.0.
Alors que globalement, c'est vrai que les enfants le font peu. Ils sont plutôt en mode sneaky sneaky quoi, par derrière.
On a vu dans l'épisode précédent que quand Shiv a dû mentir en frontal, elle l'a pas très bien fait,
oui.
Et que quand ça a été révélé, c'était vraiment genre. Mais tu nous as menti! Je suis là, mais vous le faites tout le temps.
Vous le faites tous.
Mais c'est plutôt de l'omission, du t'inquiète, on gère, et au final, pas du tout. Mais comme c'est le début de l'enterrement, il faut s'installer dans les rangs pour la cérémonie.
Oh.
Et quelqu'un décide d'aller chercher deux, trois personnes dans les différents
rangs
et de les emmener avec elle au premier rang.
Donc Caroline, à ce moment-là, se pointe et va chercher. On l'attendait, elle est de retour, Kerry.
Quand je te dis que j'ai criax, j'ai mis pause, j'ai fait « Y'a Kerry !» 7h45 du matin, toute seule devant ma télé, j'étais vraiment « Y'a Kerry, putain !»
Petite pensée pour Nodus, qui partage la vie avec cette personne.
Ça va, il dort.
Ça va.
Je peux pas le spoiler, il dort.
Et qui va chercher donc cette fameuse Sally Ann qu'on ne connaissait pas, mais dont on avait entendu parler. C'est toi qui m'as rappelé que il la mentionne dans les saisons précédentes. Il mentionne son prénom.
Alors, je l'avais, moi, 100% oublié. Pour le coup, j'avais zéro ref. Mais il la mentionne un peu comme Rose une ou deux fois. Notamment à un moment où ils évoquent « Est-ce qu'on va se remettre du scandale des croisières ?» Carl et Franck évoquent plein de scandales différents que Waystar a traversé avec ce ton de vieux marin briscard. Ouais. Là. Et il mentionne notamment le « Black Cloud after Sally Ann ». Donc, on sait pas du tout à quoi ça fait référence. Et en plus, le scandale des croisières, c'est aussi une histoire d'agression sexuelle, de même de personnes décédées et tout. Donc, on sait pas. Et là, on apprend que Sally Ann, c'était la Kerry de Caroline.
De Caroline, il y a 20 ans, quoi.
La meuf avec qui Logan l'a trompé, qui probablement bossait avec lui aussi, quoi, parce que ça a l'air d'être un pattern.
Oui. Et petit moment de sororité, assez rare, quand même, dans Succession, pour être noté, c'est que Caroline décide de... finalement refaire le lien entre Kerry et Marcia.
Oui, alors déjà, deuxième détail sur Sally Ann, que Zmud a rappelé dans le chat, l'actrice qui joue Sally Ann, c'est la vraie femme de Brian Cox.
Quoi ? Ah, les génies, putain.
Elle a pas de line ni rien, tu vois, c'est pas une actrice. Mais, enfin, je sais pas si c'est une actrice, peut-être. J'ai pas vérifié si elle est comédienne de métier, mais là, elle dit rien et tout. Mais c'est la vraie femme de Brian Cox.
Incroyable.
Donc, tu dis sororité. Pour moi, Caroline, elle est pas que dans la sororité. Hein. Elle est pas en mode, nous les femmes, ça y est, on est libérées de l'homme et tout. Parce que quand elle amène Kerry, c'est pour bien faire chier Marcia aussi. C'est pour lui dire, tu crois parce que tu es la dernière femme en date que tu es la
première
femme, mon gars ?
Oui, j'entends.
Il y en a une qui est à l'asile, il y en a une réelle et à toi.
Alors
et
j'entends.
Tu sais quoi, j'amène ta maîtresse. Toi, peut-être t'as pas digéré, ça fait 3 mois. Elle, c'est facile, tu vois. Elle est là, mais ça fait longtemps, Sally Ann et tout. À mon avis, 3 mois après Sally Ann, Caroline, elle était pas en mode sororité.
J'avoue.
Et là, elle dit à Marcia, à l'enterrement de ton mari. Tu vas avoir la maîtresse de ton mari à côté de toi parce que c'est ça le féminisme. Et Marcia, elle va pas dire non, tu vois. Et c'est quand même un beau moment. Je pense pas que l'intention est très pure.
Parce que pour moi, il y a
Caroline,
un vrai côté.
Jamais c'est gratuit, nous dit-elle.
Non, alors
dans le
ça,
texte.
J'entends bien. Mais pour moi, il y a un vrai côté. En fait, c'est aussi qui était ce mec dont on a partagé la vie tous les quatre. Et en fait, c'est le point commun qui les relie toutes les quatre. C'est Logan fucking Roy qui
était aimé.
Exactement.
Et il nous a brisé le cœur.
Exactement. Et c'est en ça que je trouve ça cool de la part de Caroline de venir juste dire, en fait, viens, fais la paix avec Kerry maintenant, parce que peut-être, en fait, Caroline, elle aurait bien aimé avoir la Caroline d'avant, tu vois, qui venait lui dire, en vrai, ça vaut la peine de faire la paix parce que
vous êtes dans le même bateau.
Exactement. C'est de la faute de ce connard en fait à la fin. C'est quand même pas de la faute des meufs quoi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est encore plus pour moi le moment de faire la paix parce que le mec est mort tout simplement. Donc elles sont aussi libérées de ce mec qui les a fait tant souffrir quoi.
Oui, oui. Et pour moi, c'est le dénouement de la scène, mais je l'interprète pas comme c'était l'intention. C'est genre, t'as fait le bon truc pour les mauvaises raisons, tu vois. Tu l'as fait pour faire un...
Ah, ok, je comprends.
Gabriel nous dit move de bâtard, move de faire chier Logan, il y a ça aussi. Il y a faire chier Marsha, mais il y a aussi, ça lui fera bien la bite de nous avoir tous les quatre au premier rang.
Bien sûr.
Et du coup, elle se demande pas est-ce que Kerry, elle a envie d'être au premier rang ou ça liane ou quoi, tu vois. Elle se dit, ça lui fera bien la bite, ça l'aurait bien fait chier Logan. Donc je vais le faire parce que c'est un bon move, mais tu vois, elle aurait... Enfin, bref, je pense pas que c'est des intentions 100% pures.
Oui, j'entends.
Ça fait un moment trop cool, mais qui devient trop cool aussi parce que Marsha, elle rentre dedans. Moi, j'avais trop peur. Kerry, elle s'est assise à côté de Marsha, j'étais là, mais elle va la manger comme un vélociraptor. Qu'est-ce qui se passe? Elle va faire un truc de ptérodactyle en mode elle va l'attraper là avec son bec. Je suis terrifiée par Marsha, mais ça fait partie de son charme. Enfin,
oui, bien sûr.
J'aimerais être
son charme franco-libanais.
Je l'aime tellement.
Elle te dit je vais te tuer maintenant et clac.
Oui,
elle te plante.
Plus, tout le monde lui dit genre tout le monde la salue et elle répond à tout le monde bonjour en français comme une connasse de meuf.
Bien sûr.
Français, je l'adore.
Normal.
Du coup j'avais peur et en fait.
Oh là là.
Elle dit au moins ce soir il grincera pas des dents. J'étais là.
C'est génial c'est génial.
C'est la meilleure écriture putain.
Mais voilà parce qu'en fait elles savent toutes les quatre que le connard il grinçait des dents quoi.
Ouais.
Est-ce qu'on imagine Logan Roy grincer des dents de ouf?
De fou.
Bien sûr.
Attends, le mec
est là, bien sûr qu'il grinçait des dents, il bruxait.
De fou. Et j'ai personnellement un compagnon qui bruxe, qui
fait
du bruxisme, tout à fait.
Tu sais qu'on peut mettre des petites...
Il y a la petite protection, afin de ne pas se limer, s'auto-limer les dents, ce qui est plutôt cool.
Ouais, puis après,
mais
ça
n'empêche pas pour l'instant
il continue
à grincer. Mais... Okay. Voilà, je connais le bruxisme, et du coup, ça m'a un peu doublement parlé, où j'étais là, waouh, c'est ciblé. Et après, j'étais là, avec Get It, c'est vrai que c'est... En fait, c'est un truc tellement humain, et ça... Tout cet épisode, c'est beaucoup humanisé Logan, tu vois, et... C'est un peu, c'est pire quand tu te rappelles que c'était un humain parce que, et c'est mieux en même temps. Enfin, c'est évidemment un humain.
Moi, je trouve ça cool.
Mais c'est, il y a plein des personnages pour qui c'est compliqué de fou de le réhumaniser. Et je trouve qu'en tant que public, enfin, c'est un peu comme avoir de la peine pour Roman alors que l'épisode dernier, on était en mode qu'il aille brûler en enfer. C'est vraiment le pire gars, tu vois. C'est dur de se rappeler que les connards sont des humains, mais.
Moi, je trouve ça cool. Mais
oui,
ça m'empêche pas
c'est essentiel.
Voilà. Et moi, ça m'empêche pas de... Comme je le disais au début de l'épisode, d'avoir eu beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour Roman, on va en venir. Mais aussi de se rappeler que effectivement, on a tous plein de facettes, les gars. Et Logan avait beaucoup de facettes de gros salopard, mais il avait aussi des facettes. En fait,
d'homme qui grinçait les dents la nuit à côté d'une femme qui elle l'aimait d'une certaine façon et que lui, j'imagine. De la seule façon qu'il savait, il aimait aussi. Enfin, pour le coup, Marsha, on sait qu'il restait des années avec et tout. C'était et ça avait pas l'air d'être que un truc d'intérêt.
Non,
de, on se voit, on se serre la main et on fait chambre à part.
Et puis elle lui, et puis Marsha lui, je prends la main de
Kerry. Elle prend la main de Kerry. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement subtil. J'ai trouvé qu'elle lui prend la main avec genre 60% de douceur et 40% de je te gère, tu fais pas une scène. Parce que c'est quand Kerry, c'est la seule qui a, parce que c'est le plus frais aussi pour elle. Qui a les larmes aux yeux, qui commençait à pleurer, et on sait que les dernières fois, elle est partie en couille, et dans l'avion, elle est partie en couille. Et pour moi, Marsha, elle est en 50% ça va aller, et 50% maman surveille, tu vois. Calme-toi, waouh! Quel jeu d'acteur dans un mouvement de phalange!
Ouais. C'est vraiment presque impossible d'avoir de l'empathie avec 95% des personnages, c'est pour ça que la série est incroyable, dit Gabriel dans le chat. Je suis très d'accord.
On y arrive quand même, hein.
Ouais.
Alors si on mettait sur le papier tout ce qu'ils sont, on serait là, waouh.
Bah oui, mais c'est en même temps, c'est ce qui fait que cette série est extraordinaire, c'est que c'est vraiment, je ne vois pas un personnage aimable.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ouais, assez peu. Parlant de personnages aimables, Uncle Yuan, lui, il décide que même s'il n'est pas au programme, il va faire son putain de...
Il se lève seul tout.
Qui priverait un frère de parler aux funérailles de son propre frère pour le prix d'une action?
Oh là là.
Le gars, il commence à la sulfateuse. Il commence à la calache. T'es là, ouah.
Mic drop.
Vraiment, tous les gars, ils sont là. Putain. Pas le gaucho.
Et t'as Roman. C'est Roman, hein, c'est ça qui dit à Greg. Mais putain.
Oui. Et lui, bah, il lui avait dit, c'est ton job.
Et lui, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui coupe les jambes?
Non, c'est son papy.
Bien sûr. Il peut pas faire autrement.
Alors, quelqu'un sur Instagram m'a demandé, c'est qui la dame à côté de Greg qui lui dit...
C'est sa mère.
C'est pas ta faute. Et Greg, il lui dit, shut up. Et elle dit, ça va, me dis pas shut up.
C'est sa daronne.
Sa mère, qu'on... Du coup, la fille de Yuan.
Qu'on voit au tout début de la saison, de la série, pardon, saison 1, épisode 1, où, souvenons-nous...
Il perd son job au parc d'attractions parce qu'il a vomi.
Il a fumé de la drogue. Et qu'après, il
c'est
est
vrai,
malade.
Il a fumé le shit. Big nono le shit, parce qu'après, on vomit dans son costume de mascotte. Et il voilà. Est là, non, mais c'est le gars que j'ai pris en covoite qui avait fumé un joint dans ma voiture, c'est même pas à moi.
Putain...
Oui, on les voit s'appeler une ou deux. Je crois qu'à un moment aussi, il l'appelle parce qu'il a besoin de souffle. Enfin, c'est un personnage qu'on voit très peu, mais voilà, c'est la mère de
c'est
Greg.
La mère.
Alors, on n'a jamais l'explication de pourquoi Greg et sa mère sont pas dans la richesse. Genre, c'est les enfants de Yuan qui est moins riche que Logan, certes, mais Yuan, il a l'air bah quand même blindé, quoi.
Bah,
qu'est-ce que sa mère, elle a fait de sa thune, ou est-ce qu'elle en a pas eu, ou on sait pas pourquoi Greg c'est un prolo finalement, parce que c'est deux générations, c'est pas loin, quoi.
Mais ça serait intéressant de savoir effectivement, parce que. Ouais, on comprend que à plusieurs reprises que Yuan il a profité très clairement de la fortune de Logan hein, d'une manière ou d'une autre et que
oh, papy, hein.
Pour le coup on n'a pas la sensation que Yuan a beaucoup fait ruisseler quoi.
Alors, non, alors peut-être parce que c'est de l'argent sale, mais je pense que quand on n'a pas, t'es là, s'il est sale, c'est pas grave, fais couler frère, c'est, on le nettoie, t'inquiète.
Et puis il est quand même, il vit quand même. On se souvient qu'il vient, c'est qui, c'est Greg, c'est ça qui va le chercher.
En bagnole au Canada.
Il est quand même dans une grande maison, quoi, tu vois.
Il y a Kinshima qui dit, je crois qu'il a jamais filé du fric à ses gosses, et je pense qu'il y a de ça. Je pense que, alors, Petit Pingu nous dit, ça a l'air d'être une sacrée pince. Je pense qu'il y a le full méritocratie aussi. Ouais. Je vous donnerai rien, et vous allez vous faire vous-même, et du coup, bah, ça a fait des gens qui sont. Classe sociale moyenne inférieure, quoi.
Qui est un move très américain, hein, finalement, de,
oui.
de tous ces
un peu Bill Gates et
tous ces milliardaires, là, qui disent, non, on va pas filer quoi que ce soit, quoi.
Et comme il a un rapport complexe à cet argent, dont il n'est pas fier, ça explique aussi.
Oui.
Qu'est-ce qu'on pense de l'éloge funèbre de Yuan et de tout ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui te vient en tête, là, spontanément?
Alors, bon, on va en reparler, mais déjà, pour moi, il parle de Rose et on en parlait, je crois, il y a quelques épisodes où on se demandait un peu quelle était l'origine story de Rose, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça génial de venir
on
le placer.
On n'était pas sûr de l'avoir. Hein. On était là, non, peut-être qu'on saura pas.
On saura peut-être
on
pas.
On saura
ouais.
Juste que c'était sa sœur.
C'est juste que c'est un trauma de sa part,
quoi.
Voilà. Et je trouvais ça génial de l'avoir placé là et de l'avoir fait en sorte que ce soit dans les mots de Yuan, parce que on se doute que lui, il l'a vécu vraiment et que peut-être, bah, c'est la dernière
petite sœur. Quoi.
C'est ça, c'est la dernière personne vivante qui connaissait l'histoire a priori, hein,
ouais.
Enfin en tout cas qui a vécu l'histoire avec avec Logan, et j'ai trouvé ça génial en fait d'être à la fois super dur envers son frère par plein d'aspects et de dire bah en fait c'était vraiment un énorme FDP quoi, et d'un autre côté bah voilà d'où on vient quoi, voilà l'histoire, on a traversé.
Ouais, il commence avec l'anecdote du bateau
ouais.
Où du coup ils ont traversé pendant la guerre de l'Écosse au Canada. à Montréal apparemment, où ce que l'acteur a dit, où ils avaient un oncle et une tante qui vivaient visiblement pas des très bonnes personnes. Et donc, ils ont été laissés, leur bateau a une panne de moteur, et ils ont été laissés à la dérive 3 jours, le temps que le reste du convoi de bateaux arrive aux États-Unis, enfin, au Canada, et reviennent les chercher. Ils avaient 4 et 5 ans, donc c'est Yuen, le grand frère. Et on leur a dit, si vous parlez, les sous-marins allemands vont entendre les torpilles. Donc,
tu te rends compte?
Pas de bruit. Et il est là, donc 2 enfants de 4 et 5 ans, 2 frères, qui se parlaient avec les yeux pendant 3 jours. J'étais là... Oh.
N'en dites pas plus, en fait. C'est bon, c'est en fait... Tu l'as, l'origin story de Logan, quoi.
Ouais, et c'est déjà, genre, si peu... Tu vois, tu te dis... C'est à la fois, tu te dis, quelle chance il avait de devenir un bon gars, tu vois, avec ce début de vie où il a 4 ans, puis il arrive chez un oncle qui est... Alors, Yuen, il dit caractère, mais nous, on sait, on a vu les traces de fouet sur le de Logan, et on sait que son oncle, c'était un homme à minima violent physiquement, et comme on va l'apprendre psychologiquement aussi... Il a été envoyé en école privée, visiblement une forme de pensionnat où il voulait pas aller, et où aussi, enfin, il est tout seul au Canada, il connaît que son frère, et il est envoyé en école privée, donc il est tout seul. Et apparemment, il est faible et malade. Et ce qui est bizarre, d'imaginer Logan en petit garçon malade et faible. Donc il rentre tout seul. Par ses propres moyens, il décide de se barrer du pensionnat et de rentrer. À ce moment-là, alors si j'ai bien compris, la petite sœur, donc Rose, elle est née en Écosse aussi, et elle était petite.
Donc c'est un bébé.
Et l'idée, c'est qu'a priori, elle est venue parce que leur mère est morte en Écosse. Enfin, du coup, il n'y avait plus personne pour s'occuper d'elle. Logan est rentré, la gamine est tombée malade, et il a toujours cru qu'elle est morte. Et il a toujours cru que c'est lui qui lui avait ramené la polio, et que du coup, son accès de faiblesse à lui, qui était « je veux rentrer à la maison », a tué sa sœur.
Ça explique. Pour moi, ça explique... toute l'histoire de Logan. C'est-à-dire que ça explique vraiment la psychologie de ce mec qui est une brute, épaisse, qui ne montre pas ses faiblesses, etc. Bah oui, parce qu'en fait, la dernière fois qu'il a été faible et qu'il a été malade, maybe il a fait en sorte que sa petite sœur meure. Ou il a, dans sa tête, en tout cas. Personne ne l'a...
démenti, quoi. Oui. Enfin, personne ne l'a remis sur le droit chemin.
Oui, en lui disant, non, c'est pas de ta faute, et de lui a enlevé cette culpabilité-là, parce que, bien sûr...
Bien sûr, les gens niqués font des gens niqués, globalement.
Et il y a Tammy Schmitz qui dit « Vous pensez que les enfants découvrent cette histoire ?» Alors moi, vu la gueule de Roman, et ça va amener aussi, je crois, ça participe très grandement au breakdown de Roman, pour moi, Roman découvre cette histoire. Et en fait, c'est là qu'il y a vraiment les répliques, c'est-à-dire que tu as vraiment le transgénérationnel qui joue à ce moment-là et qui dit « Ah !» Sans doute, c'est une façon d'expliquer. Il est je l'imagine en empathie totale avec son père quand il était enfant, etc.
Ça rend pas mal de blanc, en termes de. Ça...
Mais en fait, c'est ouf. Si un jour vous avez des enfants, expliquez les histoires, en fait, parce que c'est vraiment la meilleure façon que les choses ne se passent pas. Il y a Angelo Follet qui dit en creux, c'est-à-dire sans que ce soit dit. Je trouve ça très très beau comme expression, c'est-à-dire où tu finis par comprendre des trucs toi en tant que gamin parce qu'il y a des non-dits. Et que tu décides de remplir toi-même les non-dits et les creux et les blancs avec tes propres interprétations, alors que parfois l'histoire est complètement différente et que voilà.
Franchement, je pense que je sais pas si on en a beaucoup parlé dans ces débriefs, mais on avait un peu chacun notre idée de ce qui a pu arriver à Rose et tout, et je pense qu'on avait aucun de nous deux. Elle était bébé, Logan était malade et elle est juste décédée. Moi, je pensais déjà que c'était genre plus une enfant, tu vois, qu'ils avaient passé plus de temps ensemble et tout. Et du coup, j'imagine pas ce que les gamins ils ont dû imaginer sur Rose qui est morte, qui était la sœur de papa, et Uncle Noah qui apparemment était si violent avec lui, mais bon, ça avait l'air d'aller, quoi. Et je pense que c'est un vrai choc pour eux de à la fois d'apprendre à quel point la vie de leur père a été traumatique et aussi à quel point ils le connaissaient pas. Enfin, c'est dur aussi de se dire, mais pourquoi il nous l'a jamais dit, tu vois? Genre, pourquoi il a jamais dit ça à ses enfants? Enfin, pourquoi on le découvre maintenant et pourquoi on n'a jamais pu le vivre avec lui? Enfin, pourquoi, tu vois? Parce que
c'est
la vulnérabilité,
pour moi, là, ils viennent de comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'au contraire, pour moi, ils viennent de comprendre pourquoi Logan était Logan. Et tu vois, j'imagine très bien, potentiellement, Logan joue avec ses enfants, peut-être dans la piscine, ou en tout cas que ses enfants voient les traces de fouet.
Non, jamais.
Ils l'ont jamais vu?
Non, jamais.
Comment ça?
Il a jamais été torse nu devant ses enfants. Ses enfants, ils pensent qu'il sait pas nager.
Ah oui, c'est vrai, il y a cette anecdote là, putain.
Donc non, ils savaient même pas, ils sauront jamais pour les coups de fouet. Ils ont jamais su, ils le sauront jamais. Ils ont jamais vu le dos de leur père, tu te rends compte? T'as jamais vu le dos de ton père, quoi, à quel point le gars il était pas là. C'est genre la moitié de son corps. C'est
moi,
hyper
facile
à voir.
J'ai pas beaucoup vu le dos de mon père, mais parce que mon père est pudique, donc c'est autre chose, tu vois. Il y a vraiment ce truc de. Voilà. Il se montre pas trop, mon père.
Bah écoute, peut-être qu'ils se disaient que leur daron était pudique. Hein.
Oui.
On ne sait pas. J'espère que ton père n'a pas
non.
vécu une vie aussi traumatique
non, je sais,
celle de Logan Roy.
Je sais très bien qu'il a pas des coups de fouet plein le dos, mais je sais aussi qu'il y a un truc de pudeur aussi oui. vis-à-vis du corps masculin, quoi, qui n'est pas forcément très très simple.
J'entends. Steel Martin nous dit, alors on reviendra dessus à la fin, théorie, Roman meurt, et le dernier truc que Ken lui a dit, c'est « You fucked it », et comme Logan, il culpabilisera forever, parce que peut-être en plus il se dira « C'est moi qui l'ai mené à mourir et tout ». Ça fait partie des... Si on lit l'histoire des trois Roy, des trois enfants Roy, comme une répétition de l'histoire de Logan et sa famille, bah...
C'est pas déconnant.
Il y en a deux qui sont vivants, mais séparés, enfin, fâchés forever, et le troisième qui est mort. On peut avoir... Kendall et Shiv qui sont fâchés forever et Roman qui est mort. Ça fait partie des Roman, Rose et tout. Ça fait un peu partie des théories, mais c'était aussi avant qu'on sache ce qui arrive à Rose. Et du coup, bah là, ça s'appliquerait pas trop au cas de Roman. Mais en vrai, on en parlera, mais je suis toujours pas sûre que Roman y meurt pas.
Bah là, on sait pas.
On est toujours pas fini.
Est-ce qu'on va revoir Roman ?
Donc il y a ce moment assez humanisant pour Logan que Yuan amène et je trouve que c'est cool et c'est... Alors il y en avait peut-être qui s'attendaient à ce qu'il monte direct au clash et tout, mais ça aurait pas été très réaliste ni subtil. Enfin, c'est son frère, quoi.
Oui.
Et c'est sa seule famille quasiment qui lui reste. Et après, il est là... Cependant, néanmoins, partie 2,
nevertheless.
Alinéa 1. Fils de chien ou pas ? Immédiatement. Qu'est-ce que c'est beau ! Là, du coup, la façon dont il décrit le mal que Logan a fait au monde et pourquoi il l'a fait. Bon, après, c'est James Cromwell aussi, genre, il est très très fort comme mec. Il a 83 ans, tu te rends compte, genre, waouh! Et du coup, il a ce discours sur le fait que Logan nourrissait une flamme sombre dans le cœur des hommes et qu'il a fait du monde un endroit un peu. Qu'il a parfois dessiné les contours du monde et qu'il l'a toujours vu dans sa pire version, finalement, le monde. Et que voilà, il nourrissait cette noirceur qu'il y a chez les hommes au lieu de nourrir leur aspect joli. Comment t'as vécu cette partie du discours qui est un peu plus dans « Ah !» Tu vois, quand il commence à dire « But », tous les gamins, ils font « Ah putain, vas-y, maintenant, c'est parti pour la gauche !»
Bah oui, mais c'est normal aussi. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on attend de la part du Yuan depuis des plombes. Mmh. Où on sait qu'il a... N'oublions pas que Yuan a financé le fameux lanceur d'alerte. En tout cas la défense de ce mec
oui.
Et on apprend que c'est Yuan qui finance les frais d'avocat etc parce que c'est le lanceur d'alerte pour la crise des croisières
et il paye un avocat à Greg quand Greg envisage de sortir ce qu'il sait sur les croisières et tout et quand il se rend compte que Greg ne veut pas du tout renverser le capitalisme parce que c'était le plan B genre plan 1, enfin étape 1 du plan on te gère Greg étape 2 on renverse le capitalisme Greg était là, quoi ? Le capitalisme qui va faire que je suis riche, bof, pas trop envie. Mais et après, il le déshérite, Yuan.
Il le déshérite
et donne tout son argent à Greenpeace.
Tout son argent à Greenpeace et Greg finit par porter plainte contre Greenpeace. N'oublions pas cette take qui est quand même géniale.
Ce qui lui vaut d'être fêté par les Proud Boys néo-nazis au fameux congrès républicain. Ouais. 12 sur 10 en termes de choix de vie, hein, vraiment.
Clairement.
Gregory Hirsch. Mais oui, ça fait partie évidemment. De la construction du personnage de Yuan depuis le début, cette opposition idéologique à Logan, tout en ayant un côté un peu hypocrite de « Ouais, bah, en attendant, tu vis pas en HLM, t'es toujours au board. » Enfin,
et il a
t'es
bien
pas libéré de cette
profité,
plus, quoi.
Bien sûr. Ouais. Il a très, très bien profité. Et je comprends que Logan, quand il parle de son frère, il est là, bah, en fait, il profite, hein, le connard, là, quand même, l'air de rien. Et je comprends que Logan, de son point de vue, lui, se dit juste « Ok, il est sympa de cracher dans la soupe, mais en attendant, quand même, tu craches dans la soupe, frère. Hein. »
Et tu la bois, que tu la manges quand même.
Bah, tu la prends, oui, tu la prends avec grand plaisir.
Et en même temps, ça nourrit de fou bah, ce qu'amène Yuan. En fait, Logan, il voyait toujours la pire version du monde, la version consumériste, la version calculatrice, la version manipulatrice. Et tu vois, au lieu de se dire, bah, mon frère, il approuve pas tout ce que je fais dans le business, mais bah, peut-être qu'il reste aussi parce qu'il me soutient, peut-être qu'il reste parce qu'il espère me voir changer, peut-être qu'il reste parce qu'on a un lien, parce qu'on est frères.
Il se parlait plus.
Tu vois. Oui, mais. Logan, il s'est juste dit, c'est un fucking profiteur qui veut de la thune comme tout le monde, tu vois.
Ah oui,
et pour moi, le moment le plus touchant de ce discours-là, parce que ça va pas être le seul discours funèbre qu'on a au funérail de Logan, c'est quand il dit que... Du coup, Yuan, il dit que lui aussi, il a cette flamme noire en lui et cette meagerness. Donc la meagerness, c'est pas méchanceté, mais c'est... En gros, c'est une forme de mesquinerie. C'est être content de voir quelqu'un d'autre souffrir, tu vois. C'est ne pas faire la bonne chose, volontairement.
C'est l'inverse de la compersion.
Oui. Déjà, qui est genre prendre du plaisir à voir l'autre être heureux, mais aussi c'est l'inverse de la charité. Tu vois, c'est je fais exprès pas le truc désintéressé parce que je ne pense pas que ça vaille le coup, quoi. Et Yuan, il dit, il a nourri ce sentiment chez les hommes et je l'ai aussi en moi, mais j'essaye. Et un jour, lui, il a arrêté d'essayer. Et c'était une tragédie.
C'est très beau.
Et il dit, je sais pas quand, mais un jour, il a arrêté d'essayer.
C'est très, très beau.
Ah!
C'est très 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 beau et en fait on
en
a tout, on a peut-être tous ça en nous, tu vois,
oui.
à des plus ou moins grands niveaux, on a tous une facette comme ça éventuellement. En fait, ça dépend juste de quand tu est-ce que tu décides de la
nourrir, ouais.
Ouais, de la nourrir ou de faire la paix avec ou et en fait d'arrêter de la sortir systématiquement, quoi. C'est dur, hein.
Oui, et de le Schadenfreude pour les poètes. Est-ce que c'est ça le Schaden? Oui, le Schadenfreude pour moi, c'est être content du malheur des autres. La Migurna, c'est petitesse, mesquinerie, c'est un truc comme ça de les gens partir du principe que les gens sont nuls,
ouais.
Et que tout le monde est un peu nul et que tout le monde va faire la mauvaise chose et du coup, j'ai qu'à la faire en premier. Comme ça, je pourrais en profiter, tu vois. Et j'avais jamais trop eu ce regard sur comment Logan Roy a vécu sa vie. Il est parti du principe que il est parti du pire. Et du coup, il a joué au jeu avec les pires règles. Mais comme il a fini par créer le jeu, bah, il a aussi créé le jeu avec les pires règles. Tu vois, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Avant de passer à la suite des éloges funèbres, petit mot sur donc James Cromwell, qui est l'acteur qui joue Yuan, et l'invité de la semaine du podcast officiel de Succession, qui est publié par HBO toutes les semaines. Et il explique, notamment, alors quelqu'un disait dans le chat plutôt qu'ils ont refait, comme ils avaient fait pour l'épisode des funérailles, où ils ont tourné des scènes très longtemps, sans couper, pour avoir plein de types de réactions différentes et ensuite faire en sorte au montage que ça se voit pas trop. Ce qui est d'autant plus impressionnant qu'ils tournent en pellicule, donc c'est très chiant parce que tu peux pas avoir des heures et des heures de pellicule. L'acteur explique que lui, il souffre de symptômes du Covid long, et notamment de perte de mémoire, et qu'en fait, il arrivait pas, il apprenait le texte, et il était là, incroyable, pur texte, et puis bon, le gars, il est acteur depuis environ 80 ans sur 83, je pense. Et il disait, et genre 10 minutes après, je me souvenais pas des premiers mots. Et j'avais trop peur de... Et je suis arrivée sur le set, et ils étaient là, ok, du coup, on va le faire d'un coup. Ok, on va le faire une fois d'un coup, et après tu le refais d'un coup, on va faire ça toute la journée, parce que comme ça, on prend plein de plans différents, et t'es en mode... D'accord, il n'y a pas de cut, donc on va le faire.
Ouais,
d'un
et d'un
coup.
Autre côté, il a ses feuilles.
Alors,
tu vois.
Il a ses feuilles et il dit qu'il avait le vrai discours sur ses feuilles. Et en fait, il a commencé et il l'a fait d'un coup. Et il n'a pas eu besoin de ses feuilles. Et il était là, c'est tellement bien écrit et c'est tellement fort. Et il a ce truc où, quand il parle qu'ont tous les acteurs de Succession, quand il parle du perso, il dit moi. Genre, il dit c'était important pour moi de dire adieu à Logan une dernière fois et tout, mais pas moi, James Cromwell, moi,
ouais.
Le frère de Logan, c'est mon frère et tout. Donc, là, c'est bizarre, surtout des mois après le tournage, mais ok. Et c'était trop touchant de l'entendre en parler et d'avoir son regard sur... En fait, il a un regard aussi hyper critique sur Yuen, tu vois, sur le fait que il profite de l'argent de Logan, il a jamais rien fait, entre guillemets, genre il aurait pu être un whistleblower, alors,
bien sûr.
Pas ce qu'il a fait comme carrière, mais en tout cas, ça a pas l'air d'être un champion de la gauche internationale.
Non, il
n'est
pas militant, quoi.
Non, il est juste...
Sur la fin de sa vie, il décide de filer sa thune à Greenpeace, mais c'est vraiment la fin de sa life.
Il en a plus besoin aussi. C'est genre, j'ai gagné 10 balles pour mes dernières années et le reste, tu vois. Il a pas sacrifié le reste quand il lui restait 40 ans à vivre, quoi. Zo le fait qu'il nous dit, ce qui est fou, c'est que les enfants Roy répètent ensuite qu'il faut contrer ce discours et dire le bon côté, c'est-à-dire vive le capitaliste, broyer des gens, ça vaut le coup, tout à fait. Mais c'est le job de Roman.
Tout à fait.
Ça. Roman, The Showman, Lighting up the sky, il a ses fiches, il est ready,
il est prêt,
il a répété, il a un petit peu de son père en lui.
Il est fin prêt. Et là...
Ça te choque.
Ah là, ça te choque très fort. Là, vraiment, Roman, on sent quand il monte sur scène, mais quand il monte au pupitre, qu'il va pas bien. Il va pas bien du tout.
Et il le laisse y aller en mode, tu vas gérer, il est là, ouais. Et je suis en mode, mais vraiment, vous devez regarder ses yeux, genre, évidemment qu'il va pas gérer.
Mais d'un autre côté.
Il a entendu que son père était une personne, il a dit, ceci est une information inédite, je ne sais pas.
Ouais. Et d'un autre côté, Kendall va pas l'empêcher de monter à ce moment-là.
Non.
Tu vois, c'est trop tard.
On l'a pas dit, mais rappelons que Connor a écrit un discours. Donc Connor est ready en soi. Ready to go.
Et Shiv lui dit, en fait, tu vas pas faire ton discours parce que on va se prendre des procès. On sait pas trop ce qu'il y a.
C'est confus. Ce à quoi Willa répond, c'est formellement plutôt innovant et c'est ça qu'on aime. Je suis là, attends, meuf, est-ce que t'as écrit une pièce de théâtre, genre moderne, conceptuelle?
Avec du sable.
Ton gars, pour les funérailles de son père, je l'aime tellement. Shiv lui dit, en plus, on pourrait avoir effectivement
des procès. De quoi?
J'aimerais tellement savoir ce qu'il raconte dedans, putain. Mais donc, bah voilà, c'est à Roman d'y aller.
Et Roman, c'est vrai qu'il se lève et qu'il dit oh, mais pas de problème, moi j'ai fait un prêt d'œil en plus. Il dit
oui,
ça.
Parce que Franck lui dit bonne chance, fiston, et lui dit t'inquiète, j'ai pré-griffe et je suis pas ton fils.
Fils.
Oh. Sachant que Franck vient de lui mettre un petit stop en grognement, mais oui. Quand même. Genre, on m'a dit qu'aujourd'hui c'était les funérailles.
C'était sympa et tout.
Quid de la trêve funéraire?
Bah. Dur, hein. Dur. Là, ouais. Bah, Roman se transforme en 5 secondes.
Sad Roman.
En un enfant de 5 ans, en fait.
Ouais.
Qui s'écroule littéralement.
C'est fou. Cette physicalité qu'il a quand même, Kieral Culkin, genre. C'est le même gars qu'au début de l'épisode. Il est habillé pareil. C'est la même personne. Et t'es là en mode. On dirait un tout petit enfant dans un costume.
Il a la même tête que quand son daron reçoit sa dick pic.
C'est réel. Oui.
Il a la même tête. Il a la tête d'un mi-chemin entre un enfant perdu, un chien battu. Et tu sais, le chien battu qui a peur de se prendre une trempe.
Et qui veut une caresse en même temps.
Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, bien sûr. Et. Bon, je sais même pas par où on commence, bah, en fait, parce qu'il s'écrase en.
Il essaye, il balbutie des bouts de discours et il finit par regarder ses frères
non,
et sœurs.
Non, déjà, il commence et il met ses fiches.
Laissez-moi deux secondes.
On vise dans le bon ordre.
Mais il essaye, tu vois, il est là. Okay, ouais. Bah, ça sert aussi à ça d'avoir des supports, tu vois, quand tu paniques un peu, tu peux te dire, bon, c'est les funérailles du daron, c'est normal que j'ai un micro moment d'émotion et après, oh, mais un bonhomme ou pas ça, l'émotion là. Ça va pas, l'émotion.
Bah, les émotions, c'est compliqué.
Le deuil,
ça fait depuis l'épisode 3 qu'il est là. Moi, les émotions, ça ne m'intéresse pas. C'est bon, j'ai fait un pré-deuil. Vas-y, viens, on met tout ça de côté et ça dégage. Et là, bah, à un moment donné, les émotions, quand elles te prennent et qu'elles te submergent, bah, ma psy utilisait un truc très intéressant. Elle dit, en fait, t'as mis... quand j'ai commencé ma thérapie, elle m'a dit, alors mon gars, t'as mis en place une digue. Pour faire en sorte que, franchement, les émotions, elles passent pas pendant toutes ces années. Et en fait, ça fait des années que la digue, elle fissure, tu vois, et que toi, t'es là, tu es en train de passer. Et là, t'as un tsunami qui t'est venu en pleine gueule. Et ben, c'est exactement ça qui s'est passé avec le bon Roman, c'est qu'il a pris le tsunami des émotions en pleine gueule et il l'a pas vu venir du tout, quoi.
Quand est-ce qu'il craque pour toi? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, il y a Kinshima qui dit c'est la vue du cercueil qui le trigger. Pour moi, c'est l'histoire de Rose.
Pour moi, c'est ça.
Il se rend compte que son daron était lui-même un homme trauma, quoi.
En fait, on le voit pendant tout le discours du Yuan. Il y a plusieurs plans sur lui où tu vois qu'il est en train de se fissurer, littéralement. Enfin, je trouve que l'acteur joue à merveille parce que tu vois vraiment qu'il est en train de s'ouvrir en deux et il est déjà dead. C'est-à-dire que juste, c'est déjà cuit. Quand il se lève et qu'il dit, ok, vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Il est juste en mode automatique. Il est en survie, quoi. Il est juste à J-3 secondes de s'écrabouiller en l'air. Et effectivement, le cercueil, ça lui fait chelou. Et d'ailleurs, il finit par dire, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'on peut l'ouvrir?
De là? C'est la pire réplique. Je suis désolée. Is he in here? Can we get him out? C'est la pire réplique. C'est le seul qui allait voir le corps de son père en plus. Genre, il a fait le fucking taf pour pas avoir à vivre ce truc normalement. Il a fait le taf d'aller voir le corps de son père.
Le jour même.
Il est vraiment mort et tout, quoi.
Le jour même, mais après, plus du tout.
Oui, plus du tout. Mais aucun des autres n'y a. Enfin, il y a que
Connor. Sauf Connor.
Mais bien sûr, mais Connor, mais. Tu vois, Ken et Shiv, ils ont pas été voir le corps très clairement. Mais. T'as dit, il se fissure. Et pour moi, c'est vraiment un truc de dissociation, tu vois. C'est qu'il peut plus réconcilier toute cette posture de bravado, de.
Bien sûr.
De macho et tout. Et la réalité de c'est un petit enfant traumatisé et qui voulait tellement que son père l'aime.
Oui.
Et c'était le seul truc qu'il voulait. Et maintenant, il pourra plus jamais l'avoir. Et en fait, il aurait jamais pu l'avoir anyway. Et je suis là. Tu vois, je suis émue, quoi. Alors que c'est un connard.
Et il y a Léa qui dit en même temps, son père est mort il y a 10 jours, c'est normal de s'effondrer. Les gens le regardent comme si pleurer un enterrement, c'était quelque chose d'inhabituel. Alors, je suis pas d'accord avec ça. C'est juste. En fait, pour moi, c'est ce qui va se passer après. C'est-à-dire que les gens vont le bolos parce qu'ils pleurent. Mais ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est plutôt que le gars a fait comme si tout allait bien depuis le départ. C'est-à-dire, c'est plutôt ça le truc. Effectivement, c'est normal qu'il s'effondre. Mais.
Bien sûr.
En fait, t'avais aussi 10 jours pour t'effondrer avant. C'est-à-dire que il y avait vraiment t'avais vraiment plein de temps pour t'effondrer. Et ça fait. Ça fait depuis le début de la saison qu'on dit, enfin, en tout cas, depuis l'épisode 3 qu'on dit, allez en thérapie, les gars, faites une pause, arrêtez de juste vous emmerder à continuer votre vie comme si de rien n'était, quoi, parce que ça n'est pas normal.
Et en même temps, c'est aussi le monde dans lequel ils évoluent qui les pousse. Il y a le board, il faut dire qui c'est qui prend la suite parce que le marché, la bourse va rouvrir lundi. Il faut aller en Norvège parce que Madsen, il a dit c'est maintenant ou jamais, tu vois, c'est genre, en fait, tu peux, ok, faire une pause, ça veut dire j'abandonne la boîte, tu vois. Et c'est un gros enjeu à décider quand t'es trauma de la mort immédiate de ton père toxique, tu vois, donc c'est, ils peuvent pas gagner ces gosses, mais, pas non plus beaucoup d'efforts. Et là, en même temps, genre, bah, ça le disait dans le chat, genre, c'est l'effondrement quand Roman craque, c'était horrible, mon cœur s'est déchiré, je l'ai senti. Et même si, voilà, Caracol dit, j'étais absolument décidée à ne pas avoir d'empathie pour lui, mais quand il s'effondre, c'est impossible de ne pas avoir pitié. Ouais, parce qu'en fait, c'est un humain qui est triste que son père soit mort.
Moi, je vous avoue, j'ai pas réussi. Moi, vraiment, j'étais là. Ouais. Bah, en fait, ça m'a. Pour moi, il y avait vraiment un vrai côté. Ok, donc tout ceci est très normal parce que ça fait des plombes que t'es en train. Mais j'ai pas réussi à. Et encore une fois, je pleure devant Ted Lasso chaque épisode. Hein,
ah oui, tu n'as pas de problème à pleurer.
J'ai pas de problème à pleurer sans aucun problème. Mais pour moi, il y avait vraiment un truc de. En fait, t'es juste en train de récolter. Enfin, non, j'ai pas réussi à rentrer en empathie tout simplement. Pour moi, j'étais juste. En fait, t'es en train de faire le malin depuis 10 jours et là, t'es juste en train de te faire ramasser la gueule. Tout est normal en fait, tu vois, et j'ai pas réussi.
C'est normal qu'il craque, je suis d'accord.
Oui, oui, mais tu vois, j'ai pas réussi à me dire oh là là, pauvre pipou, machin. Non, en fait, en vrai, ça fait 10 jours que tu fais les gros bras et.
J'étais pas en mode pauvre pipou, mais j'avais quand même envie de lui faire un câlin, tu vois.
Oui.
Juste parce que c'est une personne.
Mais oui. Après, tu vois, pour moi, façon. Non, bah voilà, ouais. En fait, pour moi, dans sa façon de s'écrouler. Franchement, moi, ce que j'aurais fait, c'est que pour moi, il se rétablit trop vite. C'est-à-dire que assez vite, après rapidement. Alors, certes, il pleure et tout. Tu le vois encore un peu.
Tout,
voilà. Mais
il
très vite, en fait, exactement. Pour moi, il s'écroule. Normalement, quand tu t'écroules comme ça, tu t'écroules. Tu t'écroules pendant une heure et tu peux plus t'arrêter de pleurer. Tu vois. Et
je sais pas. Ils sont tellement dissociés
peut-être,
en fait.
Peut-être.
Et Shiv, à un moment, elle fait une vanne dessus. Elle dit, t'apprends très vite à faire de la dissociation.
Oui.
Quand je crois que c'est Tom la voit parler avec sa mère à un moment et elle est là, c'est comme ça qu'on apprend à faire la dissociation.
Ouais.
C'est ok, autant qu'il peut, il switch, mais après quand tu regardes sa gueule dans tout le reste de l'épisode, le mec il est à ça, craqué, et
mais...
on le verra au mausolée et tout, genre il est pas, il se remet pas. Il est littéralement en, si quelqu'un me parle ou me touche, j'explose. Donc ne me parlez pas et ne me touchez pas.
Mais let's go, c'est
et
le moment.
À la fin, je m'emmanie.
Let's go, c'est le moment ou jamais en fait, tu vois.
Bien sûr, mais il vit dans un monde
qui. Tu l'as fait là.
Lui parce qu'il a pleuré à la.
Non,
non,
je sais bien, je sais. Oui, ça c'est horrible.
Qui peut être vulnérable en ce monde.
C'est Mencken, c'est ça.
Mencken et Madsen.
Et Madsen.
Kendall qui lui dit you fucked it, mais ça on est ravis.
Oui.
Petit détail de cette scène avant qu'on parle, du coup, Kendall motherfucking Roy qui prend la suite. Jerry, il y a un plan sur Jerry quand Roman craque et c'est quand même un lien qu'ils ont eu. Et il y a à la fois un plan sur Jerry et ensuite un plan sur Carl qui regarde Jerry pour voir comment elle réagit. Et j'étais là, ah ils savent qu'il y a eu
savent.
Relation spécifique.
Bien
mais
sûr.
Je m'étais jamais demandé, tiens, est-ce que les deux tic et tac, là, Frank et Carl, ils savent. Mais
ils sont pas cons, c'est des vieux de la vie, c'est vraiment des vieux loups quoi, vieux loups de mer.
Ils sentent les bails. Et bon, comme dit Jerry, elle aurait pu amener Roman ailleurs, mais ce n'est pas arrivé. Kendall Roy. Et non pas Connor Roy qui, rappelons-le, avait déjà écrit un discours, mais pas sollicité.
Calme-toi.
Mais lui-même, et Shiv, en deux concerts, se tourne vers Kendall en mode, bon, il va pas faire le discours, mais il faut que quelqu'un réponde au discours de Yuan.
Oui.
Et ça aussi, c'est pas on va pas avoir de discours, c'est on va pas laisser ça être le seul discours. Et Kendall, il est là.
Non, laissez-moi 2 minutes pour juste remettre mes idées en place. Quelqu'un, un stylo, oui, pas de problème. Oui,
et alors, le gajo était
en feu.
Motherfucking ready. Non, mais il a écrit son freestyle toute la nuit, la veille, tu vois. C'est sûr qu'il s'était préparé en mode on sait jamais, number one boy et tout. Oh, big, big shoes.
Big, big shoes.
Le dit French fry.
Big, big shoes.
Est-ce qu'on kiffe?
Écoute.
Kendall Roy.
Non, parce qu'en fait, pour.
Capitaliste compliqué.
Ouais,
faire.
C'est ça. C'est qu'en fait, pour moi, il est juste en train d'expliquer. En fait, pour moi, c'est un discours de patron. C'est-à-dire, c'est un discours de salarié à un patron. C'est-à-dire, imagine t'as bossé pendant. Bah, imagine, ça pourrait être Carl qui pourrait faire ça. Ça pourrait être Carl ou Franck qui pourrait faire ce truc. C'est pas un discours d'hommage d'un enfant à un père, en fait. Parce que, en gros, c'est triste, mais pour moi, ça prouve à quel point, pour Kendall, Logan était juste le patron de son empire. Et qu'en fait, c'était pas un daron.
Bah, ils ont rien de perso à raconter.
C'est ça.
Il y avait déjà eu, à la saison dernière, Roman devait raconter à une journaliste une anecdote chouette avec son daron. Et il a raconté un moment où son daron l'a emmené pêcher.
C'était
et
Connor.
Logan, il était là, je me souviens pas. Et il fait, ah ouais, non, c'était Connor, mais c'est mon go-to souvenir d'enfance joyeux, quoi. Donc,
c'est pas Connor. Pas Connor qui dit, ah non, mais c'était moi, c'était pas papa.
C'est Roman qui dit à Logan, non, Connor n'est pas impliqué dans cette histoire puisque c'est Connor. Mais, enfin, Connor n'est jamais, il réagit pas au fait que Roman ait raconté ça dans un média.
Ok.
Mais Roman dit à Logan, ah oui, non, c'était pas toi, c'était Connor. Il lui dit clairement, non, toi, t'as pas été un bon daron, donc, non, je n'ai pas de souvenir heureux avec toi. Mister Melik nous dit que c'est un discours pour les marchés financiers.
Bah oui, un peu. Et en fait, effectivement, c'est un discours qui montre aussi à quel point Logan a été un patron d'entreprise. Alors certes, on peut très peu éthique par plein d'aspects, mais qu'il a aussi monté une force économique et capitaliste énorme. Et effectivement, à un moment donné, je crois qu'il dit en fait, vous en avez tous profité ici.
Oui. Ah bah, il dit « and the money » et il fait une pause et t'as un plan sur la salle, tu vois. Il y a une
Bien
forme
sûr.
De malaise de « quoi, l'argent ?» Non, nous, ici, on ne parle pas d'argent. Oui. Il les met quand même un peu en face du
Bien
truc
sûr.
De « mon père était the ultimate capitalist et tous ici, autant que vous êtes, vous profitez du monde qu'il a continué à... » Il connaissait le monde et il était à l'aise dans le monde. Et il aimait le monde et il le savait.
Waouh.
Est-ce que les enfants Roy sont à l'aise dans le monde? Est-ce qu'ils le connaissent? Pas vraiment, hein.
Ouais, et d'un autre côté, je crois que lui voit... Je crois, franchement, que Logan était sans doute plus à l'aise dans le monde que les enfants
ah
Roy.
Oui, c'est
sont
ça que
dans...
je
ah
dis.
Oui, ok, d'accord.
C'est que justement...
Oui, il n'aura pas transmis
être
ça.
Être à l'aise dans le ouais. monde, comme il dit Logan Roy de la plus grande salle de chef d'État où on attendait son opinion à la plus basse. Il dit the lowest house, donc la plus médiocre maison où on regardait ses news, on regardait ses infos. Il a toujours été à l'aise. Et je me souviens, on a vu ce bout de l'épisode avec mon mec. Et mon mec était là, waouh, warning, the lowest house. Genre, vraiment, ça va, on vous dérange pas les riches, tu vois. Il y a un truc un peu, il y a les gens qui ne sont rien, tu vois.
Souvenez-vous du moment où il se retrouve à aller s'excuser auprès des darons du fameux serveur. Où Kendall reste dans la cuisine comme un connard et il sait pas quoi faire, il est encore comme un enfant de 3 ans.
Il lave son verre d'eau.
Voilà, là où Logan, on sent qu'il est arrivé et qu'il dit salut, et en fait, bah effectivement, il fait son tralala parce qu'en fait, il est super bon.
Mais parce que lui, il a connu les deux aspects.
Exactement.
Du monde aussi. Il a été.
Il vient de loin, quoi.
Ouais, et bah, French Fry dit le prix du litre de lait, on s'en souvient. Effectivement, je crois que c'est à Roman qui quiz un moment sur combien ça coûte un litre de lait, comme on a demandé à d'autres combien ça coûte un pain au chocolat parfois dans aux infos.
C'est tellement important pour moi, ça prouve aussi à quel point je pense Logan se dit que son éducation a foiré. C'est que, en fait, il a pas réussi à transmettre ça à ses enfants. Et effectivement, elle leur dit tardivement à la fin de la saison 3, en fait, vous allez vous faire votre propre pile d'argent. Mais si tu veux,
Kendall, il a déjà 40 ans. Mon gars.
Bien sûr, c'est très tardif.
C'est un peu tard pour lui apprendre la valeur de l'argent. Et
mais
du
tu vois, moi, par exemple, en tant que daron, je me souviens très bien que j'ai eu un. Ça m'a libéré de ouf en disant à mes enfants, en fait, en termes d'héritage, ne comptez pas sur moi. Démerdez-vous. Et elles sont petites, hein. Elles ont genre 17 et 15, tu vois. Mais juste, en fait, vous ne comptez pas sur moi. Peut-être qu'il y aura des sous. Alors je vais faire en sorte que soit pas négatif, qu'il n'y ait pas de dette.
Oui, déjà.
Ça c'est clair. Mais en revanche, les gars, démerdez-vous, ne comptez pas sur moi.
Oui, parce que c'est ça que, en fait, Logan aurait pu autant que faire se peut essayer de familiariser ses enfants avec le plus de pans différents du monde. Alors
c'est
certes,
tellement dur à faire.
Alors oui, c'est dur à faire, mais je pense pas qu'il a essayé. Et enfin, on sait qu'ils ont été en école maxi privée, etc. Et à un moment, dans la fameuse, la thérapie familiale dans la saison 2 où Kendall part prendre de la méthamphétamine et revient cogner à la vitre en disant « Family, thérapie, excusez-moi !»
Putain
Fucking Kendall Roy.
C'est clair.
Et c'est un des moments où il est le plus sincère avec son daron et où il a pas peur de lui. Et à un moment, il lui dit « Tu nous en veux de ce que tu nous as offert. Tu nous en veux de nous avoir offert ce que t'as pas eu. » Et c'est un peu vrai aussi.
Il a tellement raison, bien sûr.
Donc c'est... Ils connaissent pas... Ils sont pas à l'aise dans le monde parce qu'ils connaissent pas plein de pans du monde qui sont pas... le genre de château de glace dans lequel ils vivent. Donc ils seront jamais Logan, en fait. Mais Kendall, comme Roman dans son discours qui était prévu, essaye d'inspirer. Ah, c'est bien le fils de son père, puisqu'il finit en disant « Dieu sait que j'espère avoir de sa vivacité en moi, même si cette ambition, c'était la force qui pouvait repousser les gens, ouais. etc. Mais Dieu sait que j'espère l'avoir en moi, parce que si on doit vivre sans son énergie, l'avenir sera bien, bien terne. »
C'est vraiment quel discours.
Waouh. Waouh, wow. C'est un très bon discours. Hein.
Mm.
Et la salle est applaudissement.
La salle applaudit.
Spontané.
Mm.
Applaudissement pour... Est-ce que c'est pas un peu bizarre d'applaudir un enterrement? J'étais là, c'est bizarre, je trouve. Mais...
Non, pour moi, quand t'as... Non, pour moi, en fait, quand il y a quelque chose avec lequel t'es d'accord en tant que public, tu t'applaudis, quoi.
Ouais, ok, ça se tient.
Discours, enfin, enterrement, pas enterrement, peu importe.
Ma spécialiste, Joanna Robinson, est aussi spécialiste de Shakespeare. Elle fait beaucoup de parallèles entre, bien sûr, Shakespeare et Succession, qui est une série très shakespearienne. Et elle a fait un parallèle entre cet éloge funèbre de Yuan suivi de celui de Kendall avec l'éloge funèbre de Jules César, selon Shakespeare, où il y a plusieurs personnages qui font un éloge funèbre à Jules César, assassiné, comme vous le savez,
par Brutus.
Tout quoi qu'est
le fiston.
Brutus, son fils.
Boum.
Et le premier qui fait un discours, c'est Brutus, qui a en plus assassiné César, n'est-ce pas? Et qui, en gros, lui dit, enfin, il dit, je l'ai aimé pour l'homme qu'il était, je l'ai aimé pour le père qu'il était, je l'ai embrassé pour la chaleur qu'il donnait, et je l'ai tué pour son ambition. En gros, il a vécu, enfin, je l'ai aimé pour plein de choses, et son ambition était démesurée, et il fallait qu'il meure pour son ambition. Son ambition était une mauvaise chose pour la République, pour la démocratie, pour Rome, etc. Et le discours qui suit de Marc-Antoine vise à dire non, l'ambition de César était une bonne chose. Et sa façon d'être ambitieux était une bonne chose. Et nous devrions tous aspirer à avoir son ambition. Et c'est toi, Brutus, qui l'a tué, qui es une petite merde, globalement, de l'avoir tué parce que tu ne pouvais pas soutenir la puissance et la force de son ambition. Et du coup, c'est vraiment un bon parallèle parce que c'est les deux discours. C'est Yuen qui dit aucune forme de pouvoir et de réussite ne devrait éclipser le mal que Logan a fait. Et aucune forme d'empathie ne devrait excuser aussi le mal que Logan a fait. Et Kendall, il est là. Peu importe le mal qu'il a pu faire,
l'argent.
C'était au nom de cette force vivante qui est l'argent, mais aussi l'ambition, l'envie de faire, il dit l'envie d'être en mouvement, l'envie de créer. Ça marche trop bien.
Banger.
Bravo, Joanna Robinson. Il y a Steel Marty dans le chat qui nous dit que le discours de Kendall touche beaucoup Shiv. Et Shiv décide de monter elle aussi.
Ouais, de façon un peu impro.
Ouais, un peu chill. Mais ça a pas l'air non plus d'être... Elle est pas en mode « Ouais, bah moi aussi j'y vais, tu vois. » C'est genre « Bon, bah si on dit tous un truc, je vais dire un truc. » Et pour moi, c'est pendant le discours de Kendall qu'elle décide genre « Ah ouais, vous êtes vraiment en train de pas dire toutes les choses.
Ouais.
Je vais aller dire un ou deux trucs que vous avez peut-être pas mentionnés. »
Puis je trouve ça génial que effectivement elle vienne parler au nom des femmes.
Oui.
Parce que c'est ça.
Oui, c'est ma deuxième scène préférée de l'épisode. Mmh. Avec... les meufs au premier rang.
Ah bah là, les féministes à 2023, dès qu'il y a des...
Non mais franchement, c'est genre...
Ah non mais t'as raison.
Y a... Alors c'est littéralement 2 scènes sur 1h10, mais quel épisode pour les femmes dans Succession quand même.
Putain, c'est clair.
Et on prend les victoires là où il y en a, il n'y a pas tant de personnages féminins.
Mais c'est cool, mais c'est cool de l'entendre. C'est cool de l'entendre parler de sa place en tant que fille.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un truc du genre...
Alors, elle commence en parlant de leur place en tant qu'enfant, puisqu'elle commence en racontant qu'ils allaient souvent exprès jouer devant la porte de son bureau, et qu'il ouvrait la porte sans venir, mais il ouvrait la porte pour les engueuler, et qu'en gros, c'était ça leur père, quoi. Elle disait, c'était une planète, c'était le soleil, c'était quand il te donne sa chaleur, il fait si chaud, et c'est si lumineux, et quand il est plus là, il fait si froid, et enfin, quand il brille plus sur toi, puisqu'il est toujours là, mais pas pour toi.
Ouais.
Il fait si froid, et il fait si noir, et j'étais là, les parents toxiques. Et après, elle dit, c'était pas facile. Il était dur avec les femmes. Mmh. Et là, t'as un plan sur Jerry et Carolina. J'étais là, yes. Pas de réplique, mais elles sont là quand même. Enfin, y a un petit moment où Jerry, elle est là, en vrai, petite syndrome de Stockholm, on le regrette pas vraiment. J'étais là, you go girl.
Non, non.
Tu peux le dire, t'es un connard. Et pour moi, la plus belle phrase de l'épisode, c'est quand Shiv dit, he couldn't fit a whole woman in his head. Donc, ce qui veut dire, il pouvait pas faire rentrer toute une femme dans sa tête. Il pouvait pas concevoir l'intégralité d'une femme. Et pour moi, c'est une si belle façon de parler d'un truc qui est un ressenti.
Du patriarcat.
Oui, du patriarcat, bien sûr, mais d'une certaine facette du patriarcat, tu vois. De c'est pas, il méprise consciemment les femmes, ou c'est juste, il y a des hommes où tu sens qu'ils arrivent pas à se rendre compte que les femmes, c'est des personnes. Mais pas en mode, vous devriez pas avoir le droit de vote et rester à la cuisine. C'est juste, genre, dans leur tête, ils le savent que les femmes, c'est des personnes, mais dans leur cœur, ils le savent pas, tu vois. Ils arrivent pas à se représenter qu'une femme, c'est aussi complexe et multitude et nuancée qu'eux, Et c'est pas, enfin, c'est genre le patriarcat qui leur a appris, tu vois, ils sont pas nés comme ça.
Je t'ai laissé un vocal cette semaine.
Oui, je l'ai pas écouté encore.
Oh, ok. Je croyais que t'allais rebondir.
Non, non, mais dis-moi, en plus, j'y ai pensé tout à l'heure, okay. Parce que je faisais autre chose. Je
parce que, en gros, il y a cette, il y a cette série qui s'appelle Miss Maisel. Je te racontais que je chialais et tout.
Oui, oui, et je t'ai dit, donc, ah bah, raconte. Donc, et je m'envoie un audio et j'ai dit, bon, bah, je l'écouterai tout à l'heure.
Voilà. Plus tard pour l'émotion. Ouais. Mais en gros, il y a cette série qui s'appelle Miss Maisel que je vous invite vraiment à découvrir, sur Prime Video. Et en fait, il y a le dernier épisode de cette série qui a été diffusée là, enfin, vendredi dernier. Il y a une scène qui explique, une scène magnifique qui explique ça, qui m'a touché au cœur. Après, je le fais rapidement, mais en gros, c'est le père de cette jeune femme qui est brillante, qui fait du stand-up, qui est donc dans les années 60 à New York, pour remettre un peu de contexte. Où en fait, la meuf se bat pour devenir humoriste et Dieu sait si c'était déjà compliqué il y a encore 10 ans en France, mais alors dans les années 60. Ouais,
ouais, en 2023, être une femme drôle, c'est compliqué.
Toujours compliqué.
De façon professionnelle, c'est compliqué.
Ça, il y en a de plus en plus.
Dans
mais...
les années 60, waouh!
Waouh! Et en fait, en plus, elle est jolie, donc tout le monde attend qu'elle, à ce que, en fait, comme t'es une femme jolie, t'es censée chanter, tu vois, donc il y a tout ce truc autour de tout ça. Et bref, je vous passe un peu les détails, mais en gros, il y a ce, il y a cette discussion géniale où t'as le père, qui est un personnage central dans, et qui est génial, hein, par plein d'aspects, qui a une sorte de monologue où il explique à quel point il se rend compte que il est passé complètement à côté de sa fille, et à côté de qui est sa fille, et à côté de la force qu'a sa fille, par rapport à son propre fils aîné, sur qui il a mis l'intégralité de son attention, et de sa force, etc., et de se dire, en fait, elle est mille fois plus forte que mon fils et moi réunis, et je suis complètement passé à côté. Et donc, il est dans un dîner où il est avec d'autres hommes.
Ouais, on a grosso merdo qui dit, la scène du resto avec les quatre sexagénaires voilà. Venus picoler qui se mettent à bader sur leur vie. Très belle scène, effectivement.
Effectivement. Et en fait, enfin, moi, je l'ai pas lu comme les autres badent sur leur vie, c'est plutôt le mec qui est en train de se livrer, et les autres mecs ont beaucoup de mal à recevoir. Et juste avant ça, il y a une scène, grosso merdo, tu t'en souviens, où, j'imagine, où donc Miss Maisel, Midge, retrouve un mot qu'elle a écrit quand elle avait 20 ans à sa elle d'aujourd'hui, tu vois, dans sa fac, et elle met juste « don't ». Elle dit, elle comprend pas pourquoi elle a mis « don't ». Et en gros, elle a, quelques minutes plus tard dans la série, elle a un succès professionnel. Et elle, tu vois, elle dit « Non, non, mais c'est pas moi, c'est les autres mecs et tout. » Et t'as une meuf en face d'elle qui lui fait « Don't
oh. ».
Elle fait « Non, non, je vous jure, c'est parce que... Don't ».
Oui, genre, arrête de te dévaloriser, prends le win.
Ouais. Elle oh, dit, et elle dit « Tu sais pourquoi ?» Parce qu'en fait, les mecs, ils vont prendre.
C'est vrai, c'est réel.
Bref, pardon, c'était vrai. Et en fait, j'ai pleuré en deux temps. J'ai pleuré une première fois sur ce « Don't » là, où tu comprends pourquoi elle écrit « Don't » quand elle avait 20 ans. Et après, où t'as cette... cette introspection du daron qui parle, en fait il illustre le patriarcat juste ouais. En fait bah ma fille effectivement j'ai jamais pris en compte que c'était un être humain en fait
ouais c'était toute une personne et pas juste une fille quoi et pas juste une femme
ouais pardon très pour la digression
oui non mais très très chouette. Merci.
Moi non plus je suis pas prêt pour la fin de Miss Maisel.
Il y a des fans sur le chat dont Steel Marty qui apprend que c'est la fin de Miss, enfin c'est le dernier épisode de Miss Maisel qui apparemment est enfin pas
c'est pas le dernier épisode non
mais là le dernier épisode est sorti donc apparemment c'est fini c'est ça que vous dites hein Léa
non, bah,
c'est l'avant dernier mais le dernier qui est sorti
c'est le dernier qui est sorti là la semaine passée mais il y a encore un ou deux épisodes je crois
okay.
Il y en a 10 au total.
Le chat va te tenir au courant.
C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin.
Ah, donc il y a un autre.
Quoi, c'est le. Non, c'est pas le dernier. C'est pas... Ah, putain.
Ah, il y a grosso merdo qui note le daron comprend ça sur sa fille en réalisant que sa petite fille
oui.
est brillante.
J'ai pas voulu
et
réexpliquer.
Pas son petit-fils
effectivement.
Qu'il guettait. Donc ils seront
la dernière
en train
saison.
De refaire la même connerie exactement. D'attendre d'un garçon qui soit par défaut mieux qu'une fille, quoi.
Exactement. La dernière saison est magnifique. Vraiment, c'est dingue.
Très bien. Donc, pour mettre les choses au clair, c'est cette semaine, la semaine du 22 mai, que sort le dernier épisode, ce vendredi.
Oui.
De Marvelous Miss Maisel, mais il n'est pas encore sorti. Hello, c'est Bulo, on vient de finir l'épisode de Succession. Eh bien, ma foi, bon courage pour vous en remettre. Donc, Siobhan Roy a cette réplique incroyable et ce moment sur rappelons que c'était quand même que mon père avait un problème avec les femmes. Et elle finit en disant « Goodbye, my world of a father », ce qui est tellement beau et tellement aussi parlant sur... alors, quelqu'un dans le chat, avant qu'on parle de Miss Maisel, disait... Zmul disait, c'est un truc de personne narcissique, le truc du soleil, selon la fameuse psy sur YouTube. Mmh. Ce truc de, tu peux pas être le soleil de la vie des gens, quoi. C'est pas non. une façon.
Ne fais pas
saine.
Ça.
C'est pas une place saine à avoir dans la vie des gens. Parce que le soleil, on en a besoin pour vivre, par exemple. Et ce truc de, c'est tout un monde qui, enfin, je pense que quand tu perds un parent, quand tu perds une personne, il y a forcément tout un petit monde qui disparaît avec elle. Mais quand elle le dit, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une planète qui vient de devenir un trou noir, quoi. C'est trop de place. C'est la fin de ce triple discours funèbre en l'hommage de Logan Roy, mais finalement, il en méritait bien au moins trois. Il y a une mini-scène coupée avec Connor, où en fait, ils avaient écrit un truc où Connor, il bataillait beaucoup plus pour faire son discours, et il finissait par lui filer le passage de Franck, qui avait normalement un passage sur scène pour lire un verset de la Bible, enfin des versets de la Bible,
okay.
que Logan Roy aimait bien, et d'ailleurs je crois que c'était dans la fameuse lettre avec Kendall Roy sous Libaré, souviens-toi, il y avait deux trois dispositions pour ses funérailles, et il me semble qu'il y avait des versets de la Bible qu'il voulait, donc Franck devait faire ça, et a priori finalement ils l'ont donné à Connor pour qu'il ait un truc à faire.
Okay.
Ça n'a pas été gardé au montage,
bonne
mais
idée.
Alan Ruck l'a dit dans un podcast qui joue Connor. Rapidement, à la fin de ce, avant d'arriver au cimetière, il y a Menken qui snob Roman et qui félicite Kendall. Il y a tout le monde qui félicite Kendall, hein, globalement, sur la route, sur la sortie, mais il s'attarde évidemment sur Menken et Kendall lui dit, on parle bientôt, il est là, ouais. Pendant ce temps, Roman a une tête de mec qui a mangé dans un kebab avarié.
Il a vraiment une tête d'enfant là, c'est vraiment.
Ouais.
Il joue trop
et
bien.
Il sait qu'il a merdé quoi.
Bah là, il sait
quand il voit qu'il y a un plan où, pendant le discours de Kendall où tu vois qu'il est là en mode fuck. Non seulement somme de rater le discours au funérailles de ton père, whatever happens, mais il sait que professionnellement il s'est cramé quoi, ce qui est terrible. Et comme le business ne s'arrête jamais, Hugo informe Kendall qu'il a su Paréba.
Ouais.
Donc tu l'as, ok, bah dis des trucs et tout, ok, d'accord. Que Madson réfléchit à cette stratégie de PDG américain, maybe, ou américaine, maybe, Menken ne bloque pas le deal. Donc Kendall a une info sur il faut agir vite. On est en guerre, mais avant ça, on va aller au cimetière visiter le mausolée.
Le mausolée qui a été...
qui a été acheté
5 000. Ouais, good deal.
Good deal.
Good deal.
Mais qu'est-ce que tu en sais du prix de l'immobilier dans les cimetières de luxe de New York? Vraiment, le gars qui est là en mode, oh, ouais, il s'en est bien sorti, je suis un mec... Tu es qui, toi? Bref. Il a acheté un mausolée.
Qui a été créé par des startups, par un fondateur de startups d'animaux, c'est ça?
De livraison de bouffe pour animaux, je pense. C'est le mec qui a créé, genre, l'équivalent de Zooplus, tu vois, ou un truc de PetSmart.
Incroyable.
Puisque Chiv dit le Ozymandias de la bouffe pour chat. Très bonne. Enfin, c'est aussi l'épisode 9 de Breaking Bad.
Ouais.
C'est la quasi fin de Breaking Bad, mais pas vraiment, qui s'appelle Ozymandias, donc ça marche bien. Et alors, il découvre tout, sauf Connor. Qui est quand même un peu en mode, c'était qui le Eldest Son? Qui avait les infos sur le mausolée, sur le rapport à la mort de Logan en fait? Parce que c'est lui aussi qui leur dit, il voulait pas être sous terre, je pense. Et ouais, il a acheté ça d'occasion, enfin, il a eu l'opé.
Il nous a jamais montré, machin, ouais, bah oui,
tu
t'as jamais,
t'as jamais
envoyé une photo.
Mais c'est lui aussi qui a été voir son père au funérarium, et enfin, c'est lui qui a rapporté
que...
tout ça à la mort de son père.
Ça veut aussi dire que Logan lui envoyait des photos du truc,
ouais,
tu vois.
Il lui en a parlé.
Alors qu'il n'envoyait rien aux autres.
En même temps, il était un peu brouillé avec les trois autres ces derniers mois.
Oui.
Alors qu'il les a déshérités
Oui, je suis pas sûr que ça date. Tu crois que ça datait vraiment de ces derniers
je
mois?
Je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est peut-être moins récent que ça, mais ça. J'étais un peu contente pour Connor. C'est un peu la seule série où tu peux dire, ah, hein, il savait ce que son père voulait.
Clairement.
Il savait où son père voulait être enterré. C'est sympa pour lui. Mais la barre est basse.
Ouais.
Et il y a. Franchement, il y a des punchlines de fou à ce moment-là quand il découvre qu'il y a des tiroirs et
des lits superposés. Genre des. Comment c'est des bunks? C'est ça,
ouais, il dit des bunk beds.
Ouais.
Pour si jamais on veut se joindre à papa dans ce qui deviendra du coup le caveau familial. Que penses-tu d'être enterré auprès de Logan Roy en termes de choix de vie? Enfin, de choix de fin de vie, de non-vie, d'après-vie?
Ouais, c'est quand même à peu près. Enfin, en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que pour moi, ils sont tellement dans un syndrome de Stockholm de ouf que c'est très possible qu'ils y aillent, quoi. Tu vois, là où moi, je les inciterais plutôt à se libérer de papa, quoi. Tu vois, et de s'acheter leur propre mausolée, parce qu'a priori, 5 000,
good deal.
Ça devrait aller, quoi. Tu vois.
Oui, et au pire, ils peuvent aussi être enterrés comme des paysans dans la terre, parce que c'est ok. Tu reviens.
Ouais.
À la
ou moi, je suis
team
incinération, hein, donc
aussi,
hop,
voilà,
petite poussière et puis hop, tu vas à l'océan Atlantique. Moi, c'est tout ce que je demande. Vous le savez, vous le saurez ici en premier. J'ai pas encore écrit mon testament. Pardon, je connais. Bah,
faut pas compter sur mes replays Twitch pour ça non plus. N'hésite pas à aller voir un notaire à un moment. Je suis pas exécutrice testamentaire. Oh.
Envoyez-moi, si vous avez un bon notaire là, n'hésitez pas.
Envoyez des DM à Fab.
Envoyez-moi un good deal.
Commission,
good
pas.
Deal.
Good deal. Petite small commish. Quand même, je suis très contente parce que cet épisode confirme quelque chose dont j'aurais dû me douter il y a longtemps, qui est évidemment que Connor, c'est le genre de connard qui s'intéresse à la cryogénisation.
Bien
et
sûr.
Qui était parti pour se faire cryogéniser.
C'est évident.
Et qui est là en mode, le mec, il a, genre, fondamentalement, il croit un peu à la vie éternelle. Mm. Et il est là, non, je peux échanger ça contre avoir un lit du haut dans le mausolée de papa. Mi, je serais contente de passer l'éternité avec papa. Mi, ça lui fera un peu la bite à lui qui m'a jamais vu toute sa vie.
Ouais,
de,
je viens de
passer
avec...
l'éternité avec
ah,
lui, tu vois, je suis là.
T'as tellement raison.
C'est chaud. Léa nous dit que Connor a vraiment acheté la part de son père le lendemain de sa mort, donc c'est pas le genre de ses enfants de faire différemment de leur père. C'est très vrai. Et surtout pas celui de Connor. D'ailleurs, Alan Ruck a dit qu'il y a aussi une autre scène coupée dans l'épisode où il est tout seul dans l'appartement. Du coup, il a acheté l'appartement. Mmh. À Marshall, Connor.
Incroyable.
C'est bon, c'est fait. Bah, en même temps, Marshall était là. Oui, d'accord, oui. Il se crache dans la main, let's go. Mais les agents immobiliers de luxe travaillent double dose puisque
pas.
Ça s'est fait vite. Et en fait, il y avait une scène où on le voyait tout seul dans ce grand appartement en train d'appeler je sais pas qui pour organiser l'enterrement. Et il y avait ce côté, genre, le vide que ça laisse quand une personne décède, tu vois. Et d'être chez quelqu'un qui est décédé. Et d'avoir sa présence partout, mais plus la personne est touchée à... On n'en a pas assez déprimé, les gars.
Vraiment un choix de vie, hein, putain. Ça,
on a deux petites scènes, on a trois petites scènes dans les cimetières encore. On a donc le Roman, quand il parle de Kendall, il dit, de Logan, il dit « il me faisait respirer bizarrement ». Lui, il rentre pas dans le mausolée, parce qu'il n'est pas capable, Roman.
Oui, il était capable,
il était capable de
me faire...
Il dit « he made me breathe funny ». Donc vraiment, genre, il me faisait respirer bizarrement. Et c'est la seule phrase qu'il dit. Et j'étais là... Ah. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire par là, mais je sais trop ce qu'il veut dire par là.
Oui.
Tu vois, c'est toute l'anxiété et la terreur et tout qu'il a dû ressentir autour de son daron. Et tu vois qu'en fait, il est en train... Le gars, il commence son deuil maintenant parce qu'il a décidé de pas le faire avant.
Bah oui.
Et il est vraiment en train de prendre en frontal tout ce que son père lui a fait subir toute sa vie, tu vois.
Bah là, il est parti pour un long ride. Hein.
Ah ouais, bah... On verra à la fin de l'épisode qu'il a pas fini à la fin de l'épisode, en tout cas, son ride. Donc cette phrase m'a brisé le cœur, mais bon. On a trois moments au cimetière. On a Shiv et Marsha. On a Shiv et Franck et Carl. Et on a... Kendall et...
et Woufouf.
Tu te souviens de la scène, la petite scène entre Shiv et Marsha, qui est, je pense, la dernière scène de Marsha. Je pense pas qu'on va la revoir pour le coup après.
Alors, je me souviens, enfin, tu vois, comme quoi ça m'a pas trop marqué, mais elle parle
c'est
de...
rapide, hein, mais elles sont vers la voiture.
Elle parle de sa grossesse, non, c'est pas ça? Je sais même plus, tu vois, pas marqué.
Pour moi, Marsha, elle sait que Shiv est enceinte depuis le lendemain de la mort de Logan quand elles se sont croisées dans l'escalier et que Marsha l'a double check en mode. Ok, donc elle a rien dit parce qu'elle s'en fout. Et aussi que. L'information, c'est comme une bonne bouteille de vin. Tu la stack.
Oui.
Marsha lui dit « Je l'aimais, il m'a brisé le cœur. » Et il vous a brisé le cœur.
Ah oui, putain, c'est vrai.
C'est réel. Ce sur quoi Shiv décide d'aller demander à Franck et Carl à quel point il est c'était un mauvais gars.
Comment ça allait, papa?
Oui, à quel point c'était...
Et là, tu vois les deux...
Et les deux qui se regardent en mode « C'est toi qui réponds.
» Et c'est Franck qui décide de répondre en premier, je crois, et qui dit bah écoute, c'est un vieux loup de mer, quoi, tu vois, il avait son petit caractère, tu sais.
Mais il avait un bon fond.
Mais
genre,
voilà.
Un truc comme ça, quoi. Genre, not the best, mais fondamentalement pas un mauvais gars. Et Shiv part, ce qui est déjà ce qu'il avait dit à Kendall, un peu, tu vois. Et Shiv part, et Carl dit à Franck bah quoi, c'est vrai. Et Franck, il pose quand même, tu vois, il est là.
Bah oui, mais en fait, à quoi ça sert?
Oui, à quoi bon lui dire maintenant?
À quoi ça sert la vérité, tu vois?
Ah, peut-être ça libère. Pour le coup, Kendall est très sincère avec Hugo.
Ah oui.
Kendall, il est là. C'est bon, on a fini d'enterrer papa. Il remonte
Kendall,
son
corps. Kendall, il a plus le time.
Il est en mode bam bam, hop là, daddy's home. Du coup, il va faire un peu de business avec Hugo. Qu'est-ce qu'il lui raconte?
Bah, il lui dit, dis donc, mon gars là.
Dis donc. Ce sera incroyable qu'il arrive comme ça. Dis donc.
Toi là, tu vas être mon chien, d'accord? T'es prêt ou pas? Are you ready?
Ceci est un plan officiel pour couler le deal de Madson parce que le monde n'est pas un endroit tendre et les gens qui disent qu'ils t'aiment finissent par te niquer.
Ah, lui, putain.
Il commence, genre, ton boss, il arrive et il dit le monde n'est pas un endroit tendre, les gens qui t'aiment finissent par te niquer. Il est à l'enterrement de son père, hein, le gars Joe, il est là, tu vas être mon chien? Woufouf.
L'autre il répond woufouf. Mais bon, en même temps. Moi, rien ne m'étonne de la part d'Hugo, parce que pour moi, il a travaillé pendant, on sait à peu près, non, genre 15 ans, c'est ça, avec
on
Logan
sait. Ouais, je sais plus si on sait, mais ça a l'air de...
Bon,
il était pas dans les toutes premières saisons.
Il a l'habitude de se faire rouler dessus, hein, tu vois.
Ouais.
Voilà, Born de Flore, il a...
Ouais. Lui aussi, je pense, hein.
Ouais, carrément.
Et en même temps, comme lui dit...
Ah oui, je suis druide que vous cherchez, c'est vrai qu'il commence à dire ça.
Il est hilarant, en vrai, Hugo. Ouais, il a très, des one-liners de fou. Et Kendall lui dit, certes, tu seras mon chien, mais les restes que je te donnerai sous la table
seront des millions
de dollars. Donc,
est-ce que t'es partant?
Pourquoi pas. Et rappelons que Kendall a un petit peu de poids sur Hugo, puisqu'il a l'histoire de sa fille qui a fait un délit d'initié et tout, même si pour nous, ça fait longtemps, mais pour eux, ça fait que quelques jours. Et Jill nous rappelle, Hugo sait que Madson ne veut pas de lui car il est sur la liste des gens qui le serviraient. Donc, il y a ça aussi, Carolina reste, mais lui, donc en fait, il a
une carte à jouer, quoi.
Il perd rien, en tout cas, à part un peu de son âme, mais selon les mots immortels de Greg the Egg, à quoi bon avoir une âme, après tout? Ouf, ouf. Et alors, on passe à la troisième étape de cet épisode, les quatre séquences,
c'est avant
l'église, l'église, le cimetière, et l'after party.
Si vous êtes heureux de faire un live pendant 4 heures.
Ouais, on est à la fin de l'épisode, on arrive. Qui est donc une... Bah, je sais pas comment ça s'appelle, la collation la... post-enterrement.
Ouais, c'est ça, la veillée ou... Non,
ah,
oui, c'est pas la veillée, c'est... Non, oui, t'as
raison. Ouais, enfin bon, c'est
l'opéra. L'apéro, quoi, c'est l'apéro.
C'est l'apéro, ça boit des petits coups, il y a le président, tout ça. Enfin, un moment normal post-enterrement. Kendall va parler à Colin.
Oh là là. C'est toi, Mimi, qui a dit ouf, ouf. Le jour où, pendant l'épisode de la mort.
Sad ouf,
parce que dans le récap rigolo de Mimi, il était effectivement tout seul. On a
comme
cette fameuse séquence.
Comme un chien qui cherche son maître à l'aéroport en mode. Ouah.
Et juste après ouf ouf, et ben, il y a Colin qui débarque. Et.
On l'avait vu vite fait à l'église. J'étais là, oh, il y a Colin. Et je pensais vraiment que ce serait tout, tu vois.
Ouais.
Genre, oh, il est quand même invité à l'enterrement, c'est sympa.
Mais non, parce que c'est Kendall est en train de petit à petit, montrer qu'il est bien un prince du mal. Et que, il va voir Colin et lui dit, non, j'ai cru comprendre que t'allais voir des psys. Et l'autre dit, ah oui, bah oui, parce que... Ça fait du bien de parler, putain, miskine, vraiment, Colin qui dit ça.
Colin, j'ai envie de lire ses mémoires, hein. Les unauthorized mémoires de Colin, mon gars, le drama.
Et c'est vrai que, pour moi, il y a ce truc où, bah, sans doute, Colin, il a des trucs à exorciser et à sortir de lui, et qu'il va les donner à un psy. Alors, certes, on sait qu'il y a le secret médical, mais... Voilà, on imagine bien que Colin, il a des doses, quoi. Il a des doses de maboule.
Ah oui.
Mais c'est vrai que toi, tu m'as rappelé que Kendall sait aussi que Colin fait partie des rares gens à savoir.
Il est dans les quatre personnes qui savent que Kendall a participé à la mort du serveur. Mmh. Et c'est pour ça que Colin lui faisait très peur, d'ailleurs, depuis plusieurs saisons. Et pour moi, c'est genre 50% de la raison pour laquelle il le recrute. Pour moi, il remplace Jess et Rava par Hugo et Colin, ce qui en dit déjà beaucoup sur ses choix de vie. Et puis c'était aussi le bras droit de son père, c'était son very best pal.
Exactement.
Qui fait vraiment du Logan
il
au
rentre.
Point de... C'est comme s'il portait ses fringues, tu vois, quasiment. Il embauche les mêmes gens.
Colin qui est le garde du corps, hein, on l'a pas précisé,
oui,
mais
pardon.
Pour les gens qui écoutent en replay, voilà.
Ouais. Le garde du corps, homme de main de Logan, mais aussi son best pal.
Son best pal, souvenez-vous de cette scène ultra cringe dans l'épisode 2 de cette saison où...
Ah ben, ça allait pas être dans le 3.
Non. Logan, juste avant de mourir, se retrouve avec son meilleur ami en tête-à-tête. C'est vraiment l'un des moments les plus tristes
Oui, et c'est la scène préférée de Brian Cox. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais il faut savoir que Brian Cox s'est baladé. Donc l'acteur qui joue Logan est venu sur le tournage de la scène des funérailles pour pas que les paparazzi... Parce que malheureusement, on vit à une époque où les paparazzi prennent des photos du tournage des séries et spoilent des trucs. Et du coup, l'idée, c'était si ça circule qu'il y a une scène de funérailles et qu'il n'y a pas Brian Cox, bah c'est sûr que Logan, il meurt dans la série, ce qui était toujours pas sûr. Et du coup, l'acteur est venu sur le set, habillé avec la casquette de baseball de Logan et tout. Et il y avait une partie du cast qui savait pas, qui était un peu en mode...
Quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là ?
Là, c'était hyper confusant. Et comme il n'y a pas Tom, pour le coup, il y avait des rumeurs, je me souviens, à l'époque du tournage.
Ah.
Peut-être Tom, il meurt parce qu'il y a une scène de funérailles où il n'y a pas l'acteur et tout. Et j'étais
le moment
là,
où
je commençais pas à faire des théories sur...
du balcon.
Qui est dans la scène ou pas selon les photos de paparazzi, tu vois,
bah
ça
oui.
m'intéresse. Mais donc, oui, Brian Cox. Ah, bien vu, Yasmut qui dit j'ai vu qu'il était crédité au générique. Je me suis demandé pourquoi.
Bien, ouais,
bien vu. Car voilà, il était
vous
présent sur le tournage. Évidemment, pas à l'image. Ça aurait été drôle qu'on le voit en caméo dans le fond. Genre, ils ont oublié de le trouver. Genre, quoi? Mais non, il y a juste pas Stewie. Et ça, c'est très triste.
Ouais, c'est vrai.
Il y a même Sandy, il y a pas Stewie. Merde,
ouais.
Alors.
Sandy qui ne rit pas d'ailleurs. Ils ont remis son.
Oui, c'est.
Ils ont remis son visage.
Je faisais un peu exprès. Incroyable, j'avais oublié ce
c'est
ride.
C'est vrai, c'était tellement drôle.
Donc oui, Kendall enfile les charentaises de son daron en embauchant non seulement son homme de main, mais aussi une des rares personnes avec du coup Marcia et son fils actuellement. Et bien sûr, il l'a dit à Rome et Shiv quand même. Mais ils n'ont pas tous les détails, mais il leur a dit qu'ils savent qu'il a tué quelqu'un. Moi, je pense pas que ça va ressortir. Je pense que c'est bon, il a tué qu'un épisode, ça va pas ressortir. Bah ouais. Mais je pense que ça motive en partie sa décision de garder Pauline. Parce qu'il lui dit
« Garde tes ennemis
près
de toi.
Me, you talk to me ». Tu vois, il y a aussi un truc de « va pas raconter ce que tu sais ». Parce que ce que tu sais, c'est pas juste pourrir la réputation du daron, ça, à la limite, pourquoi pas.
Ouais.
Kendall, il l'a fait lui-même de son vivant. Hein.
Ouais.
Mais...
Et puis surtout, c'est aussi peut-être une façon de renouer l'histoire, tu vois, parce que pour moi, il y a aussi ce truc de si potentiellement, tu vois, il a découvert tellement de trucs sur son daron pendant le discours d'Iwan qu'il se dit, mais en fait, peut-être ça vaudrait la peine de pouvoir reconstruire l'histoire de mon père, de tous les trucs qu'il ne m'a pas dit, en fait.
C'est vrai, Colin, il doit en savoir pas
mal. Créant une, bah oui, bien sûr, il était tout le temps avec.
Colin, Franck et Karl, je veux passer une soirée avec eux et beaucoup de bonbons à parler de Logan Roy.
Bien sûr.
Mais je pense après, je perds vraiment foi en l'humanité.
Oui.
Menken est à cette after party, tout comme Madsen. Du coup, c'est quand même l'occasion de parler boulot et fascisme. Donc Kendall essaye. Bah attends, c'est pas un enterrement si on parle pas un peu boulot et fascisme, quoi. Du coup, Kendall essaye de draguer Menken, de lui rappeler que c'est grâce à moi et tout. Et Menken lui, et donc il essaye de lui demander de calmer un peu le jeu en termes de dinguerie politique fasciste. Et Menken lui dit « Ah, t'es le haut-parleur, et maintenant tu veux décider de la playlist. » Et j'étais là.
Waouh.
Alors déjà, Kendall, you are no Logan. Et aussi, c'est pas le fucking Raisin. Il a pas peur de toi. Il a pas besoin de toi. Il vient de te dire « T'es mon haut-parleur, frère. T'es mon enceinte. » Je suis là. Ça fait longtemps que personne a roulé sur Kendall comme ça. Ça fait plaisir.
Et puis surtout, souvenons-nous que la dernière fois qu'un président a fait chier Logan, en fait, il lui a fait perdre les pédales en l'espace de quelques mois, tu vois.
Il a pourri sa réputation
sur Etienne, au point où
il perd la boule.
Voilà, au point où vraiment, le mec a décidé de ne pas se représenter. Et
j'avais pas pensé à ça. Peut-être Kendall, il va.
Bah en fait, pour moi, il
saboter un peu Menken.
Mais je me rends pas compte en fait à quel point Menken ne se rend pas compte que en fait Etienne a vraiment savonné la planche de l'ancien président. Et qui se rend pas compte du pouvoir de nuisance. Alors sans doute qu'il l'aurait pas fait avec Logan. Peut-être qu'il se permet de le faire avec Kendall parce que en fait c'est
ouais,
Kendall.
Ouais, il aurait peut-être pas dit comme ça, mais on en a parlé au dernier épisode que Menken il avait pas de respect profond pour Logan ou ATN ou c'est un peu un mec des nouveaux médias, tu vois. C'est un peu un mec de en fait votre chaîne de télé est vieux, vous êtes mignon, mais ça me fait pas bander.
Oui, jusqu'au
et
moment où
il y avait cette histoire d'où il y a des médias encore plus à droite qui sont à fond dans sa team et tout, donc. Je suis d'accord qu'il l'aurait pas forcément fait avec Logan, mais je suis pas sûr que dans sa tête, ATN puisse lui nuire autant que ça, tu vois. Parce que je pense qu'il est un peu en mode, en fait, vous parlez à des débiles racistes et âgés qui m'ont élu, vous avez fait votre job. C'était de m'élire, et maintenant votre job, c'est d'être en haut-parleur pour ce que je raconte, et comme ça, on continue à.
Souvenons-nous
et comme ça,
que
je vends pas votre boîte à un Suédois aussi, tu vois.
Souvenons-nous que Trump a vraiment perdu les pédales à partir du moment où Fox News l'a lâché, hein, donc.
C'est vrai, mais. Menken is not Trump.
Oui, tout à fait.
Mais peut-être pire parce qu'il est un peu plus malin. Tout le monde essaye de draguer Menken parce que c'est quand même le président élu et tout le monde vient lui lécher les bottes et tout. J'étais là, je vous déteste, il y a Greg, il y a Roman et tout. Il appelle Roman genre le pleurnicheur, comme ça, il l'appelle Tiny Tears. Et Grim Reaper, qui est un excellent jeu de mots sur Grim Reaper et donc la mort, la
faucheuse.
Et Whip qui est chouineur.
Pleurer.
Donc
ouais,
c'est Durad, c'est le faux chouineur, un petit peu, mais ça marche
pas mal.
Aussi bien. Pas
et d'ailleurs, Kendall vient au secours de Roman.
Immédiatement, Kendall, il est là.
Non, pas aujourd'hui, là. Enfin, ça se fait à
peine. Calme-toi, parce que il est toujours bizarrement protecteur de gens sur qui il roule, puisqu'il va lui-même aller rouler sur Roman après.
Lui, il a le droit.
Super toxique. Moi, j'ai le droit, je suis le grand frère, ok? Moi, je peux lui cogner dessus. Toi, tu n'as pas le droit. Et Shiv extrait Menken de cette situation
pour
aller parler à Madsen et voir si on ne peut pas négocier quelque chose entre Madsen et lui. Qu'est-ce que t'as pensé de cette confrontation de nos deux géants de la masculinité toxique avec une chivance en demi-lieu? J'ai vraiment envie de ronger la table, c'est chaud.
Moi, j'ai adoré vraiment que ce con de Madsen nous ressorte ce privacy pussy pasta.
J'étais trop contente. Quand Menken lui demande c'est quoi ton alignement politique, parce qu'il est genre un... alors je sais pas comment il se décrit, pas comme nazi, mais un truc genre un... penseur courageux de la droite alternative, une démocrate blasée et un... Au final, qu'est-ce que c'est ton... C'est quoi ta ligne politique ? Ouais, bah, c'est Pussy Pastor.
Pour moi, c'est tellement ce truc où les auteurs, ils se sont dit « Ok, c'est le moment ou jamais de faire vie. Plaisir.
» J'avoue, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, ça marche. Et à part ça, du coup, la discussion, c'est est-ce que mettre une personne américaine à la tête de Waystar, ça pourrait aider ? Et donc, Mencken, il comprend tout de suite qu'a priori, on parle de Shiv. Et il décide de faire ce combo de misogynie, wow. Qui est d'à la fois de faire un petit... En montrant, genre...
Ouais.
Et de l'appeler Kinder Küche Kirche.
Ouais.
Qui est, alors, je pensais que c'était un truc nazi. C'est pas un truc nazi, c'est truc du Saint-Empire romain germanique, ouais. Donc d'avant. Qui est les enfants, la cuisine et
qui,
l'église.
Mais qui a été repris par le régime SS, bien sûr. Enfin, par le régime nazi.
C'est un peu l'équivalent de... c'est une femme à la cuisine, quoi. C'est la juste place des... C'était la version de la femme idéale, selon voilà. L'Empire romain germanique.
La cuisine, à l'église.
Les enfants, la cuisine, l'église.
Let's go. Bah, en même temps, t'as des chouettes missions, quoi, tu vois.
Ouais, ça te remplit une journée, hein. T'as fait les trois, bah, tu vas te coucher, t'as bien travaillé, quoi. Donc, ça alimente aussi mon truc de tu peux pas gagner quand t'es chive et que t'es enceinte, quoi. Une fois qu'elle est enceinte, ouais. Elle est plus que enceinte.
Bien sûr.
Et c'est, dans tous les cas, on voulait pas la prendre parce que c'est une meuf. Mais si on nous demande pourquoi, on a qu'à dire, bah, elle est enceinte. Désolé qu'on en fasse, quoi. Mais, elle est en mode, et il la challenge quand même sur, mais tu me détestes, t'es contre moi, donc, tu serais ok pour me faire un deal avec moi et Shiv lui dit moi je suis comme mon daron en gros je suis souple quoi.
Bah c'est oui.
So long pour le dernier rempart contre le fascisme de cette famille. Bah, qui, ma foi voilà est tombé.
C'est le scorpion quoi hein. Donc ouais. N'oublions pas hein. C'est ça la dérange pas de piquer ses propres convictions si ça lui permet de pouvoir passer arriver là où elle veut.
Tout à fait. Et aussi, elle est toujours en mode, c'est ma dernière option, tu vois, mais bon. Alors, en parlant de Scorpion, sur ce, il y a Tom qui arrive, qui a quand même, qui passe 20 minutes avant de retourner bosser à l'after party de l'enterrement. Je suis là, mais c'est quoi ta vie, frère?
Il place qu'il est fatigué.
Il est toujours très fatigué. Mmh. Et Shiv est bizarrement sympa avec lui. Elle lui dit, donc on comprend qu'il dort à l'hôtel à côté. Moi, j'ai interprété, il dit, les gens de l'hôtel savent qui je suis et j'aime pas ça du tout. Parce qu'en gros, genre, sous-entendu, ils me détestent parce qu'ils savent qui je suis. Et moi j'ai entendu ça comme il y a un hôtel à côté de Haïtienne où ils dorment quand ils font des longues journées quoi pour pas avoir à se trimballer chez eux. Et Shiv lui dit bah retourne à l'appartement donc notre appartement et dors là-bas quelques heures le temps de te mettre sur pied et il est là ah tu crois je peux et tout c'est bon, on va pas m'en vouloir et elle est là non va dormir. J'étais là c'est bizarrement gentil comme moment. Genre je suis là je ne vois pas la machination. Je ne vois pas le plan qu'il y a derrière.
Mais n'oublions pas que Shiv est toute seule, encore une fois. C'est-à-dire que, pour moi, le move qu'elle fait à venir dire à Tom qu'elle est enceinte, c'est pour, dans l'épisode précédent, c'est pour venir récupérer quelqu'un dans son camp, quoi. Et que, en fait, là, elle est ultra isolée.
Oui.
Donc avoir Tom, avoir Tom dans son camp, c'est toujours bien, quoi.
C'est mieux que zéro personne.
C'est mieux que de pas l'avoir dans son camp.
Pour ce moment-là, on verra dans l'épisode suivant, elle est pas trop méchante. Et c'est interrompu. On revient tout de suite au business puisque Madson appelle Shiv et lui dit écoute, il y a un truc.
He's good.
Mencken est ok pour an American CEO.
Et il
en précis.
Il en dit pas plus.
Mais elle demande pas non plus. Après, si elle demandait, on dirait elle force et tout.
Bah oui. Souvenons-nous que la dernière fois que Shiv a forcé, c'était au dîner des Pierce. On a adoré ce moment.
Bah, en vrai, quand elle a dit à Madson, ça fait combien de temps que t'as rien fait pour moi? Moi, je veux un very, very, very big job. On était déjà en mode, girl, tu forces un peu.
Ouais, non, après, là, c'est juste, elle pose son ambition, elle pose l'objectif.
Elle était un petit peu bougie, quoi. Et là, il lui dit, OK pour un American CEO. Mmh. Elle fait, OK. Mais il dit pas OK pour toi. C'est Tom ou Greg, du coup, qui va être PDG?
Alors.
Bah, legit, c'est l'un des deux pour moi.
Pour moi, je crois que c'est Greg. Parce que cette fameuse théorie de, en fait, c'est terrible, mais pour moi, Madson a besoin d'avoir un CEO qui va pouvoir contrôler. Il est incapable de contrôler un des trois enfants. Bon, Roman, n'en parlons même pas, mais Kendall, il est sans doute
Kendall, bah, il est contre, de toute façon. Pour devenir chef.
Et pour moi, l'idée de se dire, ok, bah, faut que je me trouve un Américain maintenant, et c'est qui le plus docile et celui que je peux le plus contrôler, bah, c'est sans doute ce double maître de népotisme, quoi. Tu vois, c'est le bon Greg de Egg.
Il est sexy quand il le croise dans l'église. Ouais. Et il le rappelle qu'ils ont passé une soirée bizarre ensemble.
Bon, on ne sait pas ce qui se passe.
Il le check un peu de haut en bas où j'étais là.
Est-ce que c'est homo-érotique,
ouais,
ou encore une fois.
Oh, c'est confus.
Peut-être
hein,
ça va finir en plan à trois entre Tom, Greg et Madson.
Non.
Je sais que tu voulais avoir cette image. Vous vouliez tous avoir cette
aussi leur relation homo-érotique. Pourquoi on les prive de leur amour? Mettons-en cinq, tu vois. Qui peut le moins, peut le plus.
T'as dit qui?
Menken et Roman.
Ah, toi aussi, ah oui.
Ah oui, Menken et Roman,
oui. Oui, c'est vrai.
Les yeux, là.
C'est vrai, c'est vrai.
On les a vus. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que...
Bah, ça se profile comme ça, en fait.
Madson va mettre Greg, parce qu'en plus, il le connaît plus, PDG, et qui va faire bosser Tom pour Greg. Parce que y a Tom, il est resté... En vrai, Tom, il a fait le truc
Logan aurait pu servir.
C'est-à-dire, il a bossé à la place d'aller à l'enterrement. Tu vois, il a taffé. Et saison 1, épisode 1, Logan est fâché parce que Kendall est venu à son anniversaire au lieu de gérer le deal avec Walter. Et j'ai regardé du coup l'épisode plusieurs fois parce que je suis ma boule. Et quand, je sais plus, à un moment, il y a Shiv qui parle avec Madson et je crois que c'est Greg qui arrive, quoi, lui. Mmh. Quand Madson lui dit « Hey, sexy !» Et Greg, oui, et Greg dit « Tom m'a appelé, il pourra pas être là, on va commencer sans lui parce qu'il travaille. » Et Madson, quand Greg il dit « Tom, il est au boulot », Madson, il le regarde en mode « Oh, ok. » Et il a vraiment un petit moment de, tu vois, il regarde en l'air, il réfléchit et il est là « Ok, je note. » Donc je pense que c'est un truc de « Il y en a quand même qui taffe dans cette famille. » Et je pense... On s'achète Greg the Egg.
Mais en
se fait greguer par un Tom en Greg, quoi. Ce qui est genre.
Ça serait génial.
Elle démissionnait, l'ami. Il faut que d'un moment, si ça va.
Non, mais pour moi, c'est. Pour moi, ça serait. Ouais. Pour moi, c'est... ça serait une fin parfaite.
On verra. La semaine prochaine, on n'a plus beaucoup de temps à attendre avant de savoir si nos prédictions se réalisent. Cet épisode, qu'on pourrait renommer La Chute de Rome, se finit avec La Chute de Rome, à savoir. Donc,
une discussion entre
Kendall parle avec Romulus et ensuite Romulus décide d'aller faire un petit tour dans la plèbe et les belles rues pleines de vie de New York by night.
Oui.
Qu'est-ce que t'as pensé de la discussion Kendall-Roman?
En fait, c'est terrible parce que je sais pas pourquoi Kendall fait ça à ce moment-là. C'est-à-dire que, tu sais, on avait dit dans l'épisode précédent, Kendall va défoncer Roman, il va sans doute sortir les dick pics, machin, il va peut-être utiliser Jerry pour machin. Mais en fait, là, Roman, il s'est juste cramé tout seul. Tu vois, il est à terre.
Ben, il n'y a plus besoin de le défoncer.
Il n'y a plus besoin, en fait. Et tu vois, il vient vraiment lui mettre des coups de pied quand il est à terre. Et on va y revenir. En tout cas, au sens figuré, quoi. Il vient vraiment le défoncer alors qu'il n'a pas besoin de faire ça. Et je ne comprends pas pourquoi il le fait.
Mais parce que c'est Logan. Mais
c'est
the broken you, tu vois. Oui. Genre, fait parce que comme ça, il peut s'en servir et que. Parce qu'il le bolosse et en même temps, il lui dit, mais c'est pas grave.
Ouais.
On va gérer ça ensemble.
On va s'en sortir.
Pour moi, c'est Logan quand Kendall a buté le gars, tu vois. C'est limite, il lui dit pas, you're my number one boy, quoi. C'est genre. Et puis, il a ce truc de virilité de merde où il est à la fois un peu violent, tu vois. Il lui met une claque derrière la tête et tout, et en même temps, des accolades. Et je suis là, moi, c'est manipulation 4000. Et c'est vraiment, il ouvre la porte vers One Guy, One Crown, tu vois. Il est là en mode, il lui met la graine dans sa tête de t'es pas au niveau, tu vois. T'es serious people.
Ouais.
Alors il se trouve que Kendall non plus. Mais ouais, pour moi c'est. Et alors, peut-être que Roman méritait aussi cette descente aux enfers, hein, je dis pas, mais c'est. Il décide de l'utiliser en fait comme un chien battu, quoi. C'est.
Oui.
Ok, il va servir à des trucs maintenant. Vu qu'il a plus confiance en lui. C'est en gros, là, il est cassé. Si je remodèle à partir de ça, je peux m'en servir. C'est plus simple que d'être en bagarre avec mon frère.
Bah oui.
Et aussi, il sait qu'il a perdu les faveurs de Menken. Donc, ce truc qui l'inquiétait de oula, le président, il est Team Roman et moi, j'aimerais bien qu'il soit Team Kendall. Problème réglé par oh, l'homme a eu des émotions. Quel nul.
Quelle idée aussi d'avoir des émotions.
Et d'ailleurs, bah, apparemment, la crise de larmes de Roman est devenue un mème, puisque Carl et Frank sont en train de regarder sur le téléphone de Carl un extrait de Roman qui...
Ah, j'ai pas vu ce... Ah bon?
Roman, en fait, Kendall s'en va. Roman, il part en furie de l'appartement et il passe devant Carl, Jerry et Franck qui sont à une table et Carl est en train de regarder sur son téléphone une vidéo où c'est le bruit de Roman quand il fait le sanglot horrible quand il craque sur scène avec ses frères et sœurs.
Attends, j'ai pas capté
ça. Et Jerry elle dit arrête, c'est pas cool et tout, franchement c'est pas cool, et Carl il est en mode mais ça va, c'est partout sur internet, donc c'est devenu un mème, mais un peu comme tu vois, enfin c'est horrible et c'est, je pense que je me moquerai jamais de quelqu'un qui fait un nervous breakdown à l'enterrement de son père. Mais c'est un peu comme si un des enfants Trump faisait un nervous breakdown. Enfin, il y a tellement de gens qui détestaient son père, qui détestent lui, ok, qu'il y a des gens qui n'ont pas d'empathie et qui rient de ça, tu vois. Mais j'étais là, c'est vraiment là.
La lie de l'humanité.
Et en même temps, il récolte ceux qui s'aiment, tu vois. Lui-même, c'était un gros troll. Quand Mencken, il se fout de sa gueule, j'étais là, bah, il aurait fait pareil, tu vois. Il aurait fait pareil s'il avait vu Mencken pleurer.
Et s'il avait été en position de force, bien sûr.
Oui, donc...
Fuck you.
Fuck you, Roman. Et Roman décide de fuck off.
Bah de... Roman décide d'aller se faire tout simplement tabasser la gueule.
Il
parce
va
qu'après
se faire
tout,
manifester. Bon.
C'est tout ça. Il ne mérite que ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est que ça, quoi.
Et comment j'ai cru qu'il allait mourir. Parce que souviens-toi, la semaine dernière, j'étais là, je pense que Roman, il va mourir.
Ouais.
Et là, franchement, je le vois dire à son chauffeur, je vais marcher. J'étais là...
C'est
soit
parti.
Soit c'est violence policière, genre il va se prendre, tu vois, la police va le tuer, soit c'est mouvement de foule, soit c'est carrément des manifestants qui le reconnaissent et qui le tabassent, genre I don't know, mais je suis là.
Moi je comprends. Il va mourir. Je comprends pas comment il se fait pas reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a aussi un vrai truc où.
Il fait noir et tout, enfin, tu vois, si tu croises le. Genre Sarkozy, tu vois. Si tu le croises en manif. Sur une barrière en train de dire ah fuck you et tout, est-ce que tu te dis c'est Jean Sarkozy?
Si t'es un antifa.
En vrai, tout à l'heure au resto, j'étais au resto, il y avait Raphaël Enthoven, j'ai dû le googler pour être sûr que c'était lui, tu vois. Et genre, il est connu Roman Roy, qui est le fils de quelqu'un et qui bosse, tu vois, il est pas présentateur télé, quoi.
Oui.
Enfin, il fait nuit et tout, moi ça. Et après, bon, à un moment, il se prend une droite, mais parce qu'aussi, il se met au milieu.
Il embrouille tout le monde,
peut-être que le gars qui lui met une droite, il sait qui c'est et que c'est double plaisir de foutre une droite à Roman Roy. Comment t'as lu cette scène? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as eu peur? Est-ce que tu t'es dit, oula?
Non, pour moi, il est en train de faire un... C'est la fin du Joker, c'est ça? Où il va se faire tabasser?
Oui.
Ou je me trompe, je sais plus exactement comment ça se termine le Joker, mais bon.
Bah, il est sur... il y a des émeutes et tout, mais il y a des émeutes de gens qui se sont appropriés son personage, quoi. Et lui, il est dans la voiture des flics parce qu'il a été à l'émission de télé, machin.
Et en gros...
Dans le panier à salade, comme on dit. Et au milieu de tous ces gens qu'il a inspirés à créer le chaos.
Pour moi, il retourne simplement se faire corriger parce qu'en fait, il a fait une bêtise et qu'il retourne se faire corriger comme son père l'a toujours corrigé, en fait. C'est-à-dire que juste, il va se faire tabasser parce que c'est la seule façon qu'il a de savoir se faire récompenser ou savoir se faire punir, peu importe, en fait. Tu vois, il
vient... de digérer ses émotions et son échec.
C'est encore
aussi
la meilleure façon de ne pas aller gérer ses émotions, c'est en fait de t'en prendre plein la gueule et de souffrir physiquement, quoi.
Yes, ouais, je suis assez d'accord. Il y a Ali Nune qui dit « J'ai presque eu l'impression que Roman était déçu de ne pas être reconnu et de ne pas se faire tabasser lorsqu'il regarde et hurle sur la foule. » Et oui, je pense que je partage ta lecture de... En fait, c'est tragique, mais c'est son mécanisme de compensation.
De défense,
De défense. Et il vient de se faire...
Humilier.
Prendre son deuil en pleine gueule, plus daronné par Kendall. Et ce qui lui arrive quand il se fait daronner...
Il a perdu son avantage avec Mencken, en fait.
Il est en terre brûlée, ce qui... Du coup, on sait pas. Alors, on sait pas ce qui lui arrive, mais je pense pas qu'il est mort hors champ, tu vois. Je pense pas que l'épisode prochain va s'ouvrir sur les funérailles de Roman Roy.
Mais moi, potentiellement, le voit pas. En fait, on sait tellement pas où il va.
Ah,
on sait tellement pas ce qui se passe. C'est en fait, potentiellement, dans le prochain épisode, il est pas là.
Il y a juste pas de news, quoi. Et c'est Roman
Roy. On sait pas où il est.
Un jour, c'est enfoncé dans la nuit, et sûrement qu'il va finir par ressurgir. Mais peut-être que nous, spectateurs, on saura pas. C'est intéressant. Et en même temps, un épisode entier sans Kieran Culkin. Mais bon, il a déjà tellement fait cette saison que...
Oui, on en a assez soupé du Roman, tu vois.
Non, c'est pas ça, c'est l'acteur. C'est pas ça que je voulais dire. Moi, je suis pas en mode on en a marre de Roman. C'est plus l'acteur a déjà tellement fait des moments très très forts dans cette saison que c'est pas on en a marre, mais que bon...
Non, je dis pas qu'on en a marre, c'est plutôt... en fait, pour moi, ça serait une fin intéressante pour ce personnage de disparaître. De disparaître et en fait, on sait pas où il est. Et... Peut-être il est mort, peut-être pas. En fait, on n'en sait foutre rien, mais peu importe, il a disparu du champ. Il a disparu du paysage.
Et il a personne. Parce que comme on l'a dit, lui,
exactement.
Il n'a pas d'entourage.
Il n'a pas d'entourage, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a rien.
Il n'a pas un pote. Peut-être il va retourner voir le pote qui s'était fait à la journée d'orientation des Parkway Stars, là.
Waouh.
Le gars avec qui ils
incroyable.
Avaient fait un jeu de simulation de guerre, quoi. Alright. C'est la fin de cet épisode, ma foi, long et riche de Succession. C'est aussi la fin de ce débrief. La semaine prochaine, c'est le final. Est-ce que t'as des choses à ajouter, des prédictions, des envies, des espoirs pour la fin de la succession? Est-ce que t'as une idée de ce qui va se passer dans le prochain épisode? Moi, je... Bah, comme on l'a dit, on n'a pas regardé la bande-annonce.
Non, pas du tout, mais pour moi, en fait, c'est la conclusion du deal. C'est-à-dire que là, ouais, maintenant, il est temps de le faire, tu vois. Il est temps que la succession arrive, parce que voilà.
C'est le titre.
Voilà.
Quand même, c'est dans le titre.
Au bout de 4 saisons. Et bon, voilà, il y a autant pour moi la côte de Greg avait largement dégringolé depuis 2 épisodes, autant là,
Stonk.
Tu sens vraiment que le mec, il a placé ses billes de façon maligne et en plus il est venu se présenter auprès de Menken. Enfin, tu vois, tout fonctionne en fait.
En disant Tom et moi.
Ouais.
Nous deux. Avec Tom.
Quel génie, oui, oui. Putain.
Et en même temps, il a pas tort. Il a vraiment été le Greg de Tom pendant toute la nuit, tu vois. Genre, alors, le problème, c'est que la suite de la phrase, c'est « on a fait élire un nazi ». Mais par contre, quand il dit « j'ai participé aussi », bah, c'est pas faux.
Bah, souvenons-nous, qu'il y a cette, nuit, souvenons-nous qu'il y a cette fameuse séquence où il prend la responsabilité d'aller annoncer aux gens face à Jess.
« I'm not pushing the button, I'm telling them to prepare to push the button ».
Ouais, c'est vraiment...
Et qu'il est aussi responsable du wasabi. Ouais. Du wasabi qui a mis la démocratie américaine au sol, l'ami Fouquet. Est-ce que tu peux ouvrir les questions Insta que je t'avais envoyées pour voir si on en a raté? Donc, la cote de Greg a remonté, comme on l'a dit. On a toujours l'épisode, l'hypothèse Ken devient le patron et règne un peu en mode terre brûlée comme son père en ayant aliéné toute sa famille personnelle ainsi que nucléaire et tous les gens qui tiennent à lui. Et peut-être que dans son entourage, il y aura Greg et Tom, ce qui sera parlant aussi, parce qu'on sait qu'il les aime pas fondamentalement en tant que Tom, peut-être un peu. Mais que s'il a Greg autour de lui, on sait que c'est pas par choix humain, c'est vraiment juste par business plan. Mais moi, j'aime bien Kendall mort la poussière et Greg PDG et Tom qui Greg pour temps. Greg.
Il est temps de...
Gagner pour Kendall, c'est un peu...
Ouais, il est temps que Kendall prenne une bonne claque dans sa gueule et qu'en fait, pour une fois, ça lui vienne pas de son papa.
Oui.
Et qu'ils comprennent que, en fait, c'était peut-être pas son père finalement le méchant.
Peut-être que c'est juste toi qui es nul.
C'est juste toi qui est pas à la hauteur, en fait.
Oui, tu aurais pu ne pas être nul.
Est-ce que t'as pleuré, toi, de ton côté? Il y a Stinian qui demande ça.
J'ai pas pleuré, mais c'était dur le breakdown de Roman. Ouais. Et en vrai, le discours de Shiv, il m'a beaucoup touché, tu vois. Il est court, mais ce truc de quand le soleil il brille plus sur toi, il fait froid et. Il pouvait pas rentrer toute une femme dans sa tête. My world of a father et tout. J'ai pas pleuré, mais j'ai été ému. T'as pleuré, toi?
Mais non.
Non, bah non. T'es trop loin.
Non, moi, je pleure
de l'empathie
devant Ted Lasso et Miss Maisel. Laisse-moi tranquille.
C'est pas la même énergie.
Non. Et il y a Maud aussi qui demande, Madson était bizarrement normal dans cet épisode. Et c'est vrai que c'est l'un des rares épisodes où on le voit pas être complètement fucked up, quoi, dans cette saison.
Ce qui pour moi rappelle qu'en vrai il sait se tenir, tu vois. Voilà. C'est aussi quand il décide d'être gênant, c'est parce qu'il décide d'être gênant ou qu'il décide que tu vailles pas le coup, qu'il fasse un effort, qu'il soit sobre et tout. Après, quand on en parlait tout à l'heure de la scène avec Menken, plusieurs gens dans le chat disaient il était un peu chelou, il était nerveux, il coupait Menken, qui lui disait pas grand chose. Pendant tout l'épisode,
Menken il est trop fort.
Mais ouais, il dit rien, tu vois. Il te regarde avec ses yeux de lézard là, il penche sa tête vers toi, il est là.
Et il te laisse parler.
Parce qu'il y a un Logan Roy move, tu vois.
Bien
le
sûr.
Qui est vraiment le bruit le moins engageant du monde, quoi. Et alors oui, Madson est en difficulté, quoi. Il est alors les chiffres de l'Inde, la révélation des chiffres de l'Inde, ça se passe pas si mal, mais il est quand même pas serein, quoi. Donc écoutez, Menken, donc joué par Justin Kirk, Matt Mutmut dans le chat lui fait un shout out, réussit à intimider même les plus grands des Suédois et c'est tout à son honneur. Ok, c'est la fin.
Bah oui.
C'est la fin de ce débrief de Succession. Merci encore,
merci
Fabrice. Mimi. Abonnez-vous, bien évidemment, à tous les contenus que produit Fabrice Florent, qui
tout
sont
fait.
Des podcasts. Et on vous parle de cinéma toutes les 2 semaines dans le Film Club. Dimanche dernier, on a sorti un épisode sur Le Dernier Train pour Busan, un film de zombies dans un TGV. C'était super. Merci d'avoir été là. On se retrouve jeudi pour jouer à Coral Island le matin. Et mardi prochain, pardon, pour... débriefer le final forever de Succession.
Oui.
Ça va être bien mais triste à la fois. Ce sera, je pense, un super live et peut-être un peu plus long parce qu'il dure 1h30 le final. Oups, ça
fait non mais là on a fait 3 heures. Il faut
mais il y a 12 storylines dans cet épisode.
Ouais, c'est vrai.
Un jour on se limitera mais pas pour Succession.
Non.
Des bisous la Mif, des bisous Fabrice.
Des bisous Mimi.
Take care. À jeudi.
Mode pré-deuil activé.
Le beurre de l'ail.
Ça part.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.